Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 30 janvier 2016 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 21e volet de l'Entrepod. Alors, encore un Entrepod chez moi, dans la roulotte familiale, comme quoi manger du hérisson et se chauffer par un bidon de 200 litres, ça ne gêne plus personne. Donc, autour de la table. Lorsque l'on prononce le nom de l'invité du jour, les premières sensations qui me viennent à l'esprit sont... Oh oui, c'est tellement bon. Car oui, l'invité du jour est chocolatier. Après une longue carrière d'acteur de films X dans les années 70-80, où le monsieur a tourné quand même pas moins de 500 films, il décide d'associer très habilement l'érotisme et le chocolat. Il est ici pour nous en parler. J'ai nommé Richard Allan, alias Queue de Béton. Quand on dit plaisir, mes yeux se tournent directement vers lui. Doux comme le pelage d'un shangora, lisse comme la peau d'un nouveau-né, le parfum qui s'en dégage rappelle des senteurs boisées sensuelles terriblement attirantes. Oui, son crâne pour moi est un objet de désir. J'ai nommé Christophe alias Crâne de Béton. Alors, elle, quand je la regarde, je vois qu'elle aime le chocolat. Je vois qu'elle aime également l'érotisme. Mais quand elle ouvre la bouche, sa voix mélangée au chocolat et à l'érotisme deviennent quelque chose d'insupportable, comme un jour de marché au poisson, bombé de monde, où t'as qu'une seule envie, c'est de te foutre la malle, te barrer. J'ai nommé Didouille.
Je t'emmerde.
Lui n'est pas bien plus haut que Passepartout, mais pourrait bien faire de l'ombre à Richard. Son corps, digne d'une divinité grecque à la cambrure de marbre, nous laisse tous bouche bée. Muni de son maillot de bain simili-léopard poutre apparente, il exerce une attraction non négligeable sur la jambe féminine et les bassins artésiens. J'ai nommé Arnaud. Wouf wouf. Ils incarnent à eux deux la réussite dans le métier des doubleurs voix. Ils sont demandés par les plus grands réalisateurs de Bollywood à Maubeuge. Leur spécialité, doublage de films assez particulier. Démonstration.
Bonjour madame, je viens pour la machine à laver qui est tombée en panne.
Oui monsieur le plombier, désolé, je sors de mon bain et la machine à laver est justement dans ma chambre.
Oui, je vois, je vais réparer ça.
Oh, comme vous êtes gentil, monsieur le plombier. Oh, ma serviette est tombée.
Oh, laisse, coquine, je vais te la... rabasser-moi.
J'ai nommé Starlette et Lulu.
Bravo.
Et enfin, nous avons un absent autour de la table et pour cause. Ils ont encore remis ça. Après la petite Solène, c'est la ravissante Philomène
Soline.
Qui vient
Soline.
De pointer le bout de son nez. Nous lui souhaitons à tous la bienvenue et attendons avec impatience la vidéo de sa création. J'ai nommé Freddy. Et enfin, pour terminer, attention, le Rocco Siffredi du micro, l'étalon des podcasteurs, celui qui fait couler la sueur à n'importe quelle gazelle qui passe à sa portée, le testeur de jeunes recrues, Arnaud peut vous en parler. Il aime le chocolat quand il est noir, l'érotisme quand il est rouge. Je lui redonne les rênes de l'émission pour qu'il m'en donne un coup sur la croupe. Oui, j'ai nommé Nico.
Bravo Marius.
Bravo. Tu t'es surpassé là, dis donc. Super intro. Hein.
Ouais, c'est normal.
Tu vas voir que ça fait bizarre quand le patron il va reprendre les rênes. Ça va... Tout de suite, ça va plomber l'ambiance. Vas-y, Richard.
Je voudrais simplement, avant d'ouvrir les débats, qui risquent d'être assez drôles, faire une petite aparté.
Ah, j'ai dû merder quelque part.
Car c'est vrai que les journalistes et vous-même avez toujours cette habitude de me nommer... par oui. un adjectif composé, queue de béton, qui m'a été d'ailleurs donné et qualifié par un journaliste. Alors j'ai coutume de dire aujourd'hui, comme je suis dans le chocolat, c'est plus queue de béton, c'est queue de guimauve.
Bravo. Bon, j'ai cru que j'avais dit encore une connerie.
Du coup, on complexe moins, nous, hein, les gars.
Quant à moi, mon crâne de béton, j'ai jamais réussi à le mettre nulle part. Oh là là.
Ça commence bien.
Ça, c'est dit.
Ah bah dis donc, ah, effectivement ça commence bien. Ça va, Marius, ça va mieux hein, t'étais, ah oui, ça t'étais très stressé mieux, avant le début de l'émission là, mais
oh, si peu.
Et un gros bisou quand même à Freddy,
Freddy oui.
Et bravo et voilà, et bienvenue à la petite Philomène.
Donc bah, on est de nouveau donc chez Marius hein, pour la deuxième fois d'affilée et cette fois-ci on se retrouve avec un invité donc comme nous l'a déjà précisé avec Richard, comme on avait un peu changé notre organisation, les épisodes avec invités seront essentiellement consacrés à un échange avec Richard et puis avec quelques ponctuations bienvenues ou pas, on verra bien. Donc nous avons trois rubriques cette fois-ci qui viendront ponctuer donc ces épisodes. Et puis bah cette fois-ci, Freddy n'est pas là, mais Ludo le remplace au pied levé pour le quiz.
Ouais, il y aura un quiz.
Donc voilà, un petit quiz. On va voir si tu as le même niveau que Freddy également. Hein. Si tu es quiz de béton, je ne sais pas.
Quiz de béton, j'espère.
T'as la pression, non ?
On verra ça. Comme d'habitude, à la fin, nos coups de cœur et nos coups de gueule en 60 secondes chrono, en fin d'émission. Donc bah on espère qu'on va passer un bon moment avec nous, tous ensemble. Et puis bah qui est-ce qui commence? Je crois que c'est Ludo qui commence cette fois-ci
oui,
avec sa rubrique, histoire de lancer un petit peu les débats.
Voilà.
C'est maintenant la parlette de Prout.
Hello and welcome. Hit the record button.
Il t'a plu le film ?
Voilà, c'est à moi.
Voilà,
donc, comme on se disait, en fait, avec Richard, on va un petit peu présenter la carrière, la vie de Richard sous différents angles. Et pour attaquer le premier angle, qui va être sa carrière cinématographique, l'idée, c'était un petit peu, dans le cadre de ma Madeleine de Prout, je la réajuste un petit peu pour vous présenter un petit peu le contexte dans lequel Richard a démarré. Et donc, c'était vous faire un petit survol sur ce qu'a été le film pornographique, la pornographie du début du cinéma jusqu'à maintenant, mais surtout en mettant un peu l'accent sur la période des années
70. T'as dû creuser ton sujet.
Mais je vais essayer je vais la faire assez synthétique et puis assez enlevée pour histoire que ce soit pas pesant et lourdingue.
Une conférence en trois parties.
Le mec a l'air super fun, il a ses petits biscuits de céréales devant lui, alors tout le monde a des chocolats, tu sais.
Il a pas son origine.
Donc voilà pour vous dire un petit peu, pour commencer un petit peu, donc le film érotique ou le film pornographique, la première apparition du film érotique pornographique, elle démarre, on va dire, pas quelques jours mais presque, après l'invention du cinéma par les frères Lumière, puisque le premier film, les premières traces, datent de 1896, avec, ça s'appelait Le coucher
première
de la mariée.
Première trace, tu veux dire?
Le coucher de la mariée, premier striptease. Et donc, on voit que ces films-là ont déjà existé très tôt. Alors, c'était au départ des scénettes filmées alors, dans des maisons closes. Alors, soit avec des jeunes actrices, des prostituées. Je parle un peu vite, mais c'est d'ailleurs que j'ai 12 pages à balancer. Hein, donc. et donc, voilà. Et avec le développement du cinéma au début du XXe siècle, les réalisateurs tournaient ce genre de scénettes en parallèle des productions traditionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était d'utiliser les mêmes décors, parfois même les mêmes acteurs, pour pouvoir même des fois
optimiser,
et optimiser même des fois le film principal. Donc ça, c'était donc avant, pendant le muet principalement. Donc le film a continué à évoluer comme ça. Donc c'était surtout des films qui étaient projetés dans des clubs privés, ce genre de choses-là. Dans les années 60, en fait, on a quand les films ont commencé à arriver sur les grands écrans, on était plutôt sur des films de nudisme. Donc la sexploitation, c'est-à-dire en fait l'idée c'était de montrer de plus en plus de jeunes filles déshabillées, de sexe. Alors généralement les scènes de sexe étaient non explicites, c'était souvent des prétextes. Alors c'est typiquement aux États-Unis, c'est Russ Meyer. Richard, tu m'interromps quand tu veux, si tu veux apporter ton commentaire. Mais voilà, Russ Meyer, ce genre de choses-là.
Russ Meyer, il a surtout fait l'apanage des gros seins.
Exactement, voilà, avec toute cette série Levi Vixen. Donc voilà, donc des réalisateurs comme ça. Et puis on est arrivé. On arrive tranquillement et on arrive aux années 70 où là c'est, je dirais, l'explosion du X. Enfin, je ne vais pas parler du X tout de suite, l'explosion du film à caractère pornographique ou du film d'amour selon Gérard Kikoïn. Voilà, et c'est pour bien préciser les choses. Et donc là on se retrouve avec, je vais baisser un peu mon micro, avec notamment aux États-Unis un film qui sort qui va vraiment marquer les esprits, c'est Gorge Profonde. En 72,
Deep Throat,
et donc avec sa première star du X qui était Linda Lovelace.
Oui, alors c'est un film qui a été tourné par Damiano. Il a coûté $600,000. Il a eu beaucoup de mal d'ailleurs à réunir cette somme,
parce que déjà à cette époque ça représentait
de l'argent. Et il n'avait pas assez d'argent. Il a appelé un petit peu le public à contribuer. Et il a réussi à réunir son budget. Donc Linda Lovelace a été sollicitée pour ce film. Et il est vrai que si on regarde les chiffres qui ont été apportés suite à la diffusion de ce film, c'est énorme. 600 millions de dollars.
C'est ça, c'est 600 millions de dollars, ouais, c'est un truc de fou, toute sa carrière. Et donc, on se rend compte à quel point c'est un des plus grands
succès,
succès de l'industrie cinématographique américaine.
Ça, en termes de rentabilité,
quelle année t'as dit? T'as éteint, t'as appuyé sur ton bouton.
C'était en... Vas-y. Ça devait être en 70 ou 72.
C'est bon là.
Oui, oui. Georges
Profond.
Là, c'était voilà.
On sent que tu manques de pratique.
J'ai fait ma Linda Lovelace. Là. Effectivement, c'est 600 millions de dollars.
J'ai pas entendu la date du coup, excuse-moi.
Pardon, c'était 72.
D'accord.
72, ouais. Voilà, 72, Gérard Damiano.
Et alors, ce qui est curieux, c'est que, bon, Linda Lovelace a beaucoup souffert du succès de ce film parce que. Elle est devenue, avant sa mort, enfin quelques années avant sa mort, à militer contre le cinéma pornographique.
Ah, carrément, d'accord.
Voilà. Elle a fait des scènes assez dures dans d'autres films, où notamment elle a tourné avec un chien, etc.
Ah oui, là, on était assez
drôle. Ouais, donc, l'histoire.
Ah, c'est elle qui a joué.
L'histoire ne dit pas si. Elle était dans tous ses bons états pour pouvoir tourner ce genre de scène. Mais néanmoins, bon, ça a été soulevé dans l'histoire du X américain, là, qui est un très très gros bouquin sur Hollywood et la Californie, quoi. Où là, effectivement, on parle de tout le système pornographique américain qui n'a rien à voir avec le système français.
D'accord.
Hein, c'est complètement à part. On a parlé de mafia, etc. Il y a eu effectivement des gens plus ou moins mafieux qui ont trompé parce que c'était aussi une question de rentabilité et de bonne rentabilité.
D'exploitation, de rentabilité. Voilà.
Et sachant que certains États aux États-Unis sont complètement interdits à la pornographie, la Californie était un gros bastion pour ce genre de film. Quoi.
Une fois qu'on était rentré dans ce milieu-là, on n'avait plus vraiment la maîtrise de ce qu'on pouvait. On n'avait plus le choix, en fait, de ce qu'on pouvait faire ou pas, c'est ça?
Non, je pense que. Non, on avait la maîtrise quand même. Maintenant.
Quand même.
Mais comme je le répète, le système français, le système américain n'a rien à voir.
N'a rien à voir. Parce que ça s'explique par une différence principale, parce que c'est
culturel
ou économique.
Oui, il y a ça, culturel et économique, compte tenu du nombre d'habitants, 60 millions ici à l'époque, enfin presque 60 millions et 200 millions aux États-Unis, le marché n'était pas du tout les mêmes. Donc et puis la diffusion était différente. Quand ça a commencé ici, c'est venu des films érotiques qui ont été achetés par certains producteurs ou distributeurs, et il y a eu des scènes additionnelles. Donc ces scènes-là étaient rajoutées dans le film avec un visa de censure qui était un visa pour un film érotique, et en fait il y avait des images pornographiques.
On va y venir justement sur cet aspect-là des choses.
Voilà, donc il y a eu beaucoup de magouilles à ce niveau-là. Ouais. Voilà.
Alors donc du coup, je parlais de Gorge Profonde, mais il y a eu également d'autres films qui sont sortis comme ça, qui ont marqué les esprits aussi, comme Derrière la Porte Verte, donc avec Marine Chambers, qui sont des films qui ont vraiment marqué leur époque à ce moment-là. Et puis j'en cite un troisième, c'est aussi Devil and Mrs. Jones, de Damiano également.
Je fais juste une petite parenthèse concernant Derrière la Porte Verte, où il y a une scène absolument extraordinaire qui se passe dans un théâtre. Et là, il y a une... Parce que, en fait, dans tous ces films, ce qui est important, c'est d'arriver éventuellement à créer un personnage, quoi. Et il y avait une femme qui était énorme, outrageusement maquillée, et qui se caressait, parce que sur la scène, il y avait une fameuse scène d'un trapèze, en quelque sorte, où le garçon faisait l'amour avec la fille. Et ça a été tourné par les frères Mitchell, avec une caméra... qui tournait, je crois, à 1000 images secondes à l'époque, et où il y a eu une éjaculation absolument fabuleuse. Et ça, c'est une scène très très marquante du film, enfin pour moi.
Oui, parce que si je peux me permettre, Richard, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que on a lumière, c'est que dans les années 70, donc c'est vraiment marqué aussi par de la créativité, et marqué aussi, il y avait des gens aussi qui en faisaient une profession de foi, limite des fois même politique et idéologique, même philosophique. Ça n'a rien à voir, cette période-là n'a rien à voir avec aujourd'hui ce que l'on peut trouver. C'est encore différent. On est vraiment sur des logiques qui n'ont rien à voir.
Absolument.
C'est pour ça. Donc c'est en ça cette période-là c'était vraiment de la période qui était où il y avait des auteurs, il y avait vraiment de l'expérimentation, il y avait vraiment des choses assez incroyables.
Et il y avait des budgets.
Et il y avait des budgets. Et on va y venir, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des budgets, et notamment, donc là, je vais revenir plus sur le côté français, parce qu'effectivement, en France,
Emmanuel.
Eh bien oui, j'y viens. Alors, Emmanuel qui est un film érotique, mais je vais y venir. En France, en 1970, c'est on va dire, ces années folles, c'est l'après 68. Là, c'est vraiment la libéralisation des mœurs. C'est-à-dire que là, c'est la jeunesse qui est dans les années 70 qui, à un moment, veut tout envoyer péter. Et c'est, on va dire, l'explosion des libertés. Et je dirais que, et notamment la nudité, etc., ça se retrouve sur les plages, la piscine, mais ça se retrouve aussi dans l'art. Et c'est ce moment où, au moment où, justement, il y a ce besoin de liberté, il y a vraiment un vrai vent qui souffle dans le cinéma. Et alors là, à ce moment-là, les films commencent à sortir, et notamment avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing au pouvoir, pendant une période assez courte, on va dire, la censure s'allège en 74, et c'est à ce moment-là que beaucoup de cinémas se mettent aussi à diffuser des films pornographiques, et on voit apparaître les premiers films pornographiques qui ont vraiment marqué les esprits, et notamment je pense à Exhibition de Jean-François Davy.
Exhibition est venu après. Le premier gros succès, je pense, a été un film érotique qui est venu, je pense, de Suède ou du Danemark, et qui s'est intitulé Les Jouisseuses, qui a été distribué par Lucien Hustex. Et c'est là où on a eu... Moi, j'ai fait un raccord, d'ailleurs, dans ce film.
Mais c'est la première éjaculation.
C'était la première éjaculation faciale. Et ce film-là a rapporté, à l'époque, 30 millions de francs.
C'est un truc de fou, en fait.
C'était énorme.
Il faut imaginer, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, à l'époque... Enfin, tu me corriges, hein, si je me trompe, mais... C'est-à-dire que même les cinémas, à l'époque, tant que le X n'était pas encore arrivé, puisqu'on n'est pas, il n'y a pas encore eu la législation sur le classement X, des cinémas classiques diffusaient des films pornographiques en même temps que des films traditionnels. Et je veux dire, c'était donc tout cinéma pouvait le faire.
Pas forcément à des horaires particuliers ou des choses comme ça. C'était
en province, il y avait la séance de minuit parce que. Et puis quelquefois il y avait même deux séances, une à 22h, une autre à 24h, tout ça pour que les commerçants éventuellement ne se croisent pas, quoi. C'était assez drôle. Moi j'ai fait quelques investigations d'ailleurs à ce sujet-là pour interroger les gens, parce que j'ai commencé à écrire un livre qui est sorti en 2010, mais j'ai écrit pendant une dizaine d'années autour de ça, et c'était une de mes préoccupations d'aller un petit peu interviewer les gens qui sortaient des cinémas en leur disant, vous venez d'assister à un film, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, mais pas du tout, j'étais en train d'attendre mon copain. Voilà. C'était un peu la réponse, comme ça, quoi. Mais sinon, bon, pour revenir à Exhibition est justement, dont a été distribué à la Gaumont, a fait quand même 800 000 entrées à Paris, hein, ouais. Faut savoir. Et ça veut dire aussi que ils ont touché beaucoup d'argent, parce qu'à l'époque, il y avait l'aide au cinéma, et puis il n'y avait pas de censure qui taxait les films pornographiques de 30% et de diverses taxes. Donc Jean-François Davy a gagné beaucoup d'argent. Sur ce, je lui ai dit que quelquefois, il était bien avec des oursins dans les poches, parce que pour les sortir après, vous savez, chaque fois qu'il fallait discuter d'un cachet, c'était les sols pleureurs. Oui, mais tu sais, les budgets sont restreints, on n'a pas beaucoup d'argent, etc., etc. Mais bon, la première époque a été quand même une époque faste, dans le sens où il y a eu des investissements par certains, y compris moi, quand j'ai fait des coproductions où on avait des budgets qui étaient importants, quoi. Ouais.
Alors, juste par rapport au salle du cinéma, il y a une petite anecdote que j'ai trouvée marrante, que j'ai retrouvée dans un bouquin qui disait par exemple que à Perpignan, il y avait des petites villes qui se retrouvaient avec leur cinéma porno, et à Perpignan, a priori, il y avait des quarts d'espagnols.
Il y avait des quarts entiers de.
Ah ouais, des quarts entiers d'espagnols.
Réputés, on va les faire.
Qui étaient encore sous la dictature de Franco, en plus, à l'époque.
Oui,
voilà.
Dans le contexte, oui.
Elles formaient dans le contexte, hein, des quarts entiers qui arrivaient à Perpignan, puis qui repartaient le soir. c'est quand même assez génial, quoi.
Ce qui est très drôle en parlant de Perpignan, c'est que lors de mon deuxième mariage, mon ex-beau-père avait un cinéma à Perpignan. Et effectivement, il me disait, bon, on a gagné beaucoup d'argent parce qu'il y avait des quarts entiers qui venaient. Mais ce qu'il ne s'est jamais imaginé, c'est que son futur gendre, un jour, aurait trimballé sa fille. aurait amené sa fille à tourner dans les films.
Il n'a pas vu le coup venir.
Cela dit, peu à sa mémoire, c'est un homme que j'aimais beaucoup.
D'accord.
Et bon, il a accepté, disons, le fait que on se retrouve dans cette situation, mais on en parlait pas beaucoup, quoi. J'ai jamais eu de réflexion à ce sujet-là.
Maintenant, mais il le savait, en fait.
C'était un homme intelligent et voilà, ça s'est bien passé. Et tout ça, c'est une question de présentation, finalement. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, si on me disait, papa, je voudrais tourner dans un film de porno, je dirais à ma fille, niette, n'en parlons pas.
Ah, ouais, non,
parce que le métier a changé.
Voilà,
le métier a changé, les mentalités ont changé. C'est complètement.
Puis le sida aussi a dû faire.
On va y venir après, justement. On va dérouler le.
Parce que oui, effectivement, le sida, on va en parler parce que c'est une des conditions pour lesquelles j'ai arrêté. De tourner, mais je vous expliquerai plus en détail.
D'accord. J'avais une autre anecdote pour vous montrer aussi quelque chose qui était assez j'ai trouvé assez amusant aussi. Par exemple, pour donner un exemple, un réalisateur que vous connaissez, Claude Bernard Aubert.
Ah, mon ami.
Voilà. Lui a réalisé l'affaire Dominici avec Jean Gabin.
Alors, oui. Il était très jeune, il avait 26 ans à l'époque.
Et dans la foulée, il
dirigeait le vieux, comme il me dit, il me racontait, ça a été un moment difficile. Et à tel point que Gérard Depardieu a démarré dans le cinéma, l'affaire Dominici. Et il a été présenté d'ailleurs à Gamma, parce que les seconds rôles, ou les petits rôles, devaient avoir besoin de l'approbation de Jean Gamma. Et bon, moi j'ai eu l'occasion de connaître ce monsieur. On est d'ailleurs toujours amis, et on se téléphone très régulièrement. Bon, c'est un homme qui a 81 ans, qui est toujours plein d'esprit, qui corrige des textes tous les matins. Enfin bref, c'est vraiment une tronche. Et il est en train de préparer d'ailleurs un grand, grand volume sur la guerre de 14-18, mais qui s'appelle Champagne 17, puisque Champagne 17, c'est la seule année où il n'y a pas eu de production de champagne. Ah. Alors ce qui est très drôle, c'est bon, il n'a pas fait que l'affaire Dominici, il a fait plein d'autres films sur la guerre d'Indochine, etc. Charlie Bravo aussi, qui a été rediffusé il n'y a pas très longtemps, L'Aigle et la Colombe. Il a fait également un film qui a jamais été diffusé, qui s'appelait La Jonque, avec... un acteur que j'aime bien, mais que j'aime moins à titre privé. Ah. bon, paix à son âme aussi, lui, Lino Ventura. Et justement, Claude Bernard Aubert était producteur de ce film. Et il y a eu un jour un clash, il y avait eu quelques petites paroles mauvaises avant, et où il tournait en Chine, et un matin, Lino Ventura arrive et il lui dit « J'en ai assez, je vais quitter le film, il y a trop de Chinois ». Bon. Alors, tournant en Chine, à mon avis, c'était un peu normal qu'il y ait quand même beaucoup de Chinois. Ça dit, bon, ce film-là...
C'est pas de savoir vivre, ces gens-là.
Ce film-là a été mis à l'index. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'il faut aussi parler donc de ma rencontre avec Claude Bernard Aubert.
Et oui, parce qu'en fait, Claude Bernard Aubert, c'est pas seulement effectivement le réalisateur de ces films-là, c'est qu'il officie aussi... Il officiait, en tout cas, aussi sous le nom de Bertrand Barry.
Alors, il a fait un anagramme de son nom, hein, voilà. Que Claude Bernard Aubert est devenu Bertrand Barry.
Voilà,
et Bertrand Barry a été sollicité par un producteur qui s'appelle Francis Mishkin, qui a été un des plus gros producteurs et distributeurs ici en France. Et par conséquent, pour lui, c'était du film alimentaire. Alors, il en a souffert comme d'autres, hein, que j'ai connus, qui venaient du cinéma traditionnel et qui ont tourné dans ce genre de film. Alors, un peu avec une espèce de honte ou de malaise, quoi. Et lorsque j'ai rencontré Claude Bernard, c'était sur un film qui s'intitule La Fessée. Alors, il y avait Alain-Michel Blanc qui était premier assistant. Et puis, moi, j'étais là pour arder, quoi.
voilà, faut dire la chose. Et lui était.
Alors lui donc était metteur en scène. Alors il dirigeait toutes les scènes qui étaient normales. Et dans les scènes de cul, il passait la main à Alain-Michel Blanc. Et puis il arrive à un moment. Moi j'étais assis, j'attendais, et il me dit je sais pas comment tu peux faire. Je dis, écoute, je suis là pour ça.
Question bête.
Mais je fais le boulot, quoi.
Moi, je suis incapable de diriger une scène. Je dis, Claude, il faut assumer. T'es un metteur en scène, ben voilà, c'est pareil, ça change rien. Sauf qu'on aura un peu moins de dialogue, on aura un peu plus de boum-boum. Mais cela dit...
Tu l'as mis à l'aise,
dit,
du coup.
Oui, je l'ai mis à l'aise. Je lui dis, non, il faut, faut... Bon, Alain Michel Blanc avait fait d'autres films auparavant, donc il avait plus l'habitude, mais il faut que ce soit toi, et puis il faut que tu t'intègres complètement dans le film, quoi. Ah, mais non, je veux que ce soit toi qui dirige les scènes, etc. Et en fait, j'ai commencé à diriger certaines scènes, et je l'ai amené, je lui ai dit, viens à côté de moi, et puis, tu vois, tout va bien se passer, t'inquiète pas, quoi. Mais sinon, bon, lui était très, il était très sévère sur la façon dont on pouvait, jouer ou transmettre la scène qu'il voulait absolument, et je me souviens d'un film où je me suis pris la honte de ma vie, j'avais une scène avec Brigitte Lahaie et puis à un moment donné il fallait que j'ai un fou rire. Bon, c'est pas évident, hein, d'avoir un fou rire. Non, mais c'est vrai.
Oui, faut contextualiser. Ouais.
Le fou rire est extraordinaire, mais quand il est spontané, mais quand il faut le reproduire, c'est pas évident. Et alors évidemment, je riais comme un con, quoi.
Évidemment.
Alors, à bout d'un moment, il commençait à gueuler en me disant, ouais, vous êtes tous pareils, vous me faites chier. Quand on vous fait jouer la comédie, vous êtes que des bites.
Quand vous êtes des bites, vous jouez la comédie, je sais plus.
J'ai pris ça dans la gueule. J'ai dit, écoute Claude, j'ai dit, maintenant ça va, j'en ai assez entendu. J'ai dit, je prends un quart d'heure de répit, d'accord? Donc je me suis retiré, je me suis concentré, j'ai oublié tout ce qui était dit. Et je vais faire un superbe fou rire. Eh bien, il me dit, tu vois, quand tu veux. Non, mais c'est vrai. Et lui, il attachait beaucoup d'importance parce qu'il tournait avec un scénario qui était découpé. C'est-à-dire que il dirigeait les scènes, il y avait un chef-op, il y avait un chef éclairagiste. Donc, on faisait les lumières auparavant. Après, il découpait en fonction des phrases qui étaient dites. Plan américain, plan large, ouais. etc.
Il y avait une vraie création derrière.
C'était construit comme un film traditionnel.
C'était du cinéma.
Voilà. Après, bon, mais il y avait les scènes de baise, et puis là, il laissait libre cours à notre imagination. mais malgré ça, quand même, il avait aussi son mot à dire dans le sens de l'image, quoi, parce que quelquefois. Est-ce que lui ou quelqu'un d'autre nous disait « Rentre ton ventre, on voit pas ta queue » ou je sais pas quoi.
Non, mais attends, t'as jamais sorti ça, toi.
Non, mais... C'est... Et puis, c'est-à-dire que les mecs se rendaient pas compte, en fait, de la difficulté. Alors, pour mettre un peu les pendules à l'heure, je suis pas un exhibitionniste. Alors, ça va paraître curieux, parce que être à poil sur un plateau,
te gêne pas.
Ça me gêne pas, mais ça veut pas dire que j'exhibe, quoi.
D'accord.
Donc je suis à l'aise avec mon corps, même si j'ai un peu grossi encore aujourd'hui, mais de toute façon je parais plus, donc ça pose pas de problème. Mais j'étais à l'aise dans mes baskets, j'étais à l'aise dans mon corps, et pour moi ça posait pas de problème. Le problème venait plus des gens de l'extérieur qui se sentaient plus gênés que moi. Non, mais voilà, parce que une espèce d'hypocrisie dans ce métier qui a vraiment qui était à la fois prise par le fait c'est un acteur de film de cul, bon, il peut pas faire ce que j'aimerais faire ce qu'il fait, mais j'ose pas ou je peux pas ou ma position, etc. Alors d'un côté il y avait un rejet, puis d'un autre côté il y a une espèce d'admiration, voilà. À tel point c'est que quand il y a eu les hautes vidéos, on aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais les hautes vidéos à Cannes, qui se passaient pendant le festival de Cannes. Les hautes d'or. Les mecs se précipitaient. Il y a eu des fausses cartes d'invitation qui ont été émises, etc. C'était incroyable, quoi. Incroyable. Moi, j'ai rencontré plein d'acteurs là-bas qui me disent, oh, tu peux pas me faire rentrer. Voilà, bon, c'est vrai. Mais c'était vachement prisé, quoi. Alors, au début, ça s'est passé à Cannes. Et puis, ça a gêné certains. Et puis ensuite, ça a été fait à Mandelieu, où là, ça se passait très bien. Mais bon, ça s'est arrêté un jour parce que le cinéma a changé, quoi.
Ah ouais. Oui. Du coup, j'en reviens pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est toi, justement, par rapport à cette vague donc, qui a déboulé, c'est le cas de le dire. Comment, en fait, on se pose la question, c'est en fait comment est-ce que on arrive
dans le milieu du porno. C'était une question que Christophe voulait poser.
Donc je la pose
à sa place. Je t'invite à la poser, en fait, du coup.
Ça y est, en fait. Voilà. Christophe, peux-tu répéter la question? Non, mais
comment vient-on au métier?
Non, c'est l'idée, c'est que à un moment dans sa vie, qu'est-ce qui fait que on va se diriger dans ce métier-là? Est-ce que c'est le hasard, une rencontre? Est-ce que c'est un désir? Ou alors,
si c'est un désir, comment on passe
Est-ce que c'est parce qu'on se rend compte qu'on a des dons naturels pour, non, mais qu'est-ce qui fait que voilà qu'on arrive à exercer cette fonction,
alors,
ce métier?
Alors, avec la réflexion, c'est un peu
tout ça, quoi.
C'est un peu tout ça. Mais j'ai coutume de dire que la vie n'est qu'une question de rencontres. C'est une succession de rencontres. Et puis, il s'est trouvé que j'avais un métier. Enfin, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, mais en 69-70, j'ai fait la rencontre d'un garçon qui avait une société de construction de maisons individuelles. Et je lui ai donné des coups de main le dimanche, où j'allais me faire un peu de pognon, et puis pour voir un petit peu le métier, évidemment. Et je me suis pris au jeu. Moi, j'étais auparavant chef de service dans une société d'import-export. Mmh. Donc, je me suis arrangé avec ce monsieur pour monter une agence à Aix-en-Provence. Et j'ai bossé comme ça pendant 2 ans avec cet homme.
J'avais une trentaine d'années à l'époque.
Oui, j'avais une trentaine d'années. Ouais. Donc, ma femme était secrétaire. On avait nos deux enfants avec nous. Et en 72, j'en ai eu marre. Et à côté de ça, j'ai remonté une société pareille, avec des gens qui ont apporté un financement, mais qui étaient des mecs qui comprenaient rien, qui étaient avec des idées rétrogrades et qui étaient pas du tout dans le sens que je voulais. J'ai revendu mes parts et je suis remonté sur Paris. À Paris, je me suis inscrit au chômage. Et il faut dire qu'à ce moment-là, c'est pour répondre un petit peu à la question du pourquoi et du comment. Dans les années 65-66, j'étais un des protagonistes pratiquants, pas de l'église, mais des soirées et de ce qu'on a appelé à une époque le petit train de la Porte Dauphine. Donc c'était des partouches.
Qu'est-ce à dire Là, ça nous intéresse.
Non, c'était
une soirée de libertinage.
Un lieu de rendez-vous, la place Dauphine. D'ailleurs, je pense que si on y retourne aujourd'hui, on doit retrouver un petit peu ce qui se passait par le passé. Mais là, il y avait donc une réunion qui se faisait de tous les coquins de France et de Navarre. Voilà. Et donc il y avait des gens qui avaient des locaux, mais qui osaient pas un petit peu organiser. Donc moi j'étais l'organisateur. D'ailleurs il y a un bouquin qui a été écrit à cette époque-là qui paraît-il s'appelle L'Organiste, qui me concernait.
Ah bah, ça.
L'Organiste, voilà. Bon. Et moi j'ai commencé à recruter des gens qui avaient des maisons, des belles villas, des appartements, et on sélectionnait. La personne me disait, bon, écoute, il faut 15 couples, il faut 20 couples, il faut 3 couples. Bon. Et ça s'est fait comme ça. Alors, ça veut dire aussi que quelque part, j'aimais le sexe, bien entendu. Hein.
Vaut mieux, oui. je te le souhaite.
Donc, un beau jour, j'organise une grande soirée.
Ou peut-être une nuit.
J'organise une grande soirée qui se passe dans le 13e. Et ça, on parle de 74. Mmh. Même peut-être un petit peu, fin 73.
Un peu avant, est-ce que c'est...
Et qui se passait chez un garçon qui est très connu, qui a une très grande école de comédiens.
D'accord.
Et puis...
Il se reconnaîtra s'il nous écoute.
Vas-y, c'est qui ?
Non, mais bon, au cours de la soirée, j'ai été déguisé en curé.
Ah, on y revient, quand même.
Sous la soutane.
Curé chez les nudistes.
À poil sous la soutane, la bite à l'air, bien entendu. Et là, une rencontre. J'étais en train de confesser une...
Elle était très vilaine.
J'adore.
Voilà, une malheureuse qui avait beaucoup péché.
Et manifestement, n'avait pas forcément envie de ne pas y en venir.
Elle n'avait pas fini de pécher.
Elle avait beaucoup péché aussi.
Et elle me dit, mais dis donc, j'ai un copain qui fait des romans érotiques et porno et qui cherchent des mecs comme toi, quoi, qui ont une belle bite, et puis voilà, cassure. Bon, moi, je dis, écoute, ouais, c'est sympa, mais j'en sais rien, voilà. Écoute, je te donne les coordonnées, on verra, et puis tiens, voilà mon téléphone. Et en fait, c'était Sylvia Bourdon.
Ah oui.
Très connue dans d'autres domaines aussi. Hein. Elle a beaucoup participé d'ailleurs aux soirées qu'on faisait. Elle en a beaucoup organisé.
Elle a joué dans Le Sexe qui parle, non ?
Le Sexe qui parle, oui, oui. Non, mais après, elle a travaillé sur l'euro. elle a contribué à l'euro, ouais. Etc. Enfin bon, c'est une fille très intelligente qui parlait 5 langues. Enfin ouais. Bref. On pourrait dire que c'était la papesse du cul. Elle a écrit un bouquin.
La papesse du cul, comme ça, en passant.
Non, mais elle a écrit un beau bouquin et je vous conseille de le lire, parce qu'on doit encore pouvoir le trouver, je pense, dans la collection J'ai lu ou autre. Et ça s'appelle L'amour est une fête. Très intéressant.
Un joli titre, en tout cas.
Ouais, L'amour est une fête.
En tout cas, le vote, ouais. On ne peut plus l'avoir. Hein.
Non. Mais le problème, c'est que. Mon éditeur, il a déposé le bilan.
Ah, d'accord.
Il a beaucoup œuvré, pas pour nous, les écrivains, enfin les écrivains. Il a beaucoup vécu pour lui et pour ses amis. Donc le problème, c'est que tous les bouquins ont été foutus au pilon. Et bon, moi, j'ai pas touché d'argent. Enfin, j'ai touché un petit peu, mais j'avais pas d'avaloir. Mais j'ai pas touché grand chose et il me doit encore pas mal d'argent. Mais je suis pas le plus mal loti parce que il y en a d'autres comme Claude Cantès qui a écrit 36 Quai des Orfèvres, qui lui a perdu beaucoup d'argent. Quoi. Alors lui, Claude Cantès, c'était un ex-directeur du 36 Quai des Orfèvres.
D'accord. Mmh.
Voilà. Alors donc, elle me donne le téléphone de ce mec-là. Moi, je rentre chez moi. Ma femme n'était pas là ce soir-là. Alors je raconte l'histoire, quoi. Je lui dis, écoute, parce que on était un couple libre. Hein,
oui, ça vous.
Sans doute un petit peu.
Vous allez y venir, moi. Si
non, mais il va aller mieux.
Ça doit aider, forcément. Ou sinon, ça pose des problèmes.
C'est plus facile d'être libertin que de ne pas l'être.
voilà. Mais bon. Donc je lui raconte l'histoire. Je lui dis, écoute, bon, comment. Je cherche du boulot pour l'instant, on aime bien le cul, ben
pourquoi pas, quoi.
Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, pourquoi pas, on pourrait le faire ensemble. J'ai dit, ouais, c'est peut-être un peu plus difficile.
C'est
pour
plus
toi.
Chiant.
Non, mais parce que je connais bien ce milieu pour l'avoir pratiqué et je connais l'hypocrisie des gens, le phénomène de sexe par rapport à la femme, parce que même dans les partous, bon, je veux dire que c'était très intéressant parce que par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui, parce que c'est plus du tout la même chose, ni dans le cinéma, ni dans la vie érotique de chacun. Il y avait une liberté de sexe qui était absolument phénoménale. C'est-à-dire que on n'avait pas de précautions à prendre, il n'y avait pas de MST, il y avait une petite blénorragie qui traînait.
Il y avait une petite touille qui traînait quand même.
Pas le sida, pas tout
ouais,
ça.
Non, mais.
Il y avait.
Le sida, non.
Non.
C'est 80, effectivement.
85.
Non, 85.
Oui, oui. 82, le sida.
Ouais, 82, même. Oui.
Mais ouais. C'est vrai qu'à cette période-là, c'est juste un truc, c'est ce qu'on appelait la parenthèse enchantée, en fait.
La parenthèse enchantée,
des années 70.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, mon bouquin a failli s'appeler à un moment entre la parenthèse enchantée, quoi. Mais bon, l'éditeur a choisi un titre sur mon bouquin qui me convenait pas du tout. 8000 femmes, j'ai dit, je suis pas d'accord. Mais comme
c'est
il avait
au moins 12 000.
Non, parce que dans l'histoire, vu la quantité de femmes que j'ai eues entre le cinéma plus le reste, ça faisait à peu près 8000 pour arrondir les chiffres. Mais il a pris ça comme exemple d'une ville, je sais plus laquelle on a mis à ce moment-là. J'ai pas tout en mémoire. Et il a dit, voilà mon titre. Et j'ai dit, non, moi, je préférais l'homme pacha. C'était plus dans l'esprit de ce que je représente.
De ce que tu étais.
Voilà. De l'érotisme, du charme aussi.
Il y a moins le côté performance, effectivement.
Certains journalistes ont fait un calcul en disant, mais attendez, comment? 8000, alors oui, on arrive là. Et j'ai dit, attendez, j'étais un garçon précoce, à 10 ans je me branlais déjà. Alors comme ça, j'ai eu mon premier rapport à 12 ans et j'ai tout le temps œuvré, quoi. Donc
faut pas s'endormir sur ses lauriers, c'est bien.
Voilà, bon. Alors, bon.
J'aurais pu faire carrière. Mais...
Ce que j'allais dire, c'est tout moi, ça.
Mais alors, tu veux dire que moi, à 37 ans.
Ceci dit, se masturber qu'à 10 ans, c'est un peu. C'est pas normal. Bah, lui, il a dit. Ah, mais c'est bien avant qu'on se masturbe, quand on est petit garçon.
Ah, mais tu t'as l'air d'en savoir, toi, madame la fille.
Non, mais c'est-à-dire, bon, que ce soit un garçon ou une fille.
C'est anal.
J'ai eu une de mes filles qui, à 5 ans, je l'ai vue devant la glace en train de se masturber. Je lui dis, tu viens, ça fait deux fois qu'on t'appelle pour manger. Je lui ai pas dit, tu te masturbes, c'est sale, etc. Non, voilà. Non, c'est un geste naturel. On découvre son corps, que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, on parle du clitoris vraiment d'une façon très, très ouverte. Mais pendant très longtemps, c'était. Non, il ne faut pas se masturber.
Ah
ben, ça rend sourd, etc. etc. Alors donc,
facile.
Alors donc j'en parle à ma femme qui me dit bah, écoute bon pourquoi pas on va téléphoner à ce mec-là. J'appelle Pierre et je lui dis je viens de la part de Sylvia Bourdon qui m'a dit que vous cherchiez des modèles pour les romans photos. Bon d'accord ok bon rendez-vous est pris. Il y avait donc ma femme moi et puis un couple. Après il y avait donc le photographe. Pierre, qui dirigeait les scènes, et puis un mec qui était à l'éclairage. Et là, la fille avec qui je devais copuler à un moment ou à un autre, petite blonde, petit sein, tout ce que j'aime, les yeux bleus, très mignonne. Et là, la virgule dans Les Misérables.
Aïe. Là, pas
rien.
Mais rien. C'est-à-dire que j'ai pas bandé. Et là, je me suis posé la question. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Tu artis comme un fou. Et là,
c'était le blocage total, en fait.
Ah, blocage. Complet. Donc, on s'est confondu en excuses. Le mec qui était là, il a fait les raccords parce que bon, ça fait partie aussi du métier. Le raccord sexe, comme si c'était moi, etc. Bon. Pierre me dit, écoute, te casse pas la tête. De toute façon, bien souvent, c'est comme ça que ça se passe la première fois. Bon, bah, je dis, on va recommencer une deuxième fois, hein, si tu veux bien.
Je veux pas rester sur un échec.
Et donc, il m'a rappelé. Entre-temps, j'ai mûri la réflexion. Je me suis dit, on n'est pas en face d'une femme que tu as séduit ou qui t'a séduit. On n'est pas dans une partouze. Mmh, on est sur un lieu de travail.
Voilà.
Ah, ça, c'est particulier, quoi.
C'est un boulot. Mmh. Donc, il faut, ce que je disais dans mon livre, séparer la tête et les jambes. Pour faire une référence à Pierre Bellemare, quoi, c'était important d'occulter le staff. Et la deuxième fois, ça a très très bien fonctionné, c'est tout. C'est-à-dire que moi, j'arrivais sur le plateau, ici, voilà, j'étais concentré sur ce que j'allais faire, point à la ligne. Salut, tu vas bien, ok, tu fais ton boulot, je fais le mien. Ouais. Et ça a été comme ça, et c'est parti comme ça. Ma réputation s'est faite au travers des romans photos, parce que j'ai commencé par là. Et à tel point que quelquefois, on m'appelait à 11h ou minuit, où les mecs, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient avec un mec qui bandait pas depuis 2 heures. il fallait qu'il boucle. Je dis, bon, écoute, je me déplace, mais tu sais comment ça coûte. Hein. Ouais. Et là, j'ai commencé à élever un petit peu mes tarifs et à exiger toujours ce que je voulais, par rapport à la performance, c'est tout. C'est-à-dire, je dis, pourquoi je vais venir rendre service pour un mec qui ne bande pas. Donc, tu payes un certain prix, mais moi, tu me payes encore plus cher. Parce que tu auras ce qu'il te faut.
Non, mais voilà, on paye
la petite blonde, petit sein, et puis c'est bon.
Non, mais voilà, après, bon, il y a des mecs, ils aiment les gros seins, et, bon, les poils et pas les poils, etc., etc. Chacun a ses critères. Mais la question se posait, parce que j'étais en face d'une fille qui était jolie, qui avait un corps qui me plaisait, je pouvais même pas dire elle a des gros seins, j'aime pas, ça me bon ouais, après on oublie parce que on est passé partout, sauf ce que j'ai toujours refusé parce que c'est pas que je sois spécialement raciste, mais je peux pas baiser une noix, voilà.
D'accord.
Pour moi, c'est une question de cheveux, de ces crépules.
Ça reste le physique, en fait, quelque chose dans le physique.
C'est dans le physique, tu vois. Par exemple, à notre époque, on avait de la pilosité. Les filles, bon, avaient du poil aux fesses, plus ou moins. Mais enfin, bon, moi, je pense qu'une femme, elle est ce qu'elle est en tant que représentation féministe, c'est-à-dire, elle a des poils sous les bras. Bon, ça peut se dire aussi, on les rase pour une question d'esthétique, parce que ça se voit. Mais par contre, au niveau du sexe, bon, moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de poil, quoi. Parce que sinon, ça fait quoi? Ça fait référence aux petites filles. Et
ouais,
puis,
je suis d'accord.
Bon, voilà. Alors moi, j'ai une femme, le reste une femme, basta. Qu'on se fasse faire le maillot, je veux bien, mais après, c'est devenu une espèce de, de demande des metteurs en scène, de leurs propres fantasmes, parce que ils nous ont toujours, enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ils nous font toujours à travers leurs scènes, leurs propres scènes de leur vie qu'ils n'osent pas faire. Voilà. Ça, c'est important. Donc, les romans photos, eh bien, quand on est en face de quelqu'un qui est désirable, on ne doit pas être en perdition, quoi. Alors, c'est ce qui s'est passé la première fois, et puis ça s'est plus jamais repassé. Donc, j'ai fait des romans photos, j'ai beaucoup bossé, et puis, un beau jour, il y avait un des protagonistes, comme moi, qui me dit, ah, bah, tiens, il y a un casting pour un film, il cherche des mecs comme nous, bon, voilà. Alors, je me suis présenté, c'était chez Lucien Hussex.
D'accord.
Donc là, j'ai fait ma rencontre.
Regarde Ludo comme si. Bah oui, tu sais, tu te rappelles Lucien.
Oui, c'est les Jouisseuses en 74, c'est celui-là, non?
Alors,
c'est
un peu avant. Non, c'était un tout petit peu avant, mais en fait, c'était un casting.
Tu vois bien le poisson.
C'était un casting pour un film qui s'appelait La Sucette Magique.
Voilà. Mais il y avait une certaine poésie, c'est vrai, dans les.
C'est mignon.
Tout à fait.
Oui, c'est mignon.
Oui, c'est joli. Moi, j'aime bien.
Je ne sais pas, vous en avez déjà vu quand vous étiez plus jeune.
Attends.
Et donc, là. Alors, je me suis présenté au casting avec mon épouse. Bon, on a été engagé, bien entendu, parce qu'on avait certaines recommandations en disant, bon, ce mec-là, il n'y a aucun problème, il assure. Bon, et on a tourné donc dans La Sucette Magique. C'était très drôle. Un petit cachet.
Mais c'était avec votre femme.
C'était avec ma femme.
Tu peux tutoyer, on a dit qu'on se tutoyait.
Au départ, c'était avec ta femme.
C'était avec ma femme.
D'accord.
Voilà. Bon, elle était pas très à l'aise, c'était pas trop son milieu. Elle est venue à faire des soirées avec moi, comme elle dit, par amour. J'ai dit oui, d'accord, mais j'accepte mal le terme par amour parce que j'estime pour ma part qu'on fait pas les choses par amour, on les fait par désir. Alors bon, c'est peut-être une parade, d'autant que j'ai étayé en disant, bon, moi je prends mon pied, mais je t'ai aussi vu prendre ton pied, donc tu n'as pas pris ton pied par amour, tu l'as pris physiquement, quelque part, voilà, il faut pas
être hypocrite, quoi.
Il faut remettre les choses à leur place.
Je ne prends pas pour des cons, hein.
Voilà, c'est toujours difficile d'expliquer, parce que ça c'était aussi une grosse question des journalistes qui me disaient, mais comment vous pouvez faire l'amour toute la journée? Non, j'ai dit, je baise toute la journée et je fais l'amour le soir avec
ma femme. Voilà.
Ça n'a rien à voir.
Le sexe,
même si beaucoup de femmes disent, oh non, mais moi je peux pas baiser comme ça, il faut que j'aime, il faut que j'ai un sentiment, etc. Non. Et c'est là, justement.
Non, il faut qu'elle soit bien chauffée, puis ça vient.
Voilà, non, mais.
Ben, si.
Ça
dépend avec qui,
c'est une question de mentalité.
Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si t'es pas réfractaire physiquement à la personne qui est en face de toi,
ça peut marcher.
Si c'est bien fait, si on te chauffe bien, je vois pas pourquoi tu craquerais pas. On est humain.
Ça n'a rien à voir, le plaisir physique et l'amour qu'on peut porter à une personne. Après, c'est une question d'entente personnelle, de complicité dans le couple, etc., etc. Bon, mais cela dit, c'est très difficile aussi de vivre dans ce milieu et de durer dans le temps.
Oui, j'imagine.
Voilà. Alors, pour en venir au film, lors du deuxième casting, moi, j'ai vite cogité l'histoire. Et je leur ai proposé, non seulement mes services, mais je leur ai dit, vous avez besoin de décors. Certainement. Compte tenu de toutes les soirées que j'avais fait et organisées, j'avais des références. Et comme les mecs aiment bien le cul, quand je leur ai dit, dis donc, tu peux nous louer l'appartement, parce qu'il y a un film qui va se tourner, ah ouais, c'est bon, putain, je vais pouvoir mater, etc.
C'était seulement pour mater.
Alors, participer aussi.
Justement, ils voulaient mater ou participer?
Est-ce que je peux baiser un peu, tu crois?
Attends, on est dans un film.
Là. Alors là, les mecs, je vais vous prévenir.
Tu vas défoncer.
Non, mais il y a une ligne, quoi.
Vous louez votre appartement. C'est pas une partouze, c'est un film.
Pareil, encore, il faut sortir.
Voilà. On sort du contexte. Alors souvent, les mecs me disaient, mais je peux mater, etc. Alors j'ai dit, écoute, mater, tu mettras plus dans les partouzes qu'on peut organiser et tu vas plus te régaler qu'à regarder un film. Mais bon, tu passes 5 minutes sur le plateau, tu regardes et puis c'est marre. Après, c'est une question de présentation. Mais j'ai jamais voulu que ces lieux de tournage soient des lieux d'exhibition et de zoo, quelque part.
Un peu de folie.
Donc j'ai toujours été très strict là-dessus quand j'ai dirigé, quand j'ai fait mes castings, en disant bien, nous on vous loue, on ferme les portes, quand on sort d'une pièce, on met son peignoir, il y a des gens qui n'ont pas envie de voir ta bite qui pend, oui. et tes nichons qui tombent, ou qui sont beaux, peu importe. Mais il faut respecter les gens. Voilà. Alors, je leur ai proposé à la fois un cachet pour mes prestations, et puis un cachet pour ce que j'allais organiser au niveau des décors. Et c'est venu comme ça. Et après, j'ai proposé des comédiens qui n'étaient pas forcément avec les contacts que je pouvais avoir. C'est parce que souvent, on demandait des filles. Donc, j'ai recruté pas mal de filles qui étaient, parce que je sortais tous les soirs en boîte, pratiquement, des filles qui étaient dans les partouzes. Donc, bon, Brigitte est sortie de ce milieu.
Brigitte Lahaye.
Brigitte a été présentée par... par ce milieu-là. Et moi, ma rencontre avec elle, elle s'est faite au bout de quelques films. Alors, elle était très intimidée parce qu'elle allait rencontrer la star du porno. Elle m'a dit, oui, mais non, je lui dis, écoute, tout va bien se passer, t'inquiète pas. J'ai toujours voulu que ça se passe bien sur le plateau, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'antagonisme entre les différents garçons et filles, parce que c'est un milieu, comme dans tous les milieux, qui est particulier, où il y a une certaine jalousie, des tiraillements, pourquoi lui et puis moi.
Rapport de force.
Voilà, bon. Alors, évidemment, pour les filles, c'est beaucoup plus facile parce que, comme on dit communément, c'est plus facile d'avoir la bouche ouverte que le bras tendu.
C'est joliment dit,
ça. On dirait mon père.
Mais ce qui a fait la différence, parce que à une époque, on avait l'appellation des sept samouraïs, parce qu'on était sept garçons qui pouvions assurer à n'importe quel moment et sans trop de difficultés. Donc, on voyait beaucoup plus souvent les garçons que les filles. Alors, il y avait un recrutement qui devait se faire par les filles. Alors, moi, j'ai recruté quelques belles plantes, hein, dont certaines sont décédées aujourd'hui pour différentes raisons. Et en sortie de boîte, dans les boîtes, une actrice que j'ai adorée, qui s'appelait Véronique Mougarski, par exemple, Julia Perrin, enfin bon, Cathy Stewart, etc. Mais voilà, donc je vendais mon casting et je vendais mes décors. Et je vendais mes prestations.
D'accord. Et du coup, donc, on parlait de cachet tout à l'heure, comme tu multipliais un petit peu les activités, est-ce qu'on vit bien d'être acteur porno dans ces années-là ?
Alors, non, moi, pour ne rien vous cacher, mon premier cachet, c'était 250 balles.
Hein. Mais enfin, non, c'était pas...
Non, 250 francs, non, c'était non, pas grand-chose.
25 000 francs anciens.
Oui. Hein,
ah, donc...
Mais c'est pas... Je peux te dire que c'est pas resté longtemps à ce tarif-là.
Bah, j'imagine, oui, comme tu as su tirer profit toujours de la...
Voilà, alors...
Tirer... Non, je rigole.
Oui, j'ai su tirer.
Profit. Le profit est venu.
Non, mais t'as sauté sur les opportunités.
T'as fait exprès. T'as tiré, t'as sauté et t'as tout niqué, quoi.
Il est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte. Je suis pas trop con, quand même. J'avais étudié aussi l'expotentialité de ce genre de film. Le succès des jouisseuses, il est apparu très, très, très rapidement. Donc, par conséquent, ne serait-ce que par les entrées de salle.
Déjà.
Donc, j'ai dit, messieurs, vous me voulez, vous me payez.
Oui,
ça change tout.
Alors, donc, j'ai acquis depuis le début une certaine notoriété de quelqu'un qui était sérieux et qui assurait. Bon. Alors, le casting, c'était en fonction des nombres de décors, du budget qu'on pouvait avoir, etc. Pour les comédiens, j'ai jamais voulu prendre un rond sur les comédiens. J'ai dit, vous me payez pour le casting. Je ne suis pas un agent. Et dans ce milieu-là, ce serait mal pris. Voilà. Donc ça a été... Parce que, après, on m'a demandé, mais pourquoi tu ne veux pas être notre agent, etc. J'ai dit non, moi, ce qui me plaît, c'est de tourner, de gagner de l'argent, et de monter les productions, etc. Donc, j'ai décomposé, en fait, mes cachets. Et j'ai demandé, j'ai exigé un certain prix. Alors, ils étaient toujours là à me dire, oui, mais tu comprends, tu t'en parles pas. J'ai dit, non, mais ça, c'est entre toi et moi. Mm-hmm. C'est tout. Moi, je défends mon beefsteak. Après, maintenant, un mec qui bande pas, vous le payez pas, c'est pas mon problème.
Mm-hmm. Oui, bien sûr.
C'est pas mon problème. Donc, alors, au début, ça a pas duré très, très longtemps, mais j'en ai bien vécu, oui, effectivement.
Et comment on fait pour aller pointer
Putain, en fait, que des connotations sexuelles.
Elle a pas de travail en ce moment.
Mais elle est très sexe. Hein,
oui, non, mais carrément, elle est chaude comme la braise.
Ça va, ça va.
Pour aller pointer au chômage en disant mon métier, c'est ça, c'est pas gênant non. À cette époque-là.
Alors, non, parce qu'on a, on a un bulletin de salaire. Aujourd'hui, les mecs n'ont plus rien. Hein, c'est...
Ah oui.
C'est au black, en fait.
Oui, c'est au black. Ou enfin, bon, ouais,
c'est moins formalisé.
Puis même dans le temps, des mecs en avaient rien à foutre. Ce qui les intéressait, c'était toucher du black. Et puis, le chaume du, tout ça, ils ne connaissaient pas. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui étaient un petit peu des gens hors zone, quoi. Entre guillemets, hors société, quelque part, quoi. Alors, bon, moi, j'ai toujours eu les fiches de paye, j'ai été répertorié comme comédien, et en tant que comédien, ben, il y a les acédiques des comédiens. Mmh. Et à ce titre, on était comédien à part entière.
D'accord.
Donc, on avait un certain nombre d'heures, comme des comédiens, où les gens du spectacle doivent réunir pour avoir leurs acédiques. Et les périodes où je ne travaillais pas, ben, je touchais mes acédiques à partir du moment où un jour j'ai eu 1014 heures dans l'année. Quoi.
D'accord.
Juste, oui, Ludo. Oui, pour reprendre un petit peu par rapport à ta carrière, donc ce que tu disais là, les castings, donc les cachets qui commencent à augmenter, évidemment, les budgets. Et pour reprendre un peu le cours historique des choses, c'est qu'en 1974. Donc sort, enfin, je veux dire, toute cette période effectivement qui est assez faste, hein, je crois, effectivement, avec les, tu parlais des entrées, etc. Et avec cette période-là, ce qui s'est passé, c'est que d'ailleurs, qui a coïncidé avec la sortie d'Emmanuel, un des gros succès en 74 de l'année, qui a 9 millions d'entrées en France et 45 millions dans le monde. Hein, donc
c'est quand même, ouais.
C'était, vous voyez, encore
un gros succès quelque chose pour l'époque.
Et en France, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent contre cette espèce de vague de liberté et des censeurs qui demandent à ce que soit proscrite toute nudité, puisqu'en plus les affiches pouvaient être affichées, enfin voilà, pouvaient avoir des affiches un peu partout. Le gouvernement de Jacques Chirac, à ce moment-là, décide, enfin, ne souhaite pas une censure, on va dire, frontale. Mais en fait, il va contourner le problème en installant, voilà, un principe de classement, c'est-à-dire qu'en fait, une taxation des films. Et là, c'est là que ça va être le tournant, puisque ça va changer pas mal de choses.
Les fameux 30% dont on parlait tout à l'heure.
Exactement. De 30%. Oui, enfin, et alors, il n'y a pas que ça.
Il y a
plusieurs choses. Il y a d'une part la taxation des films à 33%. Il y a un prélèvement de 20% sur les bénéfices du film pour alimenter le fonds des films dits traditionnels. Mmh. Et au-delà de ça, il y a également les réseaux spécialisés, les réseaux qui diffusaient donc des films qui sont eux-mêmes, qui se retrouvent eux-mêmes impactés par cette nouvelle législation.
Des règles de diffusion peut-être aussi
Du coup, les films se retrouvent cantonnés dans les réseaux spécialisés, dans les réseaux de cinéma qui diffusent donc des films, et ces mêmes réseaux se retrouvent même, sous le joug de cette classification. Donc dès qu'un film est donc marqué du sceau X, on va dire, à partir du 1er janvier 76, à ce moment-là, effectivement, il n'a plus le droit de citer dans les réseaux traditionnels. Enfin, en tout cas, sauf effectivement en contrainte très lourde, et du coup, forcément, par la force des choses, le film se retrouve dans ces ghettos-là. Enfin, quand je dis ghetto, c'est vrai, j'entends en sens ghetto, dans le sens où vraiment, c'est complètement, il se retrouve complètement cantonné.
Il est moins grand public, quoi.
Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que les budgets, bah, c'est un film comme ça, les films, j'imagine, hein, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ça, nous dire. Là, c'est quand même un peu un coup de massue parce que sur les budgets, on sait bien qu'en France, il y a eu quand même toute cette période-là, il y a eu des films avec des budgets. Tu parlais de budget quand même. Il y avait un soin qui était apporté aussi au décor, qui était porté aux histoires, qui était porté aux personnes. Tu parlais tout à l'heure de personnages. Il y a vraiment des films. Il y a eu toute une vague de films qui avaient vraiment entre guillemets une ambition, en fait. Parfois, c'était vraiment quelque chose qui était poussé là où, petit à petit, effectivement, la production a commencé à décliner.
Elle a décliné parce que, justement, restriction de budget. Tous les films d'importation dits érotiques qui venaient d'Allemagne, de Suède, Danemark, puisque c'était la base, taxés de 300 000 francs. Donc, 300 000 francs.
Ça calme direct.
Pas d'aide au cinéma. Alors, la parade, elle a été vite comprise par les producteurs. C'est-à-dire qu'il y avait une version soft qui était tournée et une version hard. Donc, la version soft était présentée à la censure et donc non classifiée X. Ce qui permettait éventuellement d'avoir de l'aide au cinéma, etc. et de passer au travers. Bon, ça a été vite.
Ils ont vite fait. Parce qu'il y en a qui passaient la version hard, en fait, qu'ils rajoutaient.
Avec des inserts. Ouais,
toujours. Alors, il y a deux choses. Il y avait des films de merde dans lesquels on tournait dans des caves des scènes additionnelles. Moi, je me suis retrouvé un jour avec un décor somptueux de Tahiti derrière moi, du sable qui avait été déversé dans une case où on bousinait avec un bruit de sac et de ressac de la mer à côté, quoi.
C'est génial, ça.
Et là, il faut bien dissocier son esprit.
Mais plus fort la sono, Roger, on n'entend pas bien la mer.
Mais il y a eu des abus dès le départ, quoi. Alors, en plus, ces petits malins qui mettaient 3 francs 6 sous, qui gagnaient beaucoup de pognon, qui réinvestissaient pas. Il y a eu des productions, parce que même Lucien Hustek, c'était pas énorme les budgets qu'il a loués, et quand on sait qu'on gagne 30 millions de francs à l'époque, pour les scieuses, on dit bon, il va mettre un peu de pognon, quoi. Non. Alors, dès le départ, ils ont voulu un petit peu restreindre les budgets. Bon. Par exemple, si on prend Exhibition n'a pas coûté beaucoup d'argent, parce qu'en fait, ce qui a fait surtout le succès, c'était la protagoniste principale, et puis cette fameuse scène de partout, ce qui était une scène très, très érotique et pas très hard, mais avec des gens qui n'étaient pas connus, et qui passe dans un circuit traditionnel. 800 000 entrées.
C'est un truc de fou.
Bon, il est passé à New York, à Cannes. Enfin bon, il a touché beaucoup d'argent. Après, il a fait Exhibition 2. Après, il a fait Exhibition 79 avec Mon Histoire, mais qui a été écourtée parce que j'ai divorcé, enfin ma femme m'a quitté. Donc on a divorcé, on a changé un petit peu le fond de l'histoire. Mais il a jamais vraiment réinjecté l'argent qu'il a gagné, et il n'a même pas payé ce qu'il devait payer pour certains. Okay. Alors ça a permis quoi à ces gens-là de s'acheter des belles baraques, des appartements sur les quais de Seine, etc. Même si on est ici sur la Seine.
On est sur les quais de Seine, mais c'est pas la même action.
C'est pas.
La roulotte est sur les quais de Seine.
La Seine est la même. La Seine est la même, mais pas le quai, quoi. Et donc on avait quand même, par certaines productions, des gens qui ont bien compris qu'il fallait investir. Alors, le fait déjà de tourner en 35 mm, ça veut dire que le tournage ayant été fait, il a été construit autant que possible comme un film traditionnel. Oui. Ça veut dire avec des éclairages. Oui. Quand je parle de la chimie, ça vous parle pas, mais ce sont des gros éclairages qu'on met quelquefois 3 heures ou 4 heures pour mettre en place. Donc pendant 4 heures, il n'y a rien qui se tourne.
Voilà.
Donc on a une scène, après on la démonte, on va ailleurs, etc. etc. Donc il y a un vrai budget qui doit s'instaurer. Les rushs, le soir, on allait les visionner pour certains. Pas tout le monde, mais moi souvent j'y étais. Pour voir si tout était bon. Quelquefois, on retournait le lendemain une nouvelle scène parce qu'elle avait été plus ou moins loupée. Et aujourd'hui, c'est de la vidéo. On tourne et on fait de la merde, quoi. Ouais. Bon. Donc, c'était construit comme un vrai cinéma. Et ça veut dire, il y a un coût. Il y a des coûts de labo, il y a des coûts de pellicule, il y a un vrai chef opérateur. Faut quand même pas oublier que on a eu dans Exhibition et puis dans les films dans les films de cul après des super chefs opérateurs.
Qui sont entre guillemets fait la main dans ces films là, quoi.
Et non, mais c'est-à-dire ils savaient tenir une caméra, ils savaient ce que c'était qu'un objectif, c'est ce que c'était un plan américain, etc. Ouais. etc. quoi. Voilà, il y avait un scénario avec le nombre de minutes de la scène, voilà.
Ah oui, c'était une vraie création artistique.
Ah, c'était une création artistique.
Oui, maintenant, on s'inquiète surtout plus ça. De savoir qui a sorti sa prochaine sextape.
Aujourd'hui, c'est
ouais, plus
genre,
ça, maintenant.
Mais ça a plus rien à voir.
Ça ah oui, voilà, avoir. C'est ça.
Alors, par contre, bon, on avait du texte à dire, il y avait des répétitions, on faisait des répétitions avec le premier assistant. On révisait nos textes, on répétait entre nous, on essayait vraiment d'apporter ce qu'on pouvait en jeu d'acteur. À tel point, c'est que moi un jour j'ai reçu un coup de téléphone de Maurice Pialat, parce que je parle de d'acteur, et je lui dis, attendez, on m'a déjà fait le coup, c'est bon. non, mais je suis le vrai Maurice Pialat, et je vous ai vu dans les films, je trouve que vous avez une gueule. et je prépare un film qui s'appelle Police avec Gérard Depardieu. Mmh. Et j'aimerais, est-ce que vous accepteriez de participer au casting? Donc j'ai dit, pour moi, c'est un grand honneur. Mmh. Parce que Maurice Pialat, c'est une référence dans le cinéma. Et venant d'un mec qui fait des films de cul, même si j'ai tourné dans des petits rôles, et par ailleurs, c'est un honneur. Et lui me dit, je vais vous avouer une chose, je ne vivrai jamais assez vieux pour voir tous les films de cul que je peux aimer. Et alors donc, j'ai tourné, j'ai rencontré Depardieu à cette occasion, etc. J'avais un très bon rôle au départ, parce qu'une fois que j'ai fait le casting, il m'a retenu et j'avais un second rôle. Hein, et en cours de route, il a changé. J'ai tourné dans deux ou trois scènes et il a changé mon rôle, il a filé un autre. Parce qu'il paraît qu'il était comme ça. Mais par contre, sur le tournage, il était très dur.
Ouais, déception, du coup, est-ce que tu envisageais, non, toi, éventuellement une reconversion?
Non, pas du tout, j'en ai rien à foutre. Dans le sens où... non, mais
clair,
tu sais, j'ai conscience de ce que j'étais. J'étais un acteur qui faisait des films. J'adore la comédie, que j'ai une gueule, bah tant mieux. Mais il y a des gens peut-être qui auraient pu me donner ma chance, et dont Pialat. Mais j'ai jamais couru les castings. C'est pas parce que j'ai tourné avec Pialat que j'ai commencé à courir les castings en disant,
ça y est, maintenant je peux.
C'est bon, non.
L'occasion a fait le larron.
J'ai tourné avec Robin Davis ou avec Adjani.
La guerre des polices.
Dans la guerre des polices avec Marlène Jobert. Eh bien, j'ai quand même une scène où j'ouvre mon imper pour montrer mon service trois pièces. Donc,
rôle de composition.
C'est vrai que ça fait toujours plaisir parce que j'ai connu Brasseur, Rochefort, etc.
Oui, quand même.
Ouais, non, mais des Marielle que j'ai rencontré par ailleurs. Mais voilà, ça a été des rencontres extraordinaires. Robert Dalban. Avec qui j'ai fait une synchro un jour, et qui me dit, mon petit gars, je suis la plus grosse bite du cinéma français. Alors je le regarde, j'ai fait, oui, avec le nez que vous avez, ça m'étonne pas. Mais voilà,
c'est génial.
C'était superbe. Mais non, j'ai jamais eu la notion que j'allais devenir un acteur, etc. Les choses se seraient présentées peut-être. J'ai eu une rencontre avec Polanski, qui m'a avoué qu'il adorait mes films et les films de cul en général. Je suis pas étonné parce que bon,
avec français, oui.
Et je lui ai dit, Monsieur Polanski,
sa première femme, hein, c'est juste qu'il est arrivé.
Mon désir serait effectivement que je sois dirigé par un garçon comme vous, un Monsieur.
Bah, c'est, oui.
Bon, ça s'est pas fait parce que c'est comme ça, c'est chose à vivre. Mais non, j'ai jamais cherché. J'ai fait mon trou façon de parler dans ce milieu.
C'est pire que moi là.
On file la métaphore de Bédotal.
Mais
ça y est.
Mais un jour j'ai dit stop.
En 85, voilà, c'était un peu ma question justement. Comment on rentre, Christophe, c'était la question. Comment on arrête, on décide
comment
d'arrêter
comment
ce métier
rentre,
parce qu'est-ce que ça nous colle pas à la peau, ouais, comme papa dans maman.
C'est-à-dire, à quel moment tu as décidé, c'est-à-dire que voilà, après toute cette carrière-là, il y a un moment où tu te dis, voilà, j'arrête là, j'arrête les frais. Comment ça s'est passé, enfin pourquoi?
Bah parce que tu sais, tu as d'une part, tu as l'impression, alors tu ris beaucoup, tu prends du plaisir. Il y a des mauvais moments parce que c'est pas toujours une partie de plaisir. Il faut bien reconnaître. Et il y a un ras-le-bol qui s'installe, tu es devenu un objet, tu es devenu une mécanique complète. On te prend que pour ce que tu es, pour une bite finalement. Mmh. Et puis bon, il y a eu un événement qui a fait que ça a déclenché mon désir de passer à autre chose. Alors, c'était en 82. Où j'étais à l'époque, j'étais en train de préparer une production sur Paris avec Francis Mishkine, et j'ouvre Libération et je vois la photo d'un mec qui était en train de mourir, et il y avait le titre de Le syndrome de Kaposi va tuer cet homme. Et c'était une photo de lui où il était nu, plein de taches noires sur le corps, maigre comme pas permis et tout ça. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais je suis dans une zone à risque. Entre les partouzes, les films, ce qui se passait à droite à gauche, parce que bon, en plus à l'époque j'étais divorcé, donc c'était encore pire qu'avant. Donc j'ai eu conscience que j'étais dans une colonie à risque.
Puis sur 8000 femmes, il y a quand même les statistiques qui jouent pas en ta faveur quand même. Hein.
Bah, paradoxalement, sur la quantité, j'ai attrapé 2 blaineaux dans ma vie.
Ça va.
Donc c'est ouais. rien du tout. Hein. Ah, et dont une, je ne sais pas d'où elle est sortie, mais la première que j'ai attrapée, c'était ce que j'appelle, entre guillemets, une fille bien, c'est-à-dire propre sur elle, mais qui n'était pas très très propre, peut-être à l'intérieur, certainement d'ailleurs. Et voilà, bon. Alors, comme quoi, même si on vérifie les petits fonds de culotte,
elle est peut-être... Coca-Cola. Pardon.
Donc, non, ben, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas chopé la syphilis. Ouais. On était quand même dans le milieu aussi, que ce soit les partous ou autres, on se faisait examiner. Il y avait des toubibs qui étaient spécialisés, dont un qui s'appelait le docteur Richard à Pigalle, qui était le docteur des putes, et qu'on allait voir régulièrement, quoi. Et même un jour, il m'a envoyé chier parce que il me dit, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes, là? T'as trois gouttes, là, qui tombent, t'as qu'à moins baiser, parce que j'avais un échauffement. Il y a un mec qui sort, il a un double chancre.
Oh la vache!
Ouais, bon. Oui, oui. Alors il me dit, bah, écoute, arrête un peu de baiser pendant 2-3 jours et puis tu vas voir ça là.
Juste 2-3 heures. 2-3 heures, fais une pause. Non, mais ça c'est important finalement de se rendre compte aussi physiquement. Tu t'abîmes le corps quoi. Aussi.
Il a une tube en cuir quoi.
Non,
alors, pas forcément.
Mais non, mais il y a plein de risques. Enfin, des ruptures de frein, des choses comme ça. Ça
non,
peut
les
arriver,
non, les ruptures de frein, non, parce que le rythme c'est toi qui l'imprime.
Qu'est-ce que vous appelez la rupture de frein?
Dans le virage.
Ça, je veux bien savoir. Ça.
Non, mais c'est quoi. Quand tu dérapes, quoi, éventuellement. Voilà. Non, mais...
On te fera un dessin tout à l'heure, Marius.
Non, puis alors, je vais vous rassurer, les filles. Hein.
Ouais, parce que nous, parce que bon...
Ça suce pas. Hein.
Ça suce pas.
Ça suce pas, parce que si je photographie aujourd'hui mon sexe...
Ça s'use.
si je fais une photo de mon sexe aujourd'hui... Ben, je le compare à des années 80, c'est le même.
C'est
hein,
pas mal. Ouais,
c'est bon, bien. Il reste moins raide, moins longtemps. Mais,
Non, mais d'ailleurs. Non, mais tout à l'heure, tu disais, t'as une belle bite et machin, bidule. Il y avait des critères de sélection. Est-ce que ça jouait?
Bah, écoute... Non, il n'y a pas de critères. Le seul critère, c'était de bander, quoi, c'est tout.
C'est ça.
Moi, quand je faisais mes castings, les mecs arrivaient, me disaient. Ouais, moi je fais les partout, je me baisse toutes les gonzesses qui traînent et tout. Pas
la
de problème.
Taille quand même, non, parce qu'il y a quand même des acteurs qui non, sont. Ça après, Rocco.
Ça joue pas la taille, c'est oui. bon.
Non, bon, moi j'ai connu des mecs qui tournaient très bien et qui avaient une petite bite. Hein.
D'accord. Mais bon, qui étaient quand même demandés.
Tout à fait.
Mais il fait
tout à fait d'accord avec toi,
Richard.
Pourquoi ils étaient.
Ça me laisse de l'espoir, ça.
On était demandés.
Les doublages, justement, les doublures.
Éventuellement les doublures ou même dans le rôle. À partir du moment où tu as une séquence de sexe avec une fille, il faut que tu bandes. Oui. Mais si ta bite, elle est petite. Du moment qu'elle est raide, c'est bon, quoi. Mmh. Et dans la vie, il n'y a pas que des beaux et des belles. Il y a des vilaines, il y a des gros, il y a des grosses, il y a tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, il y a certains metteurs en scène qui ont voulu faire des interprétations avec des gens lambda, c'est-à-dire des mecs qui avaient du bide, qui n'étaient pas
spécialement... Et les actrices aussi, elles étaient des fois...
Les actrices étaient... Pas toujours.
Tu veux dire qu'on voyait enfin de la cellulite sur les cuisses?
De la cellulite ou des seins qui tombent ou des gros seins ou des gros culs. Mais non, il faut.
Il en faut pour. Ben oui, tous les goûts sont dans la nature.
À l'époque, on tournait un film avec 8 séquences. Donc dans les séquences, il y avait de tout. Il y avait les gros seins, les petits seins, de la sodomie. Pas beaucoup à l'époque. Mais bon, c'est de sodomie. Ça finissait souvent par une scène de partouze. Il fallait contenter tout le monde. C'est-à-dire que le mec, il achetait le film et puis il y avait un moment une séquence qui lui plaisait. Il se branlait dessus. Oui. Tu vois, aujourd'hui...
Ah, dans le même film, donc il y avait tout ce...
Voilà, on faisait toujours 8 scènes, au moins 8 scènes, pour pouvoir attirer tout à chacun. Des scènes de lesbiennes et ainsi de suite, quoi.
D'accord.
Voilà. Aujourd'hui, tu tapes sur Internet, lesbienne, gros sein,
que ça, voilà. Tu sélectionnes le critère de...
C'est devenu
la consommation.
La consommation sexuelle. Alors moi, j'y dis tant mieux. Tous les mecs qui se branlent, ben, peut-être qu'ils vont pas agresser les petites filles ou il y en a encore, malheureusement. Mais bon, c'est quand même une bonne thérapie.
Mais c'est une autre approche. Ouais.
Est-ce qu'il y avait des acteurs atteints de priapisme?
Alors, non, c'est...
Elle a eu un mot, j'ai pas eu mon petit mot.
Mais je veux savoir.
On a plus de mots à placer.
On a plus de mots.
J'ai pas eu mon papier.
Mais c'est que...
Oui, mais là, il comprend pas, Richard.
Laisse. Non. Priapisme, d'abord, ça fait beaucoup souffrir.
Bah oui, c'est... Mais après, ça peut être utile.
C'est quoi le priapisme?
Ben, le priapisme, c'est le sexe qui reste en érection pendant des heures et
c'est
des heures.
C'est douloureux, quoi.
Mais ça, ça peut être une conséquence, peut-être. Mais
c'est non, moi, j'ai pas eu de cas.
Voilà, c'est ce que je voulais savoir.
Non, j'ai connu plus de mecs comme Rocco Siffredi quand je l'ai fait tourner la première fois sur un roman photo.
Ah, tu l'as casté donc.
Ah non, mais testé, j'ai pas.
Son premier rôle,
pas,
je crois, c'est ça.
Casté, j'ai dit. Hein.
Je l'ai casté. Enfin, en fait, ma rencontre avec Rocco, elle était chez Denise au 41 à l'époque. Et il a su que j'étais là, il est venu, il me fait Ricardo. Mais je suis Rocco, je voudrais faire du porno. Alors je dis, t'as une belle bite, il me fait, mais j'ai une bite, mais elle est belle comme tu peux pas savoir.
L'image qu'on peut avoir de Rocco.
Entre un embauche, t'as une belle bite.
Non mais, beau mec. Et il m'entraîne, je sais pas si vous connaissez chez Denise à l'époque,
non, non.
41, il y avait une petite salle derrière.
Mais ça mérite d'être connu peut-être.
Oui, plus aujourd'hui parce qu'elle a vendu, mais c'est plus ce que c'était quoi.
Non, c'est chez Raymond.
Il m'a emmené derrière. Et il me dit, Richard, je suis avec une comtesse, mais une entente comtesse italienne, elle adore souci.
C'est beau ça.
Et il m'a amené, et là, j'ai connu une fellation, ce que j'appelle une petite fleur, moi, de temps en temps.
Il est poète.
Sublime. Elle était en train de sucer un mec, elle m'a vu. Elle a jeté le mec, elle m'a pris. Il y avait un acteur très connu, mais je tairai son nom.
Ah si, vas-y.
Qui était en train de branler sa petite bite.
Donc maintenant tu peux dire son nom.
Non, je le dirai en antenne si vous
d'accord.
Voulez. Et je suis tombé sur lui, je lui ai dit, excuse-moi, elle est pressée. Hein. Donc, elle m'a fait ma petite fleur. Et puis, une fois qu'elle a pris tout dans la bouche...
Le tout,
ah bah oui, mais
le paquet.
Tu sais que c'est très bon hein, pour la santé. Hein. Comme la sodomie, d'ailleurs. J'ai lu un article il y a deux jours. La sodomie est très indiquée pour votre santé, mesdames. Alors, si vous n'avez pas commencé,
ah ben moi, j'ai pas lu la même chose.
Ah bon,
pour tous les problèmes de constipation.
Mais moi, j'arrête pas de le dire.
Oui, alors, on pourrait dire, c'est, quand la petite rivière est rouge, on prend le chemin boueux. Et donc, cette comtesse m'a fait une petite fleur extraordinaire.
Elle t'a compté, fleurette.
Et donc, elle se retourne vers un monsieur qui était là et l'embrasse. Bon, bah, je dis pourquoi pas. Hein. Et après, j'ai posé la question à Rocco. Je dis, mais.
C'est qui celui qui m'a pris dans sa bouche aussi.
C'est un bouffeur de foutre. Elle me dit, c'est son mari, il adore ça.
À la gueule.
D'accord. Bon,
après... bon, non, mais ça fait partie.
Oui, non, mais tout à fait.
Ça fait partie des choses de la vie. Et puis, donc, j'ai fait venir Rocco sur un roman photo, parce qu'à l'époque, ça devait être en 85-86. Et là, j'étais directeur pour la France d'un gros groupe de presse italien, pour lequel on faisait tous les mois des romans photos qui s'appelaient Super Sexe. Après, on a dévié sur Golden Gay, qui était un des romans photos avec les homosexuels. Et puis, La Cicciolina, etc., etc. Et moi, bon, donc, comme j'avais arrêté le métier, j'étais rentré dans ce groupe pour justement sortir un petit peu des sentiers battus, quoi. Voilà. Et je l'ai embauché, et lui, il était comme un fou, quoi. Il m'a dit, je vais me branler, parce que sinon, j'éjacule tout de suite, hein. Mais bon, je lui reconnais.
Il faut juste que je pense à mettre que c'est explicite cet épisode.
Un grand professionnalisme. Beau mec. Moi, je comparais dans son physique. Je lui dis, c'est un mec qui aurait pu faire James Bond.
D'accord. Oui, c'est vrai qu'il est.
Ouais, bien taillé, etc. Alors, après est venue une espèce de rivalité entre Christopher Clark, qu'on a toujours appelé le petit Rocco. Et c'est un garçon qui a démarré avec moi aussi. Que j'aimais bien. Alors lui, il portait sur la droite, là, parce qu'on en parlait tout à l'heure des belles et des moins belles. Mais, il bandait bien, mais elle était... elle cherchait les coins.
Quand... tête chercheuse, tac, tac, tac.
Quand on remontait, on avait le point G, mais lui, je sais pas ce qu'il cherchait, mais bon... Et Christopher Clark donc a toujours été un peu le rival, le second quoi de Rocco et Siffredi. Cela dit, Rocco a une carrière fabuleuse. Il a gagné beaucoup d'argent, il doit encore en gagner parce qu'il a monté un café à Budapest, il a fait construire une très belle villa avec une piste de karting pour ses enfants. Et il avait, comme il avait fait faire une villa style hollywoodien, il a tourné beaucoup de films sous sa marque ou sous la marque de Vivid. Donc il a fait une carrière plus importante que moi aux États-Unis, bien entendu. Il a gagné vraiment beaucoup d'argent. Et du fait aussi qu'il était toujours présent et baisé comme un fou, même quelquefois, même un peu trop durement, quoi. Mais bon, ça, après, chacun interprète comme il veut. Et il a été très très bien payé aux États-Unis, il a gagné beaucoup d'argent. Voilà. Bon, maintenant, je sais pas, je trouve qu'il vit moins bien que moi. Alors, je sais pas.
Et est-ce que dès le départ, tu pressentais cette carrière de Rocco, enfin, ce potentiel?
Non, je me suis pas posé de questions. J'ai su que c'était un garçon professionnel très rapidement, et compte tenu de son physique, j'avais aucune crainte de lui. La crainte est plus venue des autres qui l'entouraient, puisque moi je tournais plus à cette époque-là, donc il me faisait pas d'ombre, et puis on est d'une génération différente. Maintenant, d'ailleurs je disais communément, c'est mon successeur, quoi. C'est la relève en quelque sorte. Voilà. Il a été dans les années 90 que j'étais moi dans les années 70.
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Le secret semblant finalement le professionnalisme, quel que soit.
Alors oui, il y a un autre très grand professionnel qui sévit toujours, enfin qui sévit, je pense qu'il a arrêté maintenant, qui s'appelle Jean-Pierre Armand, qui a été, bon, il a tourné énormément de films, mais c'est pareil, c'était un type qui bandait sur commande, quoi. Ouais. Toujours présent, c'est-à-dire que la difficulté et la simplicité en quelque sorte de notre métier, c'est qu'on en était arrivé, par exemple, à avoir une discussion comme je peux avoir ici et puis me mettre à bander, quoi. C'est-à-dire que
sur commande, en fait.
Pas sur commande, mais c'est-à-dire, voilà, toujours la séparation de l'esprit et du corps. C'est-à-dire, je parle, mais je me touche d'une certaine façon, ce qui me permet d'être en érection. Et souvent, je ne demandais pas aux filles qu'elles me sucent ni rien pour bander. J'avais ma tactique, soit je tapais mon sexe dans la main, et puis ce qu'ils faisaient...
Toc, toc, ting. Oui, non, mais...
Qui m'appelle? Allez, où la morue?
Oh, Marius, voyons.
Ça y est, la timidité est partie. Alors, là,
Richard, je te déconseille le type en face, parce que j'aurais très très peur que lui, justement, il parte dans tous les sens.
Lui aussi, il porte à droite.
Non, mais en fait, c'est une simple façon. Mm-hmm. Vous pouvez essayer, messieurs, vous verrez. Non, mais si tu prends ton sexe qui est le mou.
Écoutez, les garçons.
Tu tapes dans la main, tu fais donc un afflux de sang. Donc, tu vas faire grossir ton sexe et puis il va finir par bander. Hein.
Ah oui,
c'est simple. Tu vois.
Technique
c'est
ça, pour les jeunes qui nous écoutent.
Oui, Ludo. Oui, pardon, je suis fini, Richard. Mais du coup, pour revenir un petit peu sur le moment de la reconversion, on va dire, à ce moment-là, tu as fait un peu de distribution, effectivement, de la coproduction, ce genre de choses-là, pour un temps. Et puis après, tu as vraiment largué les amarres. Puisque vous êtes parti sur Bordeaux avec ton épouse. Et là, donc, c'est vraiment changement de vie pour tenir un bar, si j'ai bien compris.
Non, il y a eu autre chose avant. Hein. C'est que, en fait, mon passage chez les Italiens m'a permis d'avoir une bonne rétribution. Et j'ai monté à ce moment-là une société de production et de distribution. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les Allemands parce que j'ai vécu en Allemagne, je parle l'allemand couramment. Alors, c'était à l'époque, quand j'ai vécu, c'était rattaché à la France et après, ça a été rattaché à l'Allemagne. Mais donc, ça m'a fait des ouvertures sur l'Allemagne où j'ai fait beaucoup de tournages, notamment avec Ribou. Et ensuite, je me suis associé avec un de ses metteurs en scène dans une société qui s'appelait MRG Vidéo. Donc là, j'ai acheté des films, j'ai produit, coproduit, etc. Et en 86, je me suis lancé dans le 3615. J'avais monté 3615 Dallas. Parce que moi, j'étais un des premiers à faire un 3615. Il y avait Aline à l'époque, mais qui était du groupe le Nouvel Obs, donc qui avait pas du tout les mêmes budgets que moi, bien entendu. Et il s'est trouvé que j'ai mouillé un publiciste pour 1 million de francs à l'époque pour faire une publicité nationale. Et j'ai voulu faire bosser un pote qui avait monté un serveur sous Linux et qui malheureusement à 4000 connexions on était out quoi.
Ah ouais.
Donc ça
sautait tout le temps.
Ça sautait tout le temps. Alors il m'a dit c'est mon ingénieur etc. Bon moi j'avais fait le mauvais choix quoi. J'étais avec des jeunes qui étaient bien équipés. J'ai voulu faire gagner du pognon avec ce mec-là et moi ça a fait ma perte.
Ouais, ouais. C'est ça.
Et dans mon esprit, après ma carrière, de toute façon, je savais bien qu'il fallait que je me reconvertisse ouais, quelque part. Quoi. Donc mon idée, c'était de monter un restaurant et puis ou une auberge ou un hôtel, voilà. Ça, c'était l'idée de départ. D'autant qu'entre temps, en 78, j'ai monté un salon de massage, le premier salon de massage de Paris, qui faisait du body-body. Donc j'ai très bien gagné ma vie.
Starlet a testé pour vous. Non, ouais, je viens tester.
Le body body.
Le body body.
Massage thaïlandais.
Voilà, massage thaïlandais. L'histoire après nous a appris que la masturbation était interdite. Bon.
Ça dépend.
Mais à ce propos, je vais raconter une petite anecdote qui n'est pas triste. Et donc, alors évidemment, moi à un moment donné, je ne sais pas, j'ai eu un flash. Comme de temps en temps, ça peut se passer chez moi. Et j'ai dit à ma femme, il faut qu'on arrête. J'ai dit, je sens pas le truc, on va arrêter. Donc on prend la décision d'arrêter un certain jour. Et le matin, je l'appelle, le dernier jour où on devait fermer, quoi. Je l'appelle, j'ai dit, bon, ferme tout de suite. Mais non, mais il est midi. Ouais, j'ai dit, ferme. Elle me dit, on a 5 rendez-vous cet après-midi. Après, c'est terminé, on ferme, bon, on s'en fout. J'ai dit, ferme. Elle n'a pas voulu. À 3h de l'après-midi, la mandade est arrivée. Ils l'ont coincé, ils l'ont embarqué, quai des Orfèvres, etc.
Ah, merde.
Donc, moi, tout était déclaré. Je veux dire, bon, enfin, il y avait des choses qui étaient occultes, bien entendu, mais il y avait... sinon, il y avait...
Presque tout.
Bien entendu, Richard.
Entre nous, Richard, je peux tout dire.
Plus la prescription, maintenant.
Il y avait que la finition qui était occulte.
Oui, il y avait la finition, mais alors... Justement, par rapport à ça...
Ah, tu connais bien les termes, Christophe.
Oh bah, tiens, je suis un spécialiste, j'ai toujours dit.
T'as le recul, hein. T'as le crâne qui
donc,
lui, là.
Donc ma femme a été poursuivie. Moi, j'ai appelé l'inspecteur en lui disant, bon, écoutez, lâchez-la. Puis, donc ça s'est poursuivi. On n'a jamais été convoqué devant un juge. Jamais. J'ai été condamné à 2 ans d'interdiction de séjour. Alors que je l'ignorais complètement.
Moi, j'aurais juste une petite question, puisque là, tu nous racontes
ça, c'est le truc
vie,
des pros, ça.
Ton anecdote. Ah oui, pardon. D'ailleurs, oui. Oui. Est-ce que tu as vu Hard ?
La série
Hard.
Non.
Parce que
Canal,
plus
justement,
je t'écoute,
sur le milieu,
plus j'ai l'impression que ça ressemble effectivement aux anecdotes que tu peux nous conter depuis tout à l'heure. C'est une série qui française, qui raconte donc.
C'est une boîte de production de.
Attends. Au départ, c'est quelqu'un qui fait croire à sa femme qui travaille dans le milieu informatique. Il meurt et elle se rend compte qu'il avait une boîte de porno avec tout le petit monde qui gravite. Et bah, elle reprend l'affaire, soit bah, il faut qu'elle cherche un boulot et tout. Et il y a 3 saisons, il lui arrive plein de choses un peu similaires
à ce
qui t'est arrivé. Et cette série est absolument superbe. Et je te la conseille parce qu'en plus, on se fend la gueule. Et ce n'est pas que de béton, mais Roy la poutre.
Oui, voilà. Peut-être qu'il y a une...
Ah, ils sont peut-être inspirés un petit peu de la vie.
Peut-être.
C'est possible.
Et c'est excellent.
Je vais leur demander des royalties.
Voilà. Écoute, tu devrais.
Puis comme c'est nous qui t'avons mis sur le truc, si on peut avoir un retour noir.
Parce que tu parlais de chez Denise, au final, il y a une petite truc qui va s'ouvrir au fond du café. Enfin,
ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de
similitudes avec cette série. Et
qui est-ce qui a fait ça, tu connais?
Alors,
c'était
le
Canal+.
Non, mais les réalisateurs, j'ai pas les noms, mais c'est juste excellent.
Non, mais je pense que effectivement, ma vie a pu inspirer, en toute modestie. Hein. Je vais la trouver Cacaoweb, alors.
Oui. Oui.
Je sais pas, Arnaud, on trouve ça sur...
Je pense, on trouve tout sur Cacaoweb.
Eh ben, Didouille, puisque t'avais pris la parole, justement, on va te...
Bah oui, mais moi je veux mon jungle.
Je vais te laisser ton jungle, puisque justement on commençait à parler de la reconversion et des plaisirs gustatifs.
Oui, tu veux dire, je vais faire une transition.
Et toi, Didouille, tu vas faire la transition, puisque ta rubrique c'est la tarte au poil.
essayé bien la tarte aux poires une fois?
Moi, oui. Hein.
Mais putain, mais faut que ça se touche, quoi. Il faut une soirée fromage blanc ou des massages à l'huile d'olive, je dis pas, mais là, c'est de la partouze pour Dalai Lama, là, des conneries.
Moi, oui. Hein.
D'ailleurs, on entend d'ailleurs, jingle, un extrait hard. De Hard. Voilà.
Faut que ça se touche, là.
Mettez-moi du fromage blanc.
Voilà. Bref.
À toi, Didouille.
Juste un petit tour de table.
Marius.
Si je vous dis un mot, tous me dire ce qui vous passe par l'esprit. Vas-y, Ludo, je te dis chocolat.
Amour.
Richard, chocolat.
J'aime.
Chocolat.
Sodomie.
Mais non, mais c'est direct, j'ai pensé à la même chose.
C'est ce qu'il a dit. Hein. Vas-y, Arnaud, tu passes derrière.
Vas-y, Arnaud.
Tu passes derrière, vas-y. Une
banalité affligeante, plaisir.
Ah, bah j'avais le même aussi.
Voyons, non, j'avais plaisir. Autre...
Nico.
T'avais plaisir. Toi, j'ai plaisir. Non, chocolat.
Coinfrerie.
Moi, je suis pas trop chocolat, mais.
Bah, tu vas faire semblant.
Excès.
Christophe.
Mon péché mignon.
Ah. Donc c'est que du positif finalement.
Et toi, Didouille.
Oui.
Ah moi c'est délicatesse, plaisir.
On a dit un mot,
un mot. Frisson, mais je peux pas moi. Tu sais bien comment je suis.
D'accord.
Je peux
tu
pas.
Fixes des règles que tu respectes même pas, merci. Bien.
Donc on est tous d'accord, le chocolat forcément c'est ça bien. Procure que du des plaisir. Choses positives.
Que du plaisir comme
hein,
je dis.
Ouais. Ça parle à nos sens. Hein. Ça
oui, oui.
Tout
oui.
Alors,
oui.
Je vais
dire.
Vous
lire.
Oui,
oui,
oui.
J'aimerais bien avoir votre. Je vais vous lire une petite phrase tirée du roman Thémidor de Claude Godard d'Aucourt. Attention. Tandis qu'on
Claude Godard disait. Non, ça c'est Christophe. Non,
je vais devoir hausser le ton. Vous allez encore dire que je suis marchande de poissons à la maîtrise.
Vas-y maîtresse. Vas-y maîtresse, on t'écoute.
Oh vas-y maîtresse. Tandis qu'on nous préparait un chocolat voluptueux.
Pardon. Ça a l'air bon, ça, c'est
je m'approchais d'elle et cueillis sur sa bouche un nectar tel que celui qui était préparé pour les dieux. Ça, c'est le chocolat. Mmh. C'est ce qu'on disait. Et c'est ce que tout le monde pense, plus ou moins. Mais c'était peut-être pas aussi bien dit.
C'est à peu près ce qu'on a dit. Je croyais que c'était le mari de la comtesse qui parlait. Mais...
non, mais le chocolat, bon, bah, c'est vieux. C'est très, très vieux. Les Aztèques, déjà. Hein,
les Aztèques, l'utilisaient.
On dit du chocolat. Ah, ben, je vais vous expliquer ça. Aphrodisiaque. On dit, ben voilà, on lui prétend des vertus aphrodisiaques, mais. C'est pas encore tout à fait avéré, on va dire. En tout cas, si ce n'est pas avéré pour les vertus aphrodisiaques, ça l'est anti-stress. Pour votre... Exactement, anti-stress, grâce au magnésium et tout le tout-team. Enfin, reste que moi, vous savez bien que j'aime toutes les notions de plaisir.
Tout, ouais.
J'ai suivi une enquête. Ouais. Mais le chocolat, regarde, tu te souviens pas du salon de l'érotisme qu'on avait fait?
Mais absolument.
Les petits jeux qu'on fait avec le chocolat sur le corps et tout
mais
ça.
Oui.
Mais allons. Qui n'a pas mis du Nutella sur. Mais enfin, bref.
Pas de
donc...
sur une tartine.
Sur une banane.
Voilà. Bref, moi je me suis intéressée à un petit sondage qui a eu une petite enquête menée. Alors vous allez me dire que c'est pas très 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 réglo. Dans la
c'est
mesure
pas
où...
très 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 réglo.
Très, très, très réglo.
Cette enquête a été faite par Cadbury.
C'est pas
donc,
très
qui
réglo.
Dit Cadbury, bah dit chocolat. Donc on est dans le milieu de la confiserie. Donc je ne sais pas si c'est tout à fait judicieux de suivre cette enquête, mais je l'ai trouvée absolument très rigolote. La question est les femmes
en fait,
préfèrent-elles
tu vérifies jamais tes chiffres toi en fait, j'ai l'impression.
Mais si. Les t'es femmes chiant. Préfèrent-elles le sexe
ou le chocolat?
Ou le chocolat.
Les deux.
Moi, j'aime bien le sexe au chocolat.
Ah, moi, j'aime bien le chocolat au sexe.
Non, mais alors va falloir m'expliquer pourquoi.
Oh là.
Dit-elle la bouche pleine. Non, mais alors je vais. Alors attention. 52% des femmes interrogées préfèrent le
chocolat
au sexe.
M'étonne pas.
Une des femmes questionnées résuma ainsi une opinion apparemment partagée par un bon nombre de ses consoeurs. Attention, c'est quoi? Le chocolat fournit un plaisir garanti. Ça, c'est pour vous, les mecs.
Allez, pendant les dents.
Pas toujours.
Dans les
dents. Pas toujours.
Des fois, tu tombes sur celui à la liqueur, il est dégueulasse. Hein.
Dans le sexe aussi.
La liqueur.
Tu peux toujours l'appeler mon chéri.
Oh, joli.
Allez. Alors qu'à l'inverse, au Royaume-Uni, 82% des hommes préfèrent le sexe plutôt qu'un morceau de chocolat.
Oui, il n'y a pas qu'au Royaume-Uni. Hein, ah, ouais, il dit ça.
Mais vous savez, ceux qui sont les plus malades, en fait, sont les Américains qui... 29% des hommes américains pensent qu'offrir des chocolats à leur partenaire améliorera leur chance d'avoir des relations sexuelles.
Mais c'est pas con.
Et, bah, en fait, à la base...
C'est quoi la tradition aux États-Unis pour la Saint-Valentin? Vous êtes...
Ils s'envoient des cartes, super.
Mais pas que, mais pas que.
Et ce chocolat.
Eh ben oui, et voilà, donc... Oh. Mm-hmm. C'est, bah oui.
Et puis tout ça, ça dépend du goût du sexe aussi. Hein.
C'est vrai. Non, moi j'ai un chocolat qui rime tout à fait avec le plaisir et l'essence du goût. C'est les fameux Natsuké.
Eh oui.
Eh oui.
Et voilà, c'est de l'art japonais du XVIIe siècle. Mais vu la taille, qui n'est pas trop importante, elle ne risque pas de faire beaucoup de mal. Et je dis souvent aux hommes qui les achètent, je dis, vous allez lier le plaisir et le goût.
Hein. Ouais. Exactement, on est dans les bien cinq vu. Sens. Ouais. Mais pour en revenir au chocolat et à l'amour, au XXe siècle, vous connaissez, si je vous dis Buitoni, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Ravioli.
Donc les pâtes. Alors, au XXe siècle, Francesco Buitoni, donc apparenté à la famille des fabricants de pâtes, il se lance dans des activités de chocolatier. Et en 1922, son héritier, Giovanni Buitoni et Luisa Spagnoli, créent le fameux Spaghetti. Bacci. Qu'est-ce que c'est Bacci en italien? Ah, les incultes.
Le baiser.
Bien, Richard. Heureusement que Richard. Ouais. Mais mince, hein.
Ah, mais c'est notre maître à tous. Ah, hein. Enfin, notre maître. Bon.
C'est un relève de niveau, là.
Hein. Oui, pas de temps. Force de fréquenter Sylvia Bourdon qui parle 5 langues.
Le Bacci, donc, est une petite sucrerie. Et c'est un chocolat qui est enrobé dans un petit papier argenté. Et un petit papier argenté. Oh, ça va. Et il y a un petit message d'amour contenu dedans.
Oh,
c'est quel genre de message. Et ça existe toujours. Et en fait, l'histoire veut que Giovanni et Luisa étaient secrètement amoureux et en fait qui s'envoyaient grâce à ce joli, petit chocolat. Mais oui, je trouvais ça mignon. Enfin bref. Oui. Et donc le chocolat et ses vertus. Alors j'ai tapé sur internet
sur que ah
bah. aussi, mais ça c'est bien, ça. C'est dans le cadre de l'intimité quand même. Le chocolat dans la littérature et le sexe. Mm-hmm. Alors clairement les libertins, ça tout le monde connaît, Casanova. Hein. Donc j'ai voulu vous lire des extraits littéraires où on parlait de chocolat.
Il y a des photos.
Mais putain, t'as préparé et tout.
Bah écoute, c'est ma rubrique tarte au poil.
Merde.
Alors, je vais vous lire un extrait de la correspondance de Madame de Sévigné qui parle à plusieurs reprises du chocolat. Alors, voilà ce qu'elle en dit. Mais le chocolat, qu'en dirons-nous? N'avez-vous point peur de vous brûler le sang? Tous ces effets si miraculeux ne nous cacheront-ils point quelques embrasements? Qu'en disent vos médecins? Réponse. Je vous conjure, ma très chère bonne et très belle, de ne point prendre de chocolat. Je suis fâchée contre lui personnellement. Il y a 8 jours que j'eus 16 heures durant une colique et une suppression qui me fit toutes les douleurs de la néphrétique.
Attendez, quelque chose d'érotique.
Moi aussi, j'avais une énorme colique.
Yes. Et Madame de Sévigné de dire aussi, la marquise de Couette-Logon prit tant de chocolat, étant grosse l'année passée, qu'elle accoucha d'un petit garçon noir comme le diable qui mourut.
Ben,
c'est vraiment une déconneuse.
Ah non, mais... Et donc je parlais des libertins avec Serge Safran. Alors je vous invite à lire le livre L'amour gourmand, libertinage gastronomique au XVIIIe siècle, qui dit.
Il est écrit pour toi ce truc-là.
Oui. Bah, j'en ai plein des non, comme ça. Moi. La réputation des vertus aphrodisiaques du chocolat ne date pas des Lumières. Le roi aztèque Moctezuma buvait, paraît-il, plusieurs tasses de chocolat avant d'aller honorer les femmes de son gynégée. Plus proche de nous, les Ninons de l'Enclos, maintenant Pompadour ou du Barry, en firent une grande consommation, non sans arrière-pensée libidineuse, pour quelques-unes d'entre elles. Leur situation reposait, si l'on peut dire, sur leur performance d'alcôve. Ces effets n'ont point échappé aux écrivains dès que le plaisir des sens sous toutes ses formes s'est immiscé dans la littérature du XVIIIe siècle. Il faut attendre les romans libertins et les grands libertins comme Sade ou Casanova pour voir associer le chocolat au plaisir de la bouche et plus précisément au plaisir de la couche.
Waouh !
Alors moi j'ai lu des trucs de Sade. Je pouvais pas vous lire ces morceaux-là.
La philosophie.
Je sais pas qui allait nous écouter. Non, c'est pas dans la philosophie.
Bon, tu sais, on a d'autres. Déjà dit des choses à mon avis.
Non, mais là c'était. En fait, l'invitation, vous voulez. Enfin. dans les romans libertins, et notamment, si je résume, et de mémoire pour Sade, quand une jeune femme a invité Sade à boire un chocolat chaud, c'était un message subliminal pour l'inviter à autre chose.
Elle voulait mettre le pain dans le grille-pain.
Voilà, c'est ça. Avec la serveuse qui était chargée de se préparer, de préparer le... Enfin bref, et ça finissait. Hein. Voilà.
Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein, donc...
Oui, non, mais c'est, ce, j'ai pas l'extrait, peut, donc je vais pas faire que ça, non. Donc c'était pour
donc
faire la transition avec Richard.
À venir boire un chocolat.
Qui est dans le chocolat? Et voilà, puisque c'est
et
vrai
non.
que tu l'as un peu dit
non,
de
c'est
manière.
C'est juste pour dire si, enfin, Richard a eu une carrière dans le film porno, le film érotique. Mais il continue dans la notion de plaisir, puisque avec la boutique de chocolat,
drogue
non
douce,
seulement il...
drogue douce.
Voilà, drogue douce. Non seulement il y a le plaisir de la chair, ouais, mais oui, il y a aussi un plaisir artistique et visuel, puisque comme tu l'expliquais, tes chocolats sont un peu particuliers au niveau de la forme.
Et d'ailleurs, on en a ici, exactement. Et du coup, on va pouvoir certain. Rebondir sur la reconversion, notamment en tant que chocolatier. Donc
mais, ouais, enfin, avant d'être dans la reconversion du chocolat, j'étais plus branché sur un restaurant, sur un hôtel ou voilà. Et puis il s'est trouvé que en 90, j'étais à la recherche d'un restaurant, enfin un bar quoi. Et ce qui a fait l'objet d'une rencontre avec celle qui partage ma vie depuis 23 ans, mon épouse actuelle. Et elle tenait une petite brasserie. Bon. Donc, rendez-vous a été pris dans cette brasserie pour qu'on me propose une ou deux affaires qui étaient à vendre sur Paris. Alors, mon œil aguerri a fait que, quand je l'ai vue,
tu t'es dit,
elle m'a zappé, mais moi pas. petit sein, petite blonde.
Aux yeux bleus.
Voilà,
donc, on parlait de la Ticholina tout à l'heure, elle remplissait tous les critères aussi.
Elle avait des gros seins, la Ticholina.
Tout à fait.
Elle était toute plate.
Tu rigoles,
c'était laquelle qui était toute plate?
Non, petit sein. C'était Jane Birkin, mais bon.
C'était Love Amour qui avait des gros seins, mais la Ticholina, elle avait des tout petits seins.
Non, la Ticholina, elle avait des seins normaux.
On invite tout le monde à les revoir sur les vidéos sur YouTube.
Non, la Ticholina avait un beau corps. Et donc, rendez-vous pris dans cette brasserie. J'étais en rapport à plusieurs reprises avec elle parce que bon, on avait discuté un petit peu du métier. Et bon, au bout de peut-être un mois de conversation, je lui ai installé des étagères dans sa cuisine du restaurant. Il y a une certaine amitié qui s'était créée entre nous. Et elle m'a dit, écoute, si ça t'ennuie pas, il faut que je m'absente. Tu as quand même un peu la connaissance du bar, parce que quand j'étais à l'armée, j'avais fait du bar, donc c'était pas complètement improvisé pour moi.
Quand même touché à beaucoup de choses. Hein.
Ouais. Enfin... Et donc, j'ai par conséquent, je suis resté à la bar pendant une semaine. Et puis quand elle est revenue, je lui ai dit, finalement, tu perds de l'argent. Quoi. Donc j'avais fait des calculs très simplistes par rapport à ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, ce qu'il payait. Alors on a changé un petit peu la formule pour qu'elle gagne quand même un peu sa vie. Et puis elle a un frère qui a un accident, je vais là-bas avec un copain à lui aussi, j'étais donc à pied quoi. Et quand nous sommes repartis, je lui dis, est-ce que ça t'ennuie pas, si tu me raccompagnes à ma bagnole, ou si tu veux, on se fait un petit resto à signer comme tu veux quoi. On est allé dîner ensemble, et puis finalement, voilà, quoi, ça...
23 ans. Ça fait 23 ans.
Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, j'étais, à l'époque, je sortais avec une fille, qui était très libertine, et elle avait une particularité, elle draguait les gonzesses en boîte et elle me les amenait la nuit. Ouais. Bon, j'avais plus rien à faire, c'était très sympa. J'étais en train de dormir, d'un coup, je sentais un corps qui se levait contre moi.
Oh, la vie de rêve.
Sors, chérie, sors.
Vas-y, tu veux pas sortir ce soir, t'es sûr?
Et donc...
Ils sont tous en train de baver. La transition
était d'importance.
Oui, sûr.
Parce que je suis passé de cette fille qui me ramenait des filles la nuit, ou qui partageait aussi... on partageait les copains, les copines, hein, tout... Et puis, cette femme, Lydie, qui est... Et en réalité, le choix a été pas très difficile, mais j'ai été à un moment donné entre le marteau et l'enclume, ouais. si je peux m'exprimer ainsi, où, bon, je te mets pas la pression, mais il va falloir que tu choisisses, quoi. Donc j'ai choisi parce que je me suis dit, c'est peut-être la femme qui va réussir à m'équilibrer. Alors je passe d'une transition infernale à quelque chose qui est plus naturel, qui est plus une vie de couple, quoi. Où ça a posé un petit peu un problème, c'est que comme bon quand on s'est mis ensemble, bien entendu, après ma décision, elle me dit j'aimerais bien un enfant de toi. Quoi. Donc moi deux filles, deux divorces.
Oula, ça recommence. Oh.
Non mais j'ai toujours voulu avoir une famille et puis. Il fallait vraiment y réfléchir hein, parce que on n'est jamais sûr de rien. À 52 ans, remettre la gomme, c'est pas évident quoi.
Oui, oui, tout à fait, ouais.
J'ai une vie quand même, qui est très animée, qui est très sexe, qui est très très libre à tous les niveaux, une indépendance complète et dans le travail et dans le reste de ma vie. Donc je dis laisse-moi un peu réfléchir. Quoi. Si jamais ça fonctionne pas, je vais pas t'imposer qu'on reste ensemble, mais tu seras libre de faire ce que tu veux. Mais sinon, j'assume. Voilà. Et à cette époque-là, on avait repris, elle avait quitté sa petite affaire et on nous avait proposé une affaire qui est une grosse affaire qui s'appelle l'Académie de la bière, qui est boulevard du Port-Royal, où moi j'étais donc nommé directeur et elle était gérante technique. Et quand on a eu notre fille en 94, moi je voulais plus vivre à Paris. Donc, j'ai fait un choix parce qu'elle m'a dit, bon, tu fais comme tu veux. Alors on gagnait très bien notre vie, on m'avait proposé de racheter l'affaire, mais c'était un travail qui était pénible, il fallait qu'on soit deux équipes parce qu'on était ouvert 23 heures sur 24. Donc moi je passais 17 heures par jour dans cette affaire, à l'époque tout le monde fumait, j'ai dit je vais casser ma pipe là-dedans quoi. Donc je voulais à la fois que ma fille soit pas élevée dans les pots d'échappement, et puis d'un autre côté, pour moi, je voulais un peu plus de quiétude. Donc on a choisi Bordeaux, ce qui n'a pas été la meilleure façon de penser, mais bon, ça a été comme ça. On s'est retrouvé à Bordeaux, où j'ai créé Alan's Café, qui était un café axé complètement sur le cinéma, mais c'est un cinéma traditionnel, avec une très très belle décoration, c'était même trop beau, quoi. Au bout de 5 ans, ma femme a fait une dépression, enfin une mini-dépression, et elle en avait marre, et du climat, et des gens, elle supportait plus. Et le matin, jeudi matin, elle arrivait, elle était à fond à cause de la fumée, quoi. Et pourtant, on avait 3 moteurs d'extraction, 12 touches-bouses d'aération, et elle parlait comme ça. C'était terrible. Donc, j'ai revendu l'affaire, et entre-temps, elle me dit, écoute, moi, j'arrête le bistrot. Elle m'a dit, moi, c'est stop, je veux plus vivre ce genre de truc. Je voudrais monter un magasin de chocolat. On a commencé à cogiter la chose et elle me dit, mais pourquoi on ferait pas aussi du chocolat érotique puisque c'est ton domaine, tu connais. Et un jour, je vais à Bordeaux, chez un libraire qui avait des BD alors de tous les niveaux, y compris des BD érotiques. Et je vois une jambe, jusqu'à la cuisse, quoi, avec talon aiguille, bas... porte-jartel qui tient le bas. Alors je dis au mec, qui c'est qui te fait ça là ? Ben, il me dit, c'est un sculpteur qui est à Limoges. Moi, je dis, tu as son téléphone, je peux le contacter, tout ça, parce que voilà, ça c'est l'idée que je veux. C'est-à-dire faire du chocolat érotique, je vais partir là-dessus, sur cette base-là. Donc j'étais en contact avec ce type-là, qui m'a accueilli chez lui. Et un type, j'ai vu débarquer avec une traction avant, 15 chevaux, des bottes de 7 lieues, une cape du style...
style particulier.
Des films de Sergio Leone, tu vois, avec un chapeau. Bon. Et j'arrive dans son atelier qui était immense, que des revues de cul. Alors j'ai dit, vous aimez bien le cul, vous ?
Perspicace.
Il me répond, bah oui.
Non.
Et il me dit, mais oui, mais j'ai quelques moulages qui ne sont pas piqués des hannetons. Ah. Bon, alors il monte les moulages, les minettes, etc., etc. Et puis, alors je lui explique le truc. Je lui dis, voilà, moi, est-ce que vous êtes d'accord pour me faire quelques modèles que je pourrais faire en chocolat, mais qui ne soient pas trop fragiles par rapport à votre jambe ? Bon. dans le talon. Vous m'avez expliqué que vous mettiez un petit morceau de fer pour tenir le talon de façon à ce qu'il ne casse pas. Mais comme il s'agit de résine, c'est quand même relativement déjà solide. Le chocolat, ça ne va jamais tenir, donc il faudrait faire un talon un peu plus épais. Bon, enfin, je lui donne les critères. Il me sort un modèle, un autre modèle. Après, je voudrais des jambes croisées, etc. etc. Bon. On est parti là-dessus. J'ai passé un contrat avec lui. Et je suis j'ai vendu mon affaire. On est arrivé à Paris. Là, je rencontre tout à fait fortuitement, boulevard Saint-Germain, un garçon qui était un de mes fans et qui est un très très grand sculpteur. Et on discute le morceau de grain. J'explique un petit peu ce que je veux faire. Mais il me dit venez chez moi, je vais vous montrer comment la technique du moulage. On peut travailler ensemble. Bon, j'ai dit ok. Là-dessus aussi, j'ai rencontré Philippe Berry, qui est le frère de Richard, qui est sculpteur, où j'ai aussi passé de bons moments avec lui pour un petit peu apprendre tout ce qui était aussi le moulage. De là, j'ai moulé le corps de Clara Morgan.
Ah oui.
Il y a
deux mecs qui se sont réveillés là.
Ah oui, là.
J'allais dire, ça se redresse.
Nous sommes dressés, ouais.
Comment ça, il y a pire comme moulage, quoi, c'est tout ce que je veux dire.
Elle est devenue maman d'ailleurs.
Oui, elle est devenue maman, ouais.
Oui, on s'en fout. Elle est donc.
Enfin voilà, donc il m'a donné un bon coup de main. J'ai appris la technique du moulage, ce qui nous a permis après de décliner un petit peu certains moulages sous des formes différentes. Par exemple, le buste, on le décline en violon. Ça nous a permis de faire l'ouverture du Salon du Chocolat à Paris à deux reprises. Et puis l'ouverture du Salon de Shanghai.
Une pièce que j'ai vue, qui est toujours en exposition dans la boutique.
C'est la cuissarde.
Qui est une pièce magnifique.
Voilà, alors la cuissarde, c'est là, c'est Philippe Berry qui m'a fait cadeau des droits pour la tirer en chocolat.
Voilà. Ça, donc, c'est quelque on peut pas manger une œuvre comme ça en fait.
Si, parce que les gens l'exposent. Par exemple, la cuissarde, souvent on la vend pour les mariages, qu'on appelle la jarretière de la mariée. Quoi. Il y a à peu près une dizaine de kilos de chocolat. Mmh. Bon, ça vaut les 600 ou 700 euros. Mais bon, enfin, on fait un happening avec ça. Oui. Mmh. J'avais d'ailleurs fait avec une galerie à côté de l'Élysée. Une exposition sur des photos de comment il s'appelle, Chevalier Las Palès. Donc j'avais été contacté par une galerie pour que je leur fournisse des chocolats pour tous les invités. Donc j'avais fourni, je sais plus, peut-être des scènes du Kama Sutra, enfin bon, donc on avait fait des petits sachets. Et puis j'avais eu l'idée, j'ai dit bon, pour l'exposition, on pourrait faire 3 cuissardes entrelacées, ce serait une belle pièce, et puis à la fin de l'exposition, on la pète, on la bouffe, quoi.
Bien sûr. On lui fait la peau!
On lui fait la peau! C'est comme le but du jeu!
Je bouffe la cuissarde.
Donc, on a fait cette exposition, et bon, ça m'a permis aussi d'avoir des relations, d'être un peu plus connu en dehors. Il y a toujours une corrélation entre le métier que j'ai fait et puis le métier que j'exerce aujourd'hui. Mais je disais encore hier, juste de ma notoriété au service.
Mais
de...
Mais c'est pour ça que, justement, t'en parlais tout à l'heure, Didouille, je suis maintenant convaincue que Hard, ils se sont inspirés de ta vie, parce que justement, à un moment, mais convaincu, il ouvre son petit café, il essaye de faire restaurant, mais et en fait, ça marche pas, parce que ils veulent voir Roy la poutre, machin. Voilà. Donc, ils ouvrent leur petit boudoir à la cave, et puis. Parallèlement à ça, pour financer un petit peu son restaurant, il se fait mouler l'engin parce que ça se vend super bien en Asie. Et ça ressemble complètement à ce que je suis persuadé qu'ils sont inspirés.
Et moi, je me suis moulé. J'ai mon chocolat que je peux faire tirer au laboratoire.
Non, mais tu vois, c'est pour ça. Regarde le truc.
Et j'ai fait des bougies à une époque. Je les ai vendues sous forme de bougies.
Ça c'était une bougie, d'ailleurs, dans le film. C'était un moulage pour faire une bougie.
Moi, c'était plutôt un god ou un truc comme ça. Oui, moi, je pense que oui. Plutôt un god.
Bah, je sais pas. Moi, je me rappelle d'un.
Tu as peut-être retenu des détails que nous.
Ça dépend qui a écrit le scénario. Si c'est un mec de Canal, c'est forcément un mec qui me connaît. Hein.
Oui, bah oui.
Bah, c'est un...
Mais peut-être qu'ils se sont inspirés, effectivement. Parce que moi, je me souviens à l'inauguration de mon café à Bordeaux. Il y a Henri Gigoux qui est venu dans mon café avec deux Je me souviens plus comment ils s'appellent, les deux qui étaient à Canal. Bon, peut-être qu'il y a des copyrights.
Et la moralité de l'histoire, en plus, c'était qu'une fois que tu avais, entre guillemets, vous allez dire, je le fais exprès, mais trempé dans le milieu, tu pouvais pas sortir du milieu comme ça, tu avais ton image, et du coup, bah, autant jouer.
Autant de l'utiliser.
Voilà, ouais. Autant l'utiliser à des fins commerciales.
Oui, tu mesures l'impact de ta notoriété sur la vente des chocolats ou sur le ou est-ce que tu penses qu'il y a un lien très fort, les gens viennent pour voir Richard Alan ou
est-ce qu'il y a encore des gens qui viennent te voir enfin,
oui non il comme... y a moi je suis pas très souvent au magasin, mais il est vrai que quand des gens viennent et qui me voient, ils sont contents de me rencontrer.
Et en plus, à la fin du film, il ouvre une chocolaterie. Hein,
au Neubourg. C'est de dingue. Mais je crois qu'il n'y a aucun lien.
Bon. Non, il n'y en a aucun.
Ça n'a rien à voir avec toi.
Parce que j'ai la saison 4, il fait un peu de chocolat. Ceci dit, pour en revenir au chocolat, vous avez reçu un label de la qualité en plus pour vos chocolats. Et ça, c'est pas rien.
Oui, c'est pas juste.
Il n'y a pas juste le fait que Richard Alan se soit lancé. En plus, clairement, si on tape sur Internet, ça je voulais le dire, moi j'ai tapé chocolat érotique, donc effectivement il y a plein de sites Internet, là il y a un chocolat, enfin Bokel, je ne sais pas si tu connais,
ouais, Bokel, il fait le Kama
Sutra. Il fait le Kama Sutra, mmh. Dans la Meuse, il y en a un, il s'est lancé dans les sucettes en forme de bite et tout ce qu'on veut bien. Reste que la particularité de vos chocolats, en tout cas dans les moulages, il y a vraiment un sens artistique. C'est pas simplement du chocolat avec en forme de bite. C'est non seulement il y a la qualité du chocolat, mais en plus, quand on regarde, c'est vraiment des sculptures.
Les moulages sont beaux en tout cas.
C'est très très beau, voilà.
Oui,
et
tout
c'est
à fait.
Votre différence.
Et moi, je joue là-dessus, et d'autant que hormis le Kama Sutra qui est dans le domaine public, puisque c'est un moule qu'on peut trouver en Belgique ou en Italie. Tout le reste est ma propre production, c'est-à-dire voilà. Mais c'est des droits qui me sont acquis. Mmh. Ouais. Donc par conséquent, personne peut
oui,
me copier.
Oui, puisque tu fais appel à des artistes qui ont moulé les trucs spécifiquement pour toi.
Moi, j'ai payé les droits pour ça. C'est un peu ma force.
Oui, tout à fait.
Mais ma force aussi, c'est mon antériorité qui fait que un journaliste vient me voir parce que Côte Béton a pris un autre chemin. Et bon.
Le Neubourg. Alors pourquoi le Neubourg?
Oui, c'est une bonne question que vous voulez poser aussi. Le Neubourg, pour la plupart de nos auditeurs, ça n'a pas parlé beaucoup déjà.
Voilà.
Comment on arrive au Neubourg?
Alors, comment on arrive au Neubourg? C'est simple.
Connotation avec le sexe encore, Neubourg.
Non. Ah oh, putain, vous avez l'esprit mal placé, les mecs.
Ah, oh, c'est pas le genre de la maison. Donc oui, le Neubourg.
Non, le Neubourg, bon, c'est une question de circonstance. Comme on habite à 9 km de Bernay, j'ai donc réintégré une maison que j'avais achetée en 81. Et pour aussi une petite anecdote comme ça qui concerne ma vie tumultueuse, quand ma femme m'a dit on va réintégrer Saint-Marc-de-Fresnes dans notre maison, 350 habitants, isolés complètement. Sortir des boîtes à 4 heures du matin après avoir vu les copains, bien bu, bien mangé, bien et tout.
Je vais me
faire chier comme un rat mort, quoi. Mais ça fait partie un peu, je dirais, de mon état d'esprit, dans le sens où j'ai fait le métier dans le cinéma, je savais qu'il aurait une fin et qu'il y aurait un renouveau. Donc c'était une nouvelle vie. Finalement, le bistrot terminé, on passe au chocolat. Donc au chocolat, ça veut dire qu'il faut trouver des fournisseurs, il faut trouver un magasin, il faut se remettre le pied à l'étrier, quoi. Par rapport à ça, tout se passe bien.
Et donc Ludo est passé à la boutique hier parce qu'il nous a ramené des chocolats, mais moi j'ai pas eu l'occasion de passer à la boutique. Est-ce que les chocolats un peu, je dirais, tendancieux sont exposés comme les autres ou pas? Est-ce qu'on peut, est-ce que je peux rentrer avec mes enfants dans la boutique sans qu'ils soient un peu choqués?
Oui. J'ai jamais voulu avoir une connotation de vulgarité. D'ailleurs, quand j'ai monté mon service internet. J'étais allé voir des gens du CIC chez qui nous étions à l'époque, et j'ai fait ma demande pour le service internet et la sécurisation du site. Rendez-vous est pris. Quand je suis arrivé dans son bureau, j'ai vu la gueule de la nana. J'ai dit c'est mort, quoi.
Elle était pas blonde, aux yeux bleus, avec des petits.
Celle-ci, il n'y a pas moyen.
Donc je lui ai parlé du projet. Chocolat érotique, mais j'ai dit on fait pas que ça, c'est pas notre tasse de thé, C'est juste une petite complémentarité pour se distinguer de d'autres gens qui font du chocolat. Oui, mais vous comprenez, c'est pornographique. J'ai dit, vous savez, je pense que vous avez tendance à confondre pornographie et art. Parce que ici, vous avez une pièce devant vous qui est de l'art du XVIIe siècle japonais. Mais... Alors, si le sexe vous
pose un problème.
Vous pose un problème, oui, effectivement. C'est votre problème, c'est pas le mien. Je dis, mais vous allez me poser un problème. Et je vais vous en poser un, parce que je vais quitter votre banque. Voilà, madame. Mmh. J'ai refermé mon dossier, j'ai dit, heureux de vous avoir connu, merci d'être venu.
Bonjour, allez, bisous.
Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, mais tout ça, c'est pour dénoter l'hypocrisie des gens. Mais ce qui est très curieux, c'est quand les gens arrivent dans la boutique, par rapport, là on est encore passé à la télé il y a 3 jours, sur FR3, et toujours pareil, ils sont venus parce que Richard Allan, il a fait du X, mais il a fait aussi du chocolat. Non, mais on a vachement joué sur le chocolat érotique.
Bien sûr.
FR3, il y a 2 ans.
FR3, cette émission a été tournée en 1995.
France 3.
Ils nous ont fait un reportage pour Noël absolument fabuleux. Et c'était local, c'est passé sur le national. Hein. On a eu des commandes, mais il faut voir, hein, incroyable. Ouais, bah quoi. Et alors les gens arrivent un peu empruntés quelquefois. Elle a dit, bon, je viens pour le chocolat érotique. Oui, alors voilà, on m'a parlé. Ou j'ai vu que sur le journal ou à la télé...
C'est pour une copine
Ouais. C'est pas pour moi, en fait.
Vous parlez du chocolat érotique, oui. Voilà. Alors, au début, on avait un petit rideau derrière lequel on mettait nos chocolats et on marquait le seul chocolat interdit aux enfants.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est resté un petit peu mon cheval de bataille, dans le sens où là, je suis en train de refaire un site internet... Ou drogue douce, il sera posé en dessous le seul chocolat interdit aux enfants. Voilà. Mais bon, on met le Kama Sutra en vitrine.
Il n'y a plus de rideau parce qu'il n'y était pas là.
Non, il n'y a plus de rideau. On l'a enlevé. On ne veut pas choquer, mais les pièces sont belles. Regardez, oui. Je ne veux pas mettre un sexe de femme que j'ai moulé, mais je peux mettre un sein.
Mais là, on est dans la nudité. On n'est pas dans les. Dans le porno.
Pour le Kama Sutra, on n'est pas que dans la nudité.
Non, mais le Kama Sutra, c'est une culture et ça fait partie d'une littérature.
Non, mais.
Oui, certes, mais.
Ce qu'elle veut dire,
c'est pas juste un bout de sein, quoi.
Non, c'est pas un bout de sein, mais.
C'est pas ça, mais. Après, tout dépend comment, toi, ta réaction, tu as par rapport à tes enfants aussi. Oh non, ne regardez pas ça. Déjà, tu crées un questionnement pour eux. Après, ils peuvent dire, oh regarde. En même temps, la nudité, c'est leur corps aussi aux enfants.
Oui, la nudité, on est d'accord.
Oui, mais
les miens, ils sont petits. Pour l'instant, ils seraient un peu...
Oui, je sais pas s'ils comprendraient.
Ils ne comprendraient pas, en fait.
Ils diraient, tiens, ils font de la bagarre. Non,
mais... je pense que...
Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et moi, je veux faire de la bagarre. Moi. Notamment en Suède et au Danemark, il y a eu des reportages qui ont été effectués où il y avait des revues pornographiques qui étaient affichées avec les autres revues. Mais les enfants achetaient Tintin ou je ne sais quoi, enfin leur revue du pays. Ils n'ont jamais été attirés spécialement
par ça. Mais quand bien même ils le seraient, ça fait partie du processus d'apprentissage. Moi, dans ma bibliothèque, dans ma classe, j'ai 3-4 bouquins sur l'anatomie. Ils vont toujours sur la page où on voit la petite fille nue et le petit garçon nu. Ah, le zizi, ah, la zézette.
Non, mais le petit garçon n'a pas un doigt dans la choune de la petite fille non plus. Non, mais c'est vrai. C'est la mise en situation là dont je te parle. C'est pas.
Non, mais c'est du cas. Mais on peut expliquer aussi que c'est le Kama Sutra.
Pas un enfant de 5 ans.
Mais non, pas un enfant de 5.
Mais c'est pas grave. On est dans les cartes du débat.
Mais après.
Il va faire la bagarre.
Franchement, il faut regarder vraiment de près.
Tu sais, mon petit, faut qu'on dise quelque chose. Non, pas dans une fleur ni dans un chou.
Par contre, quand tu fais la bagarre, on lève le doigt quand même.
J'ai un autre chocolat qui est une reproduction des temples de Khajuraho. C'est pareil, ce sont des scènes d'orgie, mais on voit ça à Khajuraho. C'est des temples entiers qui sont affichés. Je vais notamment assez souvent à Bali. Et ben à Bali, dans l'ancien temps, façon de parler, il y a encore au 19e siècle, 18e, toutes les femmes qui étaient dans les rizières, elles avaient les seins à l'air. Ça, on peut constater dans les...
Ah oui, mais ça, voilà. Oui, effectivement, bon, donc, la nudité, moi, c'est...
La nudité n'est pas du tout tabou.
Pas le nom.
Qu'est-ce qui fait le tabou et l'interrogation de l'enfant?
C'est la mise en scène, pour moi.
C'est la morale que tu t'imposes.
C'est la culture.
C'est la culture, c'est l'éducation. Ouais. Moi, on a participé à une exposition à Val-de-Reuil, il n'y a pas très longtemps, et on avait affiché tous nos chocolats érotiques. Ben, il y avait des gens qui passaient. Moi, j'ai vu des mères mettre la main devant la... Et ben le gosse, qu'est-ce qu'il fait?
L'attrait de l'interdit.
Voilà, c'est clair. Fait. Voilà. Alors qu'il passait, il
n'aurait peut-être pas prêté attention plus que ça.
Ouais. Pas du tout.
Bah, c'est ça que je veux dire, moi.
Non, mais c'est une question d'éducation.
Il a mieux dit que toi,
c'est
alors.
Pareil.
Ouais,
tout à fait.
Donc, c'est vrai que là, on a pas mal parlé de tout ce qui était chocolat, mais Ludo, qui a beaucoup bossé sur ta biographie, nous a parlé d'autres passions. Et notamment tout ce qui est association de photos sous-marines. Donc oui, c'est une autre passion qui t'anime visiblement pour une association qui s'appelle Requins en péril, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait.
Avec ta fille, une de tes filles, parce qu'en fait, tu en avais trois.
Bah, ma dernière fille, oui, et qui est une association pour la défense des requins, des mantas, notamment, enfin bon, de l'environnement des océans en particulier. On englobe aussi d'autres défenses, qui est la reconstitution des coraux. Mais bon, c'est surtout axé sur la protection des requins, qui lui est en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est le super prédateur qui gère toute le strass d'en dessous.
Je vais juste préciser que tu es plongeur depuis 1965. Enfin, ça fait 50 ans que tu...
Ça fait 50 ans que je plonge. Je suis devenu... par passion et par le goût du partage, photographe sous-marin aussi. Depuis 7 ans, je fais de la photo sous-marine parce que j'ai vécu beaucoup de choses, effectivement, sans les fixer sur la pellicule. Et je trouve qu'il y a des espèces qui se perdent aujourd'hui. Il y en a heureusement d'autres qui naissent. Mais c'est bien de pouvoir les fixer sur la photo, afin de faire profiter un petit peu des gens de justement la nécessité de la protection de ce qu'il y a sous la mer, parce que c'est une richesse extraordinaire, quoi. D'ailleurs, là, je pars dans 2 mois, je pars à Bali.
Et t'as pas mal voyagé un peu partout pour différents endroits pour plonger, je crois, dans le monde.
Oui, oui, et là, justement, j'ai rencontré il y a 2 ans un Australien qui est installé à Bali depuis quelques années, et lui, il rachète des requins au marché, aux pêcheurs qui vont au marché, les petits requins, et plutôt que de les vendre au marché, il les rachète. Donc il a une nursery à requins, il les fait grossir. Bon, il les paye au bout de 3-4 jours quand ils sont viables, s'il constate qu'ils sont viables, il les paye, au prix du marché, hein, c'est tout.
D'accord.
Et une fois qu'ils sont suffisamment grossis, on les transfère sur une île qui s'appelle Gilitravangan, et on les remet dans leur milieu naturel. Alors on fait un reportage sur lui. On a évidemment une partie de l'île à visiter pour sa beauté, la visite des temples. On doit aller à Java, monter sur un volcan, parce qu'il y a les travailleurs du soufre qui dégagent le soufre dans la journée. C'est un travail colossal. Et les gens vivent pas très vieux. Donc il y a ça. Il y a aussi tout un périple de plongée qu'on doit effectuer pour le dessous. Et on va finir par Gilitravangan, où là, on va remettre dans leur élément les requins qui sont venus de Bali. Et on a un reportage à faire sur une fille qui s'appelle Delphine Robe, avec laquelle je vais travailler bénévolement pendant... un mois et demi, de voir peut-être un peu moins, un mois et demi, pour lui donner un coup de main. Et où justement l'objet principal de sa démarche, c'est de reconstituer les coraux. Donc hier soir, il y a eu un reportage sur Talassa où justement on a vu ça, mais à Rajahampa, où ce sont des structures métalliques et qui sont alimentées par une alimentation de basse alimentation.
D'accord.
Voilà, c'est un procédé américain qui a été donné à cette fille. Et en dehors de ça, elle faire les chevaux, parce que sur cette île, il y a absolument aucun véhicule. Donc il y a que des chevaux qui se déplacent. Donc elle donne un coup de main pour ferrer les chevaux, pour essayer d'inculquer aux gens de faire boire les chevaux en dehors de leur nourriture, parce que eux, ils mélangent l'eau et la nourriture. et les chevaux qui travaillent à longueur de journée n'ont pas assez de...
d'apport en eau.
Voilà, donc elle essaye de faire comprendre. Parce que la vie d'un cheval, là-bas, c'est 4 ans. Hein.
Ah oui.
C'est vraiment... Donc elle stérilise les chats, enfin bon, elle fait. Et puis maintenant, elle s'occupe du recyclage des poubelles. Et ce qu'elle veut, parce que les poubelles sont brûlées jour et nuit hein, pour éliminer tout ce qui se passe, parce que c'est une île qui est beaucoup visitée pendant certaines périodes, à longueur d'année, mais il y a des périodes où on peut plus avancer. C'est vraiment très important. Et on doit terminer normalement par sur l'île de Lombok, dans un village de pêcheurs qui s'appelle Tanjung Luar, qui lui est un village qui vit que de la pêche et quelque part de la pêche illégale des requins, où il coupe les ailerons et les expédie. Et là, alors même les dauphins, alors que c'est interdit, oui, ils arrivent à les pêcher. Donc on a déjà réalisé un film là-dessus.
J'ai entendu parler juste sur le, parce que je suis allé voir sur le site de l'association, il y avait des chiffres qui étaient assez terribles qui étaient énoncés. On parlait de 100 millions de requins tués par an.
Oui.
Et de 90% de dépeuplement dans certaines régions des requins en quelques années.
Tout à fait. Et il y a même des espèces qui sont endiguées maintenant.
Complètement disparues.
Ouais, qui ont disparu. Nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que ce soit un requin ou une rémanta, par exemple, ces gens-là gagnent plus d'argent à les protéger, à les exploiter au niveau écotourisme, plutôt que de les tuer. Parce que si on prend une manta entre sa naissance et sa mort, elle rapporte 2 millions de dollars.
Ah oui ?
Ouais.
Par le tourisme ?
Par le tourisme.
Par le tourisme.
Voilà.
Donc oui, effectivement.
Donc à Bali, effectivement, quand on voit, sur un point qui est très réputé, qui s'appelle Manta Point, eh bien, vous voyez évoluer 10, 12, 15 remontas qui font jusqu'à 6 mètres ou voire plus évoluer au-dessus de vous. C'est extraordinaire. Même si on ne fait pas de photos, ne serait-ce que de voir ça. Puis c'est un poisson qui est inoffensif, qui est majestueux, qui est beau. Voilà.
Ouais, donc il faut redonner de la valeur à ces espèces pour...
Oui, tout à fait. Ouais.
Mais c'est le seul moyen de les sauver, finalement.
Est-ce que la médiatisation sur les attaques de requins, comme ce qu'il y a eu là, cet été à l'île de la Réunion, n'a pas des conséquences aussi sur le comportement de l'homme ?
À peu près, c'est 4 attaques de requins. Enfin, sur les requins, c'est 4 morts par an. Enfin, tout...
Ouais, enfin, disons que on a...
4 attaques par an de requins sur l'homme.
On en a eu un peu plus millions, par rapport à l'île de la Réunion, effectivement, mais ça ne concerne pas les plongeurs à proprement dit, ça concerne plus
les surfeurs.
Or les surfeurs, on a un antagonisme entre les surfeurs et les plongeurs qui est je suis le roi de la mer. Ils sont partout chez eux. Il faut endiguer le requin, pourquoi? Mais il faut pas oublier que il y a une réserve qui a été créée. Tous les requins de récif ont été éliminés. Et le requin bulldog, notamment, puisque c'est souvent lui qui fait les attaques, et c'est la particularité de ce requin, il est aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau de mer. Donc il vient de plus en plus du auprès des côtes. Et les surfeurs, quand on leur dit à éviter de l'eau boueuse, éviter de surfer à partir du crépuscule, parce que c'est là où les requins chassent, ils y vont. Ouais.
Après, ils mettent ça sur le dos du requin.
Chacun prend ses risques. On a combien de morts? Les morts, parce que les gens disent, il s'est fait bouffer par un requin. Non, le requin n'aime pas la chair humaine.
Oui, ouais. Le requin ne mange pas.
On n'est pas assez gras.
Il le crache. Ah,
c'est les otaries, c'est des cachalots, c'est éventuellement leurs congénères.
Dans le reportage, enfin le film que vous avez tourné avec l'association Tous Ensemble, il y a un apnéiste qui est triple champion du monde, qui a parrainé l'association.
Pierre Frolin.
Exactement. Et alors par contre, donc lui nage, enfin il expliquait qu'en fait il avait dû un peu apprivoiser sa
appréhension, parce qu'au début il était très, il avait une grande peur des requins.
Mais j'ai vu quand même des images où finalement il y va, et en fait on voit bien que c'est tout en, je sais pas du tout en comment on appelle ça, à harceler le requin, mais il nage près lui, avec lui. C'est à la fois beau et c'est en même temps extrêmement flippant, en fait, quand même, pour lui, parce qu'on sait, je veux dire, qu'est-ce qui fait que là, justement, le requin ne va pas attaquer
le requin n'attaque pas systématiquement. Bon, il y a certaines variétés qui vont être différentes des autres. Par exemple, le bulldog, c'est un requin qui est un peu vicieux. Donc il va venir essayer de vous attaquer par derrière. Le longimanus, il est incisif. Il va essayer de venir, mais plus d'une façon plus lente. Il va commencer à tourner autour de vous, etc. Il va faire une acquisition sur éventuellement prêt à vous toucher. Nous, avec l'appareil photo, ben on laisse percuter l'appareil et il s'en va tout de suite.
Ah oui.
D'autres fois, même sans ça, il va arriver pour provoquer et puis il va tourner. Mais systématiquement, il ne va pas venir. Il y a des signes distinctifs qui font qu'on peut évaluer une attaque de requin. Dans le cas du longimanus, s'il a un comportement qui commence à courber le dos comme ça, à saccader, on sait que là, c'est pas bon. Il vaut mieux sortir. Précis. Moi, j'en ai un qui m'a touché au ventre. C'est tout. Hein. Le requin est un être timide. Il y a des gens qui sont beaucoup plus féroïques que moi au niveau parce qu'ils sont biologistes ou il y a Monsieur Sauré qui est un requiniste qui lui vraiment connaît le requin d'un point de vue biologique, etc. Mais c'est le requin c'est intimide, mais ça dépend encore de la variété du requin. Par exemple, quand on plonge en Afrique du Sud, on est dans des cages. On plonge sur certains requins. On peut être mis en relation avec un requin tigre, un grand requin blanc, mais ça va être un peu le fruit du hasard. Mais quand on va plonger sur d'autres requins, on sait que ces requins-là, on a aucun risque. Par contre, le requin blanc
n'attaque pas systématiquement, de toute façon.
Non, il n'attaque pas systématiquement, mais comme on l'a pas, parce qu'il faut pas rêver, quand on va en Afrique du Sud. On va sur certains points où on sait qu'ils sont là parce qu'ils vont chasser les otaries. Donc le requin, lui, il cherche à manger. Il a senti, on a commencé à lui faire envie et puis on lui donne rien. Donc quand on est dans nos cages, on a le requin qui arrive, mais on a des visibilités qui sont de l'ordre de 5-6 mètres. Et par conséquent, il arrive vraiment à la dernière minute.
Ah oui.
Au mois de juin l'année dernière, j'étais sur les îles Neptune.
Quelqu'un dans la culotte quand même.
Tu m'étonnes.
Non, enfin, moi je suis fasciné par cet animal. Ouais. Et si je le vois...
Oui, c'est la majesté de
l'animal. Bille en tête, j'en ai photographié un. Il a rentré la tête, j'étais à 50 cm de sa tête. Quoi. Et je shootais comme ça. Mais c'est absolument fabuleux parce que le fait de le voir venir sur nous, c'est
le genre d'expérience qu'on vit.
Qu'il faut vivre.
Voilà, c'est ça.
Quand tu vois ça, mâchoire, Richard, merde.
Oui, mais...
Mais en plus,
oui,
c'est combien de rangées de dents?
Ils ont à peu près 200 dents, quoi. Donc, elles se refournissent, elles se régénèrent.
C'est Marius, ça.
ils ont perdu une, ils ont récupéré une autre.
C'est ça.
Ah, c'est vache, ça.
Non, mais allez-y, ça me fait plaisir. Oui.
Mais donc, en tout cas, oui, c'est vrai que ça...
Moi, j'ai assisté à un accident d'une bonne femme, malheureusement, qui est morte, en Égypte, toujours, sur un longimanus.
D'accord, ok.
C'est ce qu'on appelle aussi le requin océanique.
Et qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait plusieurs bateaux.
Taille des nageoires.
Alors, évidemment... quand on est sur un spot où il y a le longimanus, on est content parce qu'on se dit bon, on va faire de belles photos, on va pouvoir l'observer, etc. Il faut toujours faire attention à son approche. Il y a des gens spécialisés qui disent le comportement qu'on doit avoir parce que le requin, lui, il perçoit tout, c'est-à-dire tous les champs électriques, les champs électromagnétiques. Il est capable d'entendre votre cœur si vous êtes décontracté, pas décontracté, si vous avez peur ou pas peur. Donc, ce jour-là, cette femme-là, déjà, elle avait eu des problèmes parce qu'elle voulait à tout prix apprivoiser une murène.
Ah, une murène, non, sérieux?
Non, mais déjà,
mais c'est des saloperies, les murènes.
C'est gentil, une murène.
Ah non.
J'en ai une là.
Donc, ça ne s'apprivoise pas.
Non, mais ça peut attaquer une murène. Ça vit dans les rochers.
Il y a une murène qui est très connue, qui est très vieille, qui est...
Ma femme.
Paf. Tu vois, ça peut attaquer, ça vit dans les rochers.
Elle vit au pôle Nord, c'est la murène des neiges.
Pardon,
Richard.
À Maurice, il y a un plongeur qui qui pendant 10 ans a été au contact de cette murène, et elle vient, on ne sait pas d'où elle arrive, elle se blottit contre vous, elle fait des câlins, c'est absolument fantastique, quoi. C'est un cas parmi.
Elle fait du massage thaïlandais, quoi.
Ouais, c'est du, oui, un peu.
Oh, mais c'est un gros serpent. Oh, quand toujours. Même. C'est un bon gros serpent.
Elle avait essayé. Pardon.
Ça va être long. Hein. Je
non, puis le problème de la murène, c'est que si on subit une morsure de murène, il y a plein de bactéries, et ça met très très longtemps. Hein. On s'infecte et c'est pas très bon, quoi.
Que je dis.
Bon, donc, puis ça a une force phénoménale. Hein.
Je savais pas que t'es experte en murène.
J'en ai chassé une en Martinique, ou non, au Sénégal. J'en ai chassé une, elle m'a tordu la flèche. Mais vraiment, c'est incroyable. Et après, je me suis dit, mais tiens, con. Et donc, alors, cette femme, elle a quelques problèmes, justement, de comportement sous l'eau, quoi. Et elle est sur le bateau, elle est déséquipée, et là, Longimanus, alors il y avait un bateau de Russes, ces connards, et les premiers, ils sautent à l'eau, il y en a un qui est tombé sur le dos du requin, tout ça, ça a dû bien l'énerver.
Exciter la bête.
Et cette bonne femme, elle est partie en palque masque tuba pour caresser le...
Non mais ils sont... bah oui, mais non mais là...
Alors,
les normales.
Je vais faire le GR20 en tongs, moi. C'est marrant, j'ai mal aux pieds.
On sait pas si elle a... Si elle l'a touché ou pas, toujours est-il que bon, on a entendu crier, et puis elle a eu une jambe pratiquement sectionnée à droite, et la gauche, elle était pratiquement aussi sectionnée au niveau de la hanche. Donc elle est morte en 30 secondes.
Oui. Enfin, le problème, c'est que tout est bon dans le requin, apparemment. Hein. On les chasse pour les ailerons, on trouve. Non mais. Pourquoi ils sont tués ? C'est pour ça que, enfin, requins en péril, c'est pour sauver aussi ces requins. Il y en a plein qui sont chassés.
Bah, c'est la surpêche aussi,
pour des buts surpêche, et des objectifs qui sont pas fondés. Alors, voilà. Soit disons que le cartilage, il est bon, on va faire des petites gélules pour te soigner. Non, alors, c'est pas vrai.
Ça, c'est de la connerie.
Voilà, la mâchoire pour le touriste. Tiens, je ramène une mâchoire avec des dents de requin. Ça va être trop beau dans la salle à manger. Est-ce qu'on a véritablement besoin de ça ?
Non, on a.
C'est un peu comme l'histoire des ours en Chine où ils sont vivants, on leur met une petite truc pour avoir soi-disant leur hormone, une substance qui est censée, et ils souffrent comme des pauvres. Enfin...
Le problème de l'aileron de requin, c'est que dans les dynasties chinoises, c'était réservé pour les repas d'apparat. Donc c'était des gens très riches et c'était un signe distinctif de richesse. Il y a de plus en plus de Chinois qui deviennent riches et de plus en plus qui veulent frimer. Ouais. Donc, il faut savoir qu'un aileron de requin, entre le moment où il est pêché et le moment où il arrive sur la table, il reste 30% de son volume. C'est cartilagineux, ça n'a aucun goût. C'est simplement la représentation de sa popularité et de sa richesse. Mmh. Voilà. Alors, il y a maintenant de plus en plus... Tous les repas officiels en Chine n'ont plus d'aileron de requin. Il y a des acteurs et des gens connus, mannequins et autres, qui commencent à faire une vraie
publicité
contre le fait de manger de l'aileron de requin. Mais quand on peut assister à des scènes qui sont horribles, par contre, bon, un requin baleine, par exemple, qui peut faire 7 ou 8 mètres, et dont l'aileron peut être vendu jusqu'à 20 000 $. Mais quand on assiste au dépeçage d'un... Moi, j'ai vu un requin baleine se faire couper. C'était vivant.
Ah oui, c'est vrai.
C'est-à-dire, ils ont des scies, ils sont deux. Non, ils les coupent en rondelles. Vivant. On assiste à ça, qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est dans leur culture, c'est à se poser des questions, quoi.
C'est imbobinable.
Et c'est un poisson fabuleux, parce que c'est... Il nage vraiment très doucement, il a une belle gueule, il est inoffensif, on peut observer son œil. Moi, je suis toujours fasciné par un œil de requin ou par un œil de baleine, parce que il y a une vraie communication. Hein. C'est incroyable, quoi. Alors, il y a des yeux qui sont plus ou moins durs. L'œil du requin, il va être dur. Celui d'une baleine, il va être tendre. j'ai assisté.
Okay. Écoute, on a fait un bon petit tour, mais on va.
Alors, juste avant de conclure,
vas-y.
Parce que je ne voudrais pas être trop long, mais je suis bavard. Hein, vous voulez
c'est pas très intéressant.
On adore ça. Si, on adore.
On est passé du cul au chocolat par les requins, nickel.
Oui, non, mais.
Et en encore, il y aurait d'autres choses à parler. Mais
ouais,
bon,
on pourrait en parler.
Oui, mais bon.
Il y a plein d'autres choses à évoquer.
Effectivement. Donc, alors oui, je voulais juste vous dire une chose, c'est que. Hormis cette association, j'ai fait partie il y a quelques années d'une association qui sauve les lévriers galgos. Alors je ne sais pas si vous êtes penché sur la question.
Si, carrément pas.
En Andalousie, ce sont des chiens qui sont massacrés.
C'est terrible.
Qui sont les noirs en fait, les lévriers noirs.
Ah non, mais tous les lévriers. À partir du moment où ils sont plus bons à la chasse ou plus bons à la course, ils rapportent plus rien. Il les pendent, alors ils vous disent non, mais nous on l'a pas pendu parce qu'il avait les pieds qui touchaient
ce. Il fout dans l'acide.
Moi j'ai vu un chien.
Ah oui, c'est horrible. Va pas regarder ça, écoute, c'est horrible.
Ah oui, c'est.
Ah oui, il y a des photos.
Et bon, alors j'ai fait partie de.
T'as s'impliqué dans ce.
Je me suis impliqué
aussi,
là-dedans. J'en ai eu trois, j'en ai encore deux qui sont chez moi. Qui sont des chiens formidables.
Il n'y a pas de raison, oui.
Et quand on voit ce qu'ils ont subi, ils n'ont pas un brin d'agressivité. À aucun moment, j'ai vu un chien essayer de me mordre. Même des chiens qu'on ne connaissait pas quand on allait dans les refuges, on pénètre dans leur cage, on les voit, on les a sauvés de la strangulation, le cou ouvert, ils viennent vers vous, ils vous lèchent les mains, quoi.
Ce sont des chiens qui sont, si j'ai compris, pour expliquer à tout le monde, ce sont des chiens qui sont élevés, en fait, en Espagne. Pour la chasse, mais qui en fait le chien est considéré un peu comme un outil, comme un fusil ou quoi que ce soit. Et quand la saison de la chasse est terminée, en fait, en fait, on se débarrasse des chiens. Mais on s'en débarrasse de façon assez
cruelle. Il les traîne derrière les voitures, il les jette dans des puits. Ouais. Alors c'est particulier à l'Andalousie. Le problème, c'est qu'on a essayé d'interférer au niveau des gouvernements, ils ont des gouverneurs par province. D'accord. Donc ça n'est pas géré par l'Espagne par elle-même. Par le gouvernement espagnol, mais par contrée, par province. Donc c'est dans leur culture. Mais qui chassent avec les lévriers, parce qu'ils sont très bons pour chasser le lièvre, mais parce qu'effectivement, ils remplacent le fusil, eux, ils sont à cheval, et puis les chiens rabattent et ils attrapent les lièvres. Alors ils organisent des courses aussi, parce que ça coûte très cher un lévrier.
Il n'y a pas eu aussi une notion, Richard, corrige-moi si je me trompe, d'honneur aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si le chien a mal chassé, en fait, en gros, le chasseur se considère comme déshonoré par son chien. Et donc à ce moment, il...
Non mais on est à quelle époque aussi, c'est ça qu'il faut.
Non, mais maintenant,
c'est ça qui est incroyable. On serait au Moyen-Âge, on se dirait, bon ok, mais là on est au...
Ils avaient quand même des antécédents avec la tauromachie déjà.
Et ce sont des chiens qui sont... On les appelle les chiens canapés. Ils adorent être sur les canapés. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Et ce sont vraiment des. Mais c'est des chiens qui sont peu connus. Alors le problème aussi en Espagne, c'est que vous baladez à Madrid avec un lévrier, on vous regarde avec des drôles de yeux. Hein.
Parce que c'est culturel, encore une fois.
C'est culturel. Ouais. Bon, c'est pareil. Moi, je suis contre la tauromachie. Bon. Quand j'en vois un qui se fait embrocher, là, comme bien.
Attention, tu vas regretter ce que tu vas dire dans deux secondes.
je te rejoins complètement. En tout cas, on sent que c'est des sujets qui te tiennent à cœur et que tu défends avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Donc, on va relayer ces différents sujets. Hein,
c'est l'occasion.
Donc, on connaît. Enfin, moi, en tout cas,
on va envoyer sur le site. Ouais.
En tout cas, écoute, merci. Et puis, on va laisser Arnaud, avant de se prononcer, finir et conclure sur ce sujet. Parce que Arnaud, c'est notre spécialiste.
Je dirais peut-être pas le comique,
mais il dresse un peu le portrait de l'invité en général à sa façon.
C'est satirique.
Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui dresse le portrait, c'est quelqu'un qui est un ami à moi.
Dont tu te fais le...
À
qui tu laisses le micro pendant quelques secondes.
Dont je me désolidarise parfois. Hein.
Le porte-parole.
Mais pourquoi est-il si méchant ?
Ma plaisir. Bonjour à tous. Marius, avant de commencer, pourriez-vous sortir le chien que j'entendais tout à l'heure? Parce que je ne voudrais pas finir comme Madame Lovelace, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Alan. Hein, je me présente. Jean-Robert Frégin, enchanté. Hein.
Très bah, heureux.
Vous pouvez m'appeler JR. Hein.
Ah, comme dans Dallas.
Tout à fait.
Il t'a tout piqué.
J'étais d'autant plus ravi quand j'ai su que j'allais devoir dresser votre portrait que j'ai un ami qui connaît 1000 anecdotes à votre propos. Il est l'un de vos plus grands fans et souhaitait que je vous passe le bonjour de sa part. Il s'agit de Patrice, mon boulanger Banette. Il a eu un parcours inverse au vôtre. Il a commencé par les métiers de bouche, mais fait depuis quelques années des sextapes avec sa femme. Elles ont un petit succès local, tellement d'ailleurs qu'il les projette dorénavant un samedi par mois à la salle des fêtes du village. Il aime à faire le parallèle entre vos débuts. Sa première expérience ne fut pas plus glorieuse que la vôtre. Hein. Impossible d'avoir une érection. Il est resté flasque et cette flaccidité lui a valu dans un premier temps le surnom de queue de paton. Du nom de la pâte à pain. Puis, il est tombé un jour par inadvertance dans une cuve pleine de levure et a failli y passer. Mais sauvé in extremis, depuis, tel un fier obélisque, il reste constamment dressé et sa fermeté et son croustillant lui valent désormais le surnom de queue de crouton. Alors, pour mieux vous connaître, il m'a d'abord invité à écouter une grande dame de la chanson française, Annie Cordy. Étonnant en effet à quel point l'histoire de votre vie est concentrée dans une des plus belles chansons de notre Tata Yo-Yo préférée. En effet, après avoir consacré le plus clair de votre existence au plaisir de 8000 femmes, offrant leurs ananas et leurs petits kiwis aux bons soins de votre baobab et de vos noix de coco, vous avez consacré toute la seconde partie de votre vie au chaud-chaud-chaud cacao, chaud-chaud-chaud chocolat. Tout en n'oubliant pas, comme on l'a vu, de séjourner de temps à autre dans l'île au soleil, dans l'île aux merveilles, au bord de la plage, à observer entre autres des poissons-chats. Troublant. Mais même si tout est résumé dans cette chanson, mon boulanger m'a appris que tout a véritablement commencé pour vous un beau mois de décembre 1950. À Marseille, dont vous êtes originaire, la famille Lemieuvre a coutume de bâtir une petite crèche pour Noël. Mais au moment de la finaliser, horreur. Tous les personnages sont là, avec les moutons, le bœuf, mais il manque un animal. Panique dans la petite famille, le petit Richard tout fier lève la main. Entre ses petits doigts boudinés, il tient l'équidé qui faisait défaut. Dans son petit poing serré, Richard Allan. Vous garderez de ce doux instant de gloire familiale où tous les regards se sont tournés vers vous plein de reconnaissance, la sale manie de toujours vouloir mettre le petit Jésus dans la crèche. Quelques années plus tard, Richard, vous prenez de passion pour la mer et aimez à errer sur les côtes escarpées de Méditerranée. Vous avez déjà un goût certain pour la gaudriole, hein, ce qui vous vaut, de la part d'un jeune ami passionné d'histoire féodale, d'être qualifié de hulé, hein, ce qui signifie en vieux François un paillard, un débauché, un libertin. Quand vous revenez de promenade, il vous apostrophe, toujours avec la même plaisanterie, avec son doux accent marseillais. Ah, t'étais encore dans les calanques, culé.
Au secours.
Cet amour de la mer ne vous quittera plus. Ah, vous vouerez d'ailleurs un véritable culte au commandant Cousteau, avec qui vous serez tout près de réaliser votre rêve. En effet, juste avant la mort du plus célèbre des bonnets rouges, vous deviez réaliser un projet mêlant à la fois un hommage à un grand homme emblématique de votre région d'origine, Marcel Pagnol, et votre passion de la mer. Ah, vous veniez à peine de boucler le scénario de Jean Défloré, qu'il vous proposait d'adapter la suite où vous incarniez un personnage un peu trop amoureux des baleines, Fanon des Bourses. Un épisode très méconnu de votre adolescence, c'est cette intense passion que vous avez vécue avec grand-mère Ozou lors d'un séjour à Rouen. Alors que vous aviez 14 ans et que la vieille femme était à la fleur, certes quelque peu fanée de l'âge. De là naîtra votre amour du chocolat. La vieille femme n'avait ni froid aux yeux ni aux macarons, hein, comme en témoigne d'ailleurs la présentation qui est faite sur le site des vitrines de Rouen. Je cite « Jeanne Ozou, née en 1892 à Marome près de Rouen, avait pour passion la cuisine et les biscuits », qu'elle aimait bien tromper d'ailleurs, se commet de préciser le site. Comme le disait un proverbe populaire à Rouen à cette époque, la grand-mère Ozou, elle ose partout. Véritable héritier spirituel de la vieille femme, vous aurez l'élégance de vous retirer pour laisser l'affaire à ses descendants. Vous en sortirez avec une ferme conviction. C'est décidé, vous ne serez pas le chocolatier Ozou, mais le chocolatier Osé. Les années passent, et comme en témoignent nombre de titres issus de votre filmographie, Richard, vous vouez un véritable culte à la sodomie. Je les invente pas, hein. Retourne-moi c'est meilleur, du foutre plein le cul, embranchez-moi par les deux trous. L'aubergine est bien farcie.
Ah, je l'ai vu!
Je l'ai
vu, l'aubergine bien farcie.
Là, transparaît en outre votre passion pour la gastronomie. Hein. C'est la fête à mon cul et bien d'autres. Au point que vous en devenez un véritable prosélyte du fessier, un dévot du séant, allant jusqu'à en développer une véritable religion. Vous devenez un fondamentaliste religieux. Non, pas fondamentaliste, fondamentaliste, fervent adorateur du fondement. Bon, jusqu'à vouloir imposer votre bigoterie croupière comme loi suprême, arguant de sa primauté sur notre arsenal législatif et réglementaire classique. D'ailleurs, vous ne trompez personne. Votre pseudonyme Richard Allan n'est ni plus ni moins que l'anagramme de Charia Anal. Charia Anal, que vous auriez voulu nous imposer, cher Richard Allan, contre notre gré et au mépris de nos libertés fondamentales.
Fondamentales.
Mais bon, le fondamentalisme islamique est passé par là, et vous avez été contraint de renoncer à vos rêves de grandeur et à vos passions désormais interdites, ces pratiques étant condamnées par des dévots un peu moins hédonistes que vous. Du coup, vous êtes recentré sur vos deux autres passions. Votre chocolaterie au Neubourg, bien sûr. Tout de même, comme le faisait remarquer Marius tout à l'heure en me plantant ma vanne, le Neubourg. C'est comme si Christophe, notre spécialiste S automobile, emménageait à Bagnoles de l'Orne. Et votre association, Requins en péril. C'est d'ailleurs un dernier point commun avec mon ami Boulanger. J'ai oublié de préciser qu'il était blond vénitien, ce qui lui vaut, compte tenu de ses coudrins légendaires, le surnom de Rouquin Marteau. Pour ses amis roux qui ont moins de chance que lui, il a lancé une association sur le même modèle que la vôtre, Rouquins en péril. Mais nul doute qu'à un moment ou à un autre, vous reviendrez à vos premières amours, et je ne parle pas ici de Madame Ozou. Certes, avec le retour d'une forme d'intransigeance religieuse, les temps sont troubles pour ceux qui ont des mœurs totalement libérées. Mais vous ne manquez pas de ressources, Richard, et saurez vous adapter, je n'en doute pas. D'ailleurs, la rumeur dit que pour plaire au Mola, vous vous apprêteriez à reprendre votre ancienne carrière sous le nouveau pseudonyme de Richard Halal et à signer votre comeback par un film tourné au Moyen-Orient, un Que tard au Qatar. Bon, j'espère que mon cher Richard, que vous ne m'en voudrez pas si ce portrait a parfois pris certaines libertés par rapport à la réalité et que, telle une statue antique au passage du président Hassan Rouhani, vous aurez apprécié cette petite mise en boîte.
Bravo, bravo.
Il est bon,
Arnaud.
Il est bon, hein, ce qu'on a. Hein,
alors, juste pour faire une allusion au Qatar, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer un prince du Qatar, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer un prince d'Arabie Saoudite qui un jour m'a proposé de venir tourner avec Brigitte Lahaye dans son pays.
Ah oui, super.
Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, monsieur, j'ai tout. Les femmes, l'argent, la gloire. Il y a une chose que je n'ai pas. Ah, j'ai dit, bon, ben, votre sexe. J'ai dit, pourquoi vous voulez me l'acheter? Non, je ne veux pas vous l'acheter. Je veux vous proposer de faire un film dans lequel vous pourriez tourner dans mon harem. Alors, bon, l'opération s'est jamais fait parce que bon, Brigitte avait pas très confiance partir là-bas. Elle s'est dit, on s'est dit, peut-être que je reviendrai pas. Mais voilà, ça fait partie des rencontres aussi que j'ai pu faire et ça part de finalement d'une modeste pensée d'un homme qui est riche, qui a tout, mais qui a pas tout, quoi.
Bah, bien sûr.
Ça fait relativiser pas mal de choses.
Oui, tout à fait. Mais moi, vous savez, je suis très lucide. Lucide dans le sens où on est, on meurt, on ne connaît pas l'heure de notre naissance, on ne connaît pas encore moins l'heure de notre mort, mais que tout ce qui doit être fait dans la vie, si on le fait avec un tant soit peu d'enthousiasme ou de passion, parce que moi je suis vraiment un passionné, alors c'est toujours une richesse supplémentaire, parce que tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau, et on a un outil formidable aujourd'hui, c'est Internet. On peut avoir n'importe quel questionnement, on peut se pencher sur n'importe quoi, sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est enrichissant, et ça nous permet aussi de vivre. Souvent, les gens me disent, quand ils me voient en plongée, genre, mais quel âge tu as ? Alors, des fois, je dis, je marche moins vite. Voilà. D'autres fois, je dis mon âge. Et les gens me disent, mais tu fais pas ton âge. Je dis, non, je fais peut-être pas mon âge, merci, vous êtes sympa, mais bon, les artères, elles sont là, elles s'usent, hein, il faut pas croire. Voilà, alors, je sais pas, des fois, je me pose la question, je dis, pourquoi j'ai cet esprit encore? Parce que je pense que je relativise tout dans le sens où je fais une chose, mais il y aura une suite, quelle qu'elle soit, et que cette suite-là, il faut qu'elle soit la plus enrichissante possible, quoi. Moi, je suis content de me réveiller et de voir un beau nuage,
et puis un bon coucher de soleil. Ça
Carpe diem, quoi.
Oui, je suis un hédoniste.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est épicurien, la bonne chair.
Les belles femmes.
La vie, c'est un peu ce qui nous anime aussi.
Oui, on est un peu tous pareils.
Sauf Christophe, mais sinon, les autres, oui.
Moi, il n'y a que les femmes qui m'intéressent.
Ça, écoute. Donc, finalement, un peu même toi. Même toi.
Même moi.
Mais j'ai jamais demandé, moi, qu'on me baptise star ou quoi, ok. Bon, c'est venu comme ça parce que j'étais potentiellement toujours présent, comme les scouts que j'ai fait pendant quelques années. Et puis voilà. Toujours prêt.
Toujours prêt.
Bien dit.
Eh bien, tiens, Ludo, est-ce que toi, tu es prêt, justement?
Oui,
toujours prêt.
Alors, Richard, on a une tradition ici, c'est.
Les points.
Le quiz.
C'est le quiz. Oui, en fait. Alors, normalement, c'est pas moi qui fais cette rubrique-là, donc
c'est le nouveau papa.
Au père fondateur du quiz, Freddy, qui est malheureusement absent aujourd'hui. Parce que
heureusement.
Heureusement, pour cause de paternité, donc c'est une très bonne nouvelle.
Il a beaucoup souffert.
C'est clair. Ok, alors c'est parti, donc petit quiz, alors tout le monde la main sur le buzzer.
On peut faire un récap, une récap des
points. Non, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire.
Alors, je vous dirai après,
On s'en fout.
Et je voulais juste te dire une petite chose, c'est que de toute façon ces 10 points je les aurais marqués moi, mais comme je suis trop bon je vous les donne quand même.
Oh voilà. T'es gentil, est bon.
Monsieur est bon. Alors voilà, Richard, je suis désolé, tu vas pas pouvoir jouer, parce que je pense qu'il y a des réponses que tu connaîtras. Donc,
Mais moi je vous laisse faire, je vous observe.
Mais voilà, il pourra contredire.
Si jamais il ne trouve pas et que tu avais la réponse.
C'est cinéma alors. Donc
voilà. Pas forcément. D'accord. Alors on y va pour la première question, qui est une question peut-être assez facile, mais qui n'est pas directement cinéma, mais quand même. Allons-y. Première question, sur quelle station de radio officie Brigitte
Millet ? Énergie !
RMC.
Premier, un point pour
Arbeau.
RMC.
RMC.
Ah, maintenant ?
Ah non, depuis des années.
Oh la mauvaise foi.
Absolue. Attention, deuxième question, soyez prêts. Quelle personnalité politique a déclaré en 1990, lors des débats à l'ONU précédant la première guerre du Golfe, « Je suis prête à faire l'amour avec Saddam Hussein afin de rétablir la paix au Moyen-Orient. »
Hillary Clinton.
Ouais. Elle n'est pas française.
Elle n'est pas française.
Allemande ?
Elle n'est pas allemande.
Américaine ?
Elle n'est pas américaine. La Cicciolina, bonne réponse, Arnaud.
Ouais, mais enfin, vous avez fait votre truc entre nous.
Attention, le film pornographique le plus cher de tous les temps.
Minoule insatiable.
Pirate.
Gorge profonde. Mais non, c'est.
C'est pas Pirate des Caraïbes,
le sexe qui parle.
Laissez le finir.
Mais non, il vient de le dire, il l'a dit tout à l'heure.
Non, il l'a pas dit tout à l'heure.
Ah, pardon. C'était quoi la question?
Bonne réponse à.
C'est ça, un truc comme ça.
Le film pornographique le plus cher de tous les temps. Par contre, faut me laisser juste finir ma question en fait avant de répondre, comme ça c'est plus facile.
Vas-y, on fait ce qu'on veut.
Le film pornographique le plus cher de tous les temps est sorti en 2008 avec un budget de 10 millions de dollars. De quelle célèbre saga s'inspire-t-il ?
C'est Pirates des Caraïbes.
Pirates des Caraïbes. Ouais. Attention, question littérature. Scandale littéraire de l'année 2001. Cet essai autobiographique s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Son auteur y décrit en détail toutes ses expériences sexuelles et notamment des parties à plusieurs.
Ago, c'est
Laissez-moi finir la question.
J'allais dire
Christine Angot.
Pas Christine Angot.
Virginie Despentes.
Surprenant le lecteur par un érotisme froid, précis et analytique.
Virginie Despentes.
Pas Virginie Despentes. Pas Christine Angot.
Celle qui fait des films aussi.
Catherine Breillat.
Catherine. Ah, mais
alors,
arrête.
C'est bien une Catherine, mais ça n'est pas Breillat.
Catherine Ringer.
Alors, le titre de son livre s'appelle La vie sexuelle de Catherine M.
Catherine Millet.
Catherine Millet, bonne réponse. Ouais.
En fait, il va prendre tous les points.
Oh, elle a fait beaucoup de partout.
Oui, justement. Ouais, exactement, je crois que c'était même. C'était,
Poilu, pas poilu.
T'as les deux, je pense. À mon avis, elle a tout fait.
J'ai eu l'occasion de l'honorer. Donc,
Ah, bah ouais. Ah, bah merci pour la personne.
J'adore. Je confirme.
Donc on en déduit que vous étiez aux mêmes soirées.
Donc, tu valides le point.
Donc, le point. L'occasion de l'honorer.
D'ailleurs, Catherine Mouillet, je crois. Bravo.
Alors. On a parlé pas mal, et Richard a parlé pas mal du film Exhibition de Jean-François Davy, qui est sorti en 1975, qui avait fait 3,5 millions d'entrées. Ce film a une autre particularité. Laquelle ? Alors, je vous invite à
poser des questions.
C'est
évidemment
la première fois qu'il y avait la sodomie.
Non.
Première éjaculation faciale.
Non, pas du tout. Ça n'est pas lié au contenu du film lui-même.
Je sais plus, on avait dit que c'était un film américain, ça ?
C'est un film français.
Français, alors.
C'est sur la forme technique.
Ça n'est pas lié au contenu, ni à la forme, ni au fond.
C'est un film non doublé ?
Non. Alors, je vais vous donner un indice. Ce film, cette particularité, en fait, c'est le film est sorti en 75.
Le premier film interdit aux moins de 18 ans.
Classé X.
Non. Donc la particularité est intervenue 10 ans après.
Premier DVD, première sortie de DVD. Alors, enfin, premier ancien film à être remasterisé pour le DVD.
Non. C'est par contre, effectivement, Didouille, c'est l'occasion d'une première. Laquelle?
Premier auteur.
Ah, c'est plus du 35 mm, c'est la première.
Non, le film a été tourné en 75, donc c'est du 35 mm.
C'est pas une récompense.
Ce film est pour la première fois. Il s'est passé quelque chose sur ce film. Enfin, pour la première fois, ce film.
Diffusé en IMAX 3D.
Alors, ce film a effectivement été diffusé pour la première fois.
Sur grand écran.
En odorama.
Alors, je parle de 1985.
Bah, tu m'as dit 75.
Premier film. Non, le film a été réalisé en 75. Je dis juste que la particularité, c'est qu'en 85, ce film a été diffusé pour la première fois
à la télé sur Canal Plus.
Bonne réponse de Nico.
Ça se réécoute, à mon avis. Ouais,
ils ont fait, quand ils ont créé, Rousselet a créé Canal Plus, ça a été la première diffusion de Canal.
En août 85. Alors, j'ai une autre question qui concerne aussi le cinéma. Alors, attention, c'est une question de rapidité. Combien reste-t-il à Paris de cinéma pornographique?
3.
1, je crois.
2. 1, bonne réponse de Marius.
C'est 3.
C'est 1.
C'est moi qui ai dit 1, il dit 3 tout à l'heure.
J'ai dit 3, moi. Moi, j'ai dit 3.
C'est moi qui ai dit 1.
Ah, pardon, alors c'est bonne réponse. C'est 1, c'est le Beverly.
Ça, je le savais, je l'avais entendu dans Agence Too Geek. Mais merde.
Qui est tenu par quelqu'un que tu connais, je crois, Maurice Roche.
Oui, Maurice, oui, c'est un copain.
Voilà, et donc c'est la seule.
Je l'ai honoré.
Non, pas lui.
Alors, on poursuit. Alors, attention. Un film érotique, cette fois pas pornographique, de 1970.
Emmanuel.
Non. Emmanuel date de 74.
Derrière la porte verte.
Non, plus 72.
Histoire d'eau.
Histoire d'eau, c'est encore plus vieux, c'est les années 60.
Histoire d'eau, c'est 60.
Ouais, 68.
60. Non. Histoire d'eau, c'est plus vieux.
Ah, oui. 38 cm dans le cul de la pâtissière.
Joy.
Non.
Bon, Joy non plus.
Laissez-le poser la question.
Il n'a pas fini la question.
Laisse-le poser la question.
Finis ta question.
Un film érotique de 1970 qui s'appelle The Party at Kitty and Studs.
Donc on cherchait le titre alors que t'allais le dire. Ok.
Donc
The Party at Kitty and Studs.
The Party at Kitty and Studs.
Qu'est-ce que ça veut dire en français, Marius?
Pas, il parle de chat, non, Kitty.
Alors littéralement la fête chez Kitty et Studs.
D'accord.
De Morton Lewis.
Ah, c'est plus c'est là.
Et le premier film d'un acteur célébrissime.
Français.
Quel est ce film? Quel est cet acteur?
Américain.
Alors, l'acteur est américain.
Bruce Willis.
Non.
Schwarzenegger. Non, il est pas.
Alors, David Duchovny.
C'est en quelle année?
Michael Douglas.
70.
Alors, je vais vous donner un indice supplémentaire.
Mais laissez-le finir, merde.
Le titre original de Party at Kitty's and Studs a été renommé en The Italian Stallion.
Et Stallone.
Stallone.
Sylvester Stallone dans l'étalon italien.
Chiant, lui.
Alors, il faut savoir une petite chose. Alors, en fait, parce que tu parlais pas mal des inserts, en fait, la pratique des inserts, ça me permet de. En fait, les inserts, c'était souvent pour des films érotiques, de le caviarder avec des inserts hard pour sortir des versions justement hard. Et notamment, ce film-là aussi a eu sa version avec des plans tournés par d'autres acteurs, des doublures, etc., pour avoir une version pornographique. Le Stallone a accepté ce rôle pour $200 à l'époque. Oh, il était un peu SDF, il avait beaucoup de mal à joindre les bouts. 5 ans plus tard, il faisait évidemment Rocky avec les 3 Oscars. Voilà. Alors, je poursuis. Alors, attention, c'est une question qui s'appelle rattrapage pour tous.
Pour les nuls.
Alors, attention, parce que voilà. Richard, tu vas compter jusqu'à 10.
Oh la vache.
Et dans les 10.
En allemand!
Hein, mais tranquillement, prenons ton temps, s'il te plaît. Et pendant ce temps-là, je vais poser la question. Je vous explique la règle du jeu avant que tout le monde se jette dessus, comme la vérole sur le bac clergé, là. Une personne donne un titre, elle marque un point, mais elle ne peut plus rejouer après. c'est vraiment question rattrapage pour tous. En gros, d'accord. Si je dis oui, c'est bon, tu t'arrêtes parce que tu as eu ton point. Et voilà, on laisse le choix à d'autres personnes.
Ça va bien qu'à répondre en premier, Didouille.
Par contre, on va aller jusqu'à 10. C'est-à-dire qu'on s'arrête à 10. Et puis à 10,
quand Richard annonce quand il y a 10 titres trouvés.
Voilà. Non.
Richard, t'as rien compris, moi.
Je compte jusqu'à 10. On a 10 secondes pour dire des
titres. 10 secondes pour donner des titres. D'accord. Et je vais vous donner la question, c'est, avant qu'on fasse le démarrage, c'est citez-moi un film traditionnel contenant des scènes de sexe non simulé. C'est parti.
37 de le matin.
Oui.
2. 3. Non simulé.
4. Oui.
Merde.
Putain, j'en ai un. Lève la jambe, voilà que ça rentre.
Traditionnel.
Histoire d'eau.
Non, je considère pas ça comme un film traditionnel.
Il y en a plein. Oh, bah. Un peu. Bon, non.
8.
9 semaines et demie.
Non. 9.
Oh merde, ça vient pas comme ça 10
et 10.
Et je suis avec Boringer avec
alors ce sera le point pour Nico.
Il y avait
le diable au corps où Marouchka Dattmers taillait une pipe à l'acteur.
Extraordinaire.
Voilà,
il y avait la voyait pas.
L'ennemi fauve.
Non,
c'est pas suggéré.
Lulu. L'ennemi fauve.
L'ennemi fauve, c'était pas suggéré ça.
Il me semble.
Par contre, il y avait Nymphomaniac, il y avait La vie d'Adèle. Il y avait L'Empire des sens.
Magnifique.
Voilà.
Ah oui,
Short Bus, et puis Brown Bunny, qui est un film de.
En fait, on oublie. Hein.
De Vincent Gallo. Voilà. Enfin, et puis il y en a d'autres.
Il y a
Baise-moi.
Baise-moi.
C'est l'exemple typique.
Ouais, je préfère les
toi, et toi, t'as pas trouvé Baise-moi.
Tout à fait.
C'est dur, Baise-moi.
Baise-moi, oui, très bien. D'ailleurs, c'est assez terrible. Enfin, tu.
Irréversible quand elle se fait violer.
Ah oui, Romain.
Non, enfin.
Oui, non, on voit son sexe.
Oui, c'est vrai. Donc oui, je l'aurais accepté.
Irréversible.
Tu as connu, toi, Karen Lancôme.
Karen Lancôme. Elle s'est suicidée. Voilà.
Alors, c'est tragique. Alors ça, c'est peut-être le versant un peu plus sombre de...
Oui, je pense, parce que bon, le gros problème des films porno pour les filles, c'est que, à part Brigitte Lahaie, qui a réussi une reconversion quand même assez étonnante, elle a eu beaucoup de mal. Moi, j'ai assisté sur Canal, justement, une réunion où il y avait Brigitte Lahaie et Philippe Noiret, où Noiret a dit, si Brigitte Lahaie intervient sur le plateau, je m'en vais. Quoi, tu vois.
Oui, d'accord.
Ouais, non, mais c'est.
Ce qui est assez. Oui, ou même, il y avait eu Gainsbourg avec
Catherine Ringer. Bon. Alors, le problème, c'est que les femmes sont des putes et les mecs, on est des cadors, quoi.
Donc, des Casanova.
Comme d'habitude.
Moi, je leur ai dit, un jour, un journaliste qui me faisait chier, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous emmerdez avec vos questions à la con? Moi, je suis une pute aussi, parce que on est à mettre dans le même rang, dans ce cas-là. Ça veut dire que vous avez quoi? Vous êtes bon pour vous branler devant le film, et puis vous rejetez la faute sur cette femme qui a écarté les cuisses, qui a fait une mode pipe. Alors, allez vous faire sucer à Strasbourg-Saint-Denis, puis comme ça, ce sera. Tu vois, je veux dire, il y a des choses.
L'hypocrisie, quoi, toujours.
Voilà, l'hypocrisie, les femmes sont des salopes, mais vous êtes bien content d'avoir des salopes dans votre lit, quoi.
Sinon, c'est comme toilette avec des coquillettes.
Il y a une chose qui est importante quand même que je vais.
Ah oui, il reste des questions.
Il y a une chose qui est importante que je voudrais rajouter, c'est que dans ce milieu d'hypocrites, il y a eu un film qui a été mis au pilon. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Un jour, je suis convoqué pour un film qui s'appelait L'essayeuse de Serge Corbert. Qui a fait notamment la Madone des Sleeping avec.
Il a pris pour tous les autres, celui-là, je crois, non?
Ouais. Alors, je suis convoqué au 36, et puis on me dit voilà, vous êtes convoqué, vous savez pourquoi? Je dis non, j'en sais rien. Vous avez tourné dans un film qui s'appelle L'Essayeuse, est-ce que vous étiez au courant que c'était un film pornographique? Moi, je dis vous avez qu'à remonter un peu le temps, vous allez savoir que je filme que des films pornographiques. Ah, ils me disent oui, mais parce qu'on a 14 plaintes d'associations. Dont la Ligue des Aveugles.
c'est quand même génial, ça.
Alors, j'ai...
C'est formidable.
Ouais, là, c'est, ouais.
Le mec, j'ai dit, la Ligue des Aveugles. Alors, je sais qu'il y a toujours une version en français, en anglais, en américain éventuellement. Mais en braille, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Alors, les mecs se sont marrés. Eh bien, ce film-là, il a été... la production a été jugée, Serge Corbert a été jugé. Ce film-là a été mis au pilon. Alors, il y a une copie qui a été sauvée, qui a été diffusée d'ailleurs au cinéma Le Béverlet, me semble-t-il. Il reste une copie qui a été sauvée. Mais c'est un exemple type l'hypocrisie de toute cette populace, de la censure. Quand c'était un film de Bertrand Barré, il y avait la salle qui était complète pour voir le film de Bertrand Barré. Quand c'était les autres, il y avait trois personnes, ils disaient, bon, censurer X, quoi. Mmh. Voilà. Mais alors, j'ai une anecdote qui est assez curieuse aussi. Quand j'ai publié mon livre, j'étais un jour chez l'éditeur, et il y a un mec qui était à côté de moi, et il voit le titre, il dit, putain, je voudrais bien connaître le mec là qui s'est fait 8000 femmes. Alors je lui dis...
C'est moi.
Ben, c'est moi.
Bonjour, coucou.
Ah putain, mais c'est pas possible, raconte. Alors je lui dis, à qui ai-je l'honneur? Claude Cancès, 36 Quai des Orfèvres.
Ah, oh, étonnant.
Et, ouais. Et alors, on a discuté, et quand puis j'ai dit, mais... Je connais le 36 qui est déjà fait, parce que j'ai eu des amis là-bas, et puis j'ai eu quelques anecdotes aussi par rapport à mon métier. Ah bon, alors c'était quoi alors? Ben, j'ai dit, voilà, j'étais acteur de films de cul. Oh, ben dis donc, c'est vachement bien ça. Raconte. Ouais. Et puis, on est parti là-dessus, et comme il y avait le mec qui avait encristé ma femme par rapport au salon, dont je tairais le nom, j'étais prêt à lui dire, j'ai dit, j'ai été reçu par un enculé. Il m'a fait chier pendant des années, il a voulu me faire tomber comme proxo, etc. Il n'a jamais réussi, de toute façon, bien que j'ai été condamné, moi, pour le salon, comme proxénète hôtelier. Hein. Je me suis ravivé en lui disant, bon, on ne sait jamais, directeur du 36. Et il me dit, ah, bah oui, c'était mon ami, oui, ah bon.
Le monde est petit.
Ouais, comme quoi. Hein.
Ouais, ouais, non, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Hein. Mais j'ai reçu un témoignage d'ailleurs assez curieux, dans le sens où un jour l'éditeur, là, il y a peut-être deux, trois mois, il m'appelle, il me dit j'ai eu un courrier chez moi qui est arrivé, c'est un de vos fans, et je vais vous le faire parvenir parce que je trouve que c'est un témoignage poignant. Bon. Alors je reçois le courrier sous forme de carte postale. Écrit comme un enfant qui aurait 6 ans ou 7 ans, quoi, très très mal, etc. Et en fait, c'est un handicapé, et qui est un fan de des films, et qui a lu mon bouquin, et qui me demandait d'ailleurs si je pouvais lui envoyer une photo, etc., etc. Mais qu'il avait, il y avait que Brigitte Lahaie qui lui avait répondu, il avait écrit à d'autres actrices qui n'avaient jamais répondu, et comme moi je suis bien copain avec Patinette, Marilyn Jess, que je vois dans quelques jours pour la sortie de Kiko. Là,
tu passes mon bonjour. Hein.
Le Kiko Book.
Ah oui, de Gérard.
Et donc, on va faire plein de photos. Ouais. Et je me suis dit, je me réserve cette soirée-là pour réunir des photos, lui envoyer un DVD ou deux pour le remercier de sa demande, quoi, en quelque sorte. Mais il doit me traiter de tous les noms, ce malheureux, en disant, oui, il ne m'a pas répondu, ça fait 3 mois que j'ai écrit. Et tout. Il faut aussi saisir l'occasion pour amener les choses, quoi. Je pense que ça lui fera plaisir, même si c'est tardif, qu'il
oui.
ait
oui, oui, oui.
une photo de ma pomme avec la barbe blanche.
Bah, de toute façon,
et Marilyn Jess, qui a pris quelques années aussi, hein, mais qui est toujours restée très sympa, très, très volubile, très drôle.
Et Brigitte Lahaie, t'as fait une super préface sur ton bouquin.
Oui, oui.
Moi, j'ai eu l'occasion, parce que j'aurais bien voulu l'avoir, ton bouquin, pour le lire. Mais j'ai au moins eu en extrait la préface. J'ai trouvé ça super sympa. Vous gardé des liens.
Ah oui, on a des liens d'amitié qui sont à vie. Hein. Mm-hmm. Moi, je suis très content de sa notoriété, de sa reconversion. Alors, si on écoute ses premières interventions, elles étaient médiocres, un peu
maladroite. On sentait qu'elle n'était pas encore tout à fait à l'aise.
Voilà, maintenant elle est super à l'aise. Je veux dire qu'elle réagit aussi bien qu'une journaliste, sans problème. Elle a du métier, mais elle a surtout su s'entourer, parce que quand elle bloquait sur une question, ça arrive à tout le monde. Eh bien, le scientifique, en quelque sorte, prend le relais. Et on apprend. Ça fait quand même 11 ans qu'elle est sur RMC.
Sur RMC,
hein.
Oui.
Ouais. Non, c'est bien.
C'est qui d'ailleurs Ludo, qui lui consacre un livre bientôt?
C'était dans l'agence Two Geeks, mais
ils en
plus.
Parlaient, oui.
D'ailleurs, par mais rapport là, à tout une, ce qu'on a évoqué,
il y a une biographie qui est... Ouais. Qui
c'est ça, j'ai plus
le
nom.
C'est celle-ci, mais je ne sais plus quoi.
Ils ont été invités à un podcast
d'ailleurs, l'agence Two Geeks.
Ils ont parlé de Richard Allan, il y avait eu l'apéro du Capitaine aussi qui avait parlé du livre de Gérard
Kikoïn.
Ah oui.
Et c'est donc, si on vous invite à les écouter, ces deux épisodes-là aussi, qui sont très intéressants.
Ils sont super intéressants.
Qui est-ce qui a fait ça?
Alors, c'est un podcast qui s'appelle Agence Two Geeks.
Ouais. Et... il parlait en fait de. Il avait invité des gens qui étaient en train de réunir des fonds pour pouvoir écrire un livre et réunir un livre sur
la biographie de Brigitte
Lahaye. Voilà. Ah oui, ben moi, ils m'ont interviewé.
Oui, ben c'est ça.
Ah oui, d'accord, mais moi, j'ai fait un chocolat avec Brigitte Lahaye. Pour le lancement, ça c'est prévu. Ouais.
Ah, mais je crois qu'ils en ont parlé d'ailleurs.
Ils en avaient parlé.
Oui, je l'ai emmené au labo pour voir la fabrication, etc. Est-ce que je leur avais donné cette idée en disant, bon, on pourrait faire un chocolat.
Oui,
donc ça va être lancé, je pense. Ils avaient parlé de 2016, mais je pense que ce sera plus fin d'année 2016.
D'accord.
2016, ouais. On doit encore peaufiner là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont repris la lecture avec Brigitte. Et à ce propos, comme moi, ben, mon bouquin, il est introuvable. Moi, il me reste que 2 exemplaires.
Ah,
donc,
oui.
je vais revenir dessus. Je vais le ramener quelques anecdotes qui me reviennent de temps en temps aussi, ou avec les discussions comme on peut avoir, qui me font remémoriser. Et enlever une première partie qui est un peu longue, et puis sur tout ce qui est la censure, etc., qui n'intéresse pas vraiment les gens. Je pense que ce qui les intéresse, c'est tout ce parcours érotique des partouzes, du cinéma, et la liberté sexuelle qui s'est instaurée dans les années 68, tout ce qu'on a pu vivre. Alors ça les intéresse beaucoup. Et mettre des photos aussi. Et le problème aussi, c'est que ce titre-là n'a pas permis d'avoir une diffusion telle qu'on aurait voulu. Il y a des grands magasins comme Leclerc qui ont refusé de vendre le livre parce que 8000 femmes, bon, il a une bite à la place du cerveau, tout le monde regarde pas la quatrième de couve ou ouvre un petit peu pour voir la forme d'écriture ou regarde ne serait-ce que les 10 premières lignes pour se faire un peu une idée. Mmh. Mais ça, bon, nous, un peu dans la littérature, on sait ce que c'est. Mais voilà. Donc c'est les gens s'arrêtent sur un titre alors qu'il a mis les souvenirs d'un Casanova de Cinéma X ou un truc comme ça, quoi.
Je crois que c'est ça, ouais.
Alors ça c'était pas mal. Alors au départ c'était une parenthèse parmi d'autres. Ou moi je disais l'homme pacha c'est bien, quoi. C'est la représentation de ce que j'étais. Moi j'étais un roi, quoi. C'est avec moi Harem, voilà, c'est ça.
Je vais terminer avec la dernière question du quiz. Oui, c'est la dernière, qui va être une question de rapidité. Êtes-vous prêt?
Bah oui, complètement.
Alors, en 1999, sort un film de John Love qui s'appelle Les Tontons Tringleurs. Dans ce film, je vous demande de me citer au moins...
Alban Serein.
Rocco Siffredi.
Richard Allan.
Bonne réponse de Marius, de citer au moins un acteur qui a joué donc dans le film Les Tontons Tringleurs.
J'ai dit Alban Serein.
Tu as dit Alban Serein.
Il y avait Alban.
Il y a Alban Serein. Oui, j'ai pas entendu.
Je l'ai dit avant.
Ah, oh, c'est dommage, Marius.
Triste.
Non, j'accorde le point à Marius et à Arnaud, puisqu'en fait, j'ai dit au moins un acteur. Chacun de deux,
c'était
un acteur.
C'est Jean-Pierre Armand et Dominique Aveline.
Très bien. Eh ben écoute, donc c'est Arnaud qui remporte cette manche du quiz avec 5 bonnes réponses.
Bah, il pouvait, il était pas là l'autre fois.
Comme ça compense.
Et puis ensuite moi avec 4 et Marius qui récolte son premier point de l'année, dis donc.
Ouais.
Bravo. Bravo. Bah, écoute, merci Ludo. Hein,
J'espère que ça vous a plu. Freddy, j'espère que tu es fier de moi.
Très bien. Mais écoute, on va conclure cet épisode avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Donc chacun 60 secondes de chrono. Oui. Tu es prêt, Christophe? C'est parti.
Yes. Alors mon coup de cœur, c'est pour un film, rien à voir avec le sujet précédent. Ça s'appelle Marguerite, film de Xavier Giannoli, et c'est basé sur une histoire plus ou moins inspirée librement, celle d'une milliardaire américaine qui s'appelle Florence Foster Jenkins. Donc on est dans les années 20, au cœur de l'émergence du mouvement dadaïste. Marguerite Dumont, une richissime baronne, est passionnée de musique d'opéra et elle est persuadée d'avoir un don pour le chant. Malheureusement, Marguerite chante faux.
Dommage.
Mais quand je dis faux, c'est faux. Et son entourage, la bonne société qui l'entoure, et plus particulièrement son cercle d'amis, refuse de lui dire la vérité parce qu'évidemment, cette femme est très, très, très généreuse. Et donc, ils veulent continuer, évidemment, à profiter de son argent. Le film est hilarant, franchement, c'est excellent. Et Catherine Fro est touchante, émouvante
et elle chante faux avec justesse.
60 secondes, c'est fini. Didouille.
Moi aussi, c'est ça.
60 secondes.
Moi, j'étais déjà.
Tu es prête ?
1, 2, 3, vas-y.
C'est parti.
Alors, moi aussi, c'est un petit coup de cœur pour un film qui s'appelle Le Détective D, Le mystère de la flamme fantôme. Donc, ah, film sorti en 2011. Il y a eu une suite en 2013, je ne sais plus le titre. Une histoire de Dragon des Mers.
La légende du Dragon des Mers.
Voilà. Alors, moi, c'est inspiré de l'histoire d'un authentique détective de la Chine des Tang. Détective D a fait l'objet d'une série de romans culte. Et le film est d'un cinéaste hongkongais qui s'appelle Tsui Hark. Alors moi j'adore, ça voltige et tout ce qu'on veut bien, ils sont incapables de mourir, j'adore. Non, ils meurent. Mais c'est surtout que l'esthétisme...
C'est trop génial.
J'adore. Non, l'esthétisme est superbe, les costumes sont superbes, l'histoire, j'ai trouvé ça super bien, autant sur le fond que sur la forme. Bref, un bon moment à la Indiana Jones américain. Mais là, on l'a façon hongkongaise et les acteurs sont absolument géniaux. J'ai
kiffé. Merci Didouille, pile dans les temps. Forcément, quand tu coupes. Ludo,
oui.
Es-tu prêt ?
Oui.
C'est parti.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est un livre. Un livre de Jacques Torrance qui s'appelle Le Brady, cinéma des damnés. Et en fait, c'est une somme de témoignages qui est en fait vise à décrire qui fait la biographie d'un lieu qui est le Brady, qui est un des cinémas de quartier de Paris qui était encore en activité, qui a été une salle qui a appartenu à Jean-Pierre Mocky. Et qui est une salle. Alors là, dans ce livre-là, l'auteur nous décrit à la fois son expérience de projectionniste, puisqu'il a travaillé dans les années 2000. Et on a, à travers toute une galerie de personnages, que ce soit les gens qui ont travaillé, les gens qui viennent voir les films. Alors on a toute une faune, toute improbable, je veux dire, plus improbable les unes que les autres. À travers les films, et bien en fait, il nous dresse tout un panorama du cinéma bis. Alors que ce soit les films de kung-fu, les westerns, les vieux films fantastiques, les films pornographiques, les films érotiques de quartier. Et il nous dresse toute une galerie, vraiment un portrait attachant de cette salle et donc du public. Je vous le recommande vivement. C'est
super. Merci Ludo. Désolé. Hein.
C'est la règle.
Richard, est-ce que toi tu as une minute pour dire, passer un coup de cœur si tu veux. Alors c'est vrai que tu n'as pas forcément préparé.
Hein.
Ou un coup de gueule d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mettre en avant durant une minute là?
Coup de gueule, j'en ai beaucoup. Non, je suis un peu dubitatif quant à la poursuite de cette société dans laquelle nous habitons aujourd'hui. J'ai vu les mentalités évoluer à un point incroyable et je suis vraiment désolé de tout ce qu'on peut vivre ici en France sur les mentalités, sur une politique qui est menée, sur toutes ces agressions qu'on a à l'extérieur, sur l'éducation des enfants, sur tout le système féodal qu'on nous réserve parce qu'on nous amène à nous asservir comme les serfs du temps des rois. Et je suis d'un point de vue tout à fait personnel et contre toutes les taxes qui nous sont demandées par en ce qui concerne les commerçants, le RSI, et pour lequel depuis 2 ans je suis en procès contre eux pour défendre justement encore une fois, peut-être parce que je fais partie d'un mouvement qui défend la liberté de la fin du monopole de la sécurité sociale qui a été aboli en 2001. Et voilà, donc c'est encore un combat que je mène parmi tant d'autres, mais je suis content de temps en temps de m'évader sur des îles comme l'île des dieux à Bali où on a le sourire des gens du matin au soir.
Super. Bah, écoute, merci Marius. Attends, parce que toi tu as...
Ah, moi j'ai une musique. Moi.
Toi t'as une musique.
parce que merde
Marius, c'est parti.
Donc, ouais, c'est super fort. Oui, merci. Bon, voilà. Alors, Claire Diterzy, donc, c'est le nouvel album, toujours aussi chantant, toujours aussi envoûtant. Comme je l'avais dit dans ma première chronique il y a 2 ans et demi, où je parlais déjà du Salon des Refusés, qui était simplement formidable. Donc,
Là, c'est le dernier album. Et en fait, hier soir, on a eu la chance d'aller la voir au Trianon Transatlantique. Hein. Big up, Totoff. Hein. Je voulais que je fasse une petite dédicace. Et où on a vu un concert qui était simplement envoûtant, qui était passionnant. Tiens, je ferme mon truc pour en parler comme ça. C'était à courir dans tous les sens. Il y avait de la poésie, de la mélancolie, des morceaux... Des morceaux que je ne connaissais pas parce que du coup j'avais pas écouté l'album, donc je l'ai découvert en concert et ensuite j'ai écouté l'album et c'était une découverte formidable. Cette nana est vraiment cette nana est toi, c'est les petites blondes petits seins de Claire Diterzy. Claire Diterzy, elle est quelque chose. Hein.
Eh ben écoute, merci Marius. Ouais, ouais. Arnaud, qu'as-tu toi? Oh, attends, oh là là. Qu'as-tu, toi, à nous présenter?
Qu'as-tu dans ton cabas?
Qu'as-tu donc dans ton panier? Cabas. Ah, je sais ce que c'est, oui, c'est bien ça. Tu es prêt, Arnaud?
Oui.
C'est parti.
Voilà, parce que Fab Caro, ça n'est pas que Zaï 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 qu'on avait découvert cette année. Fab Caro, c'est plein d'autres choses, et entre autres, carnet non pas du Mérou, parce que en présence de Richard, mais carnet du Pérou, sur la route de Cusco, qui est en fait un carnet de voyage dans lequel se lance Fab Caro, qui veut faire des choses sérieuses, qu'on a marre d'écrire des conneries, et donc il va nous, voilà, nous présenter son carnet de voyage, dont on va vite se rendre compte qu'en fait il est totalement bidonné, et il y a le croisement de ce faux carnet de voyage, et puis à côté de la vie de Fab Caro, et des affres d'un créateur en prise avec la crise de la création, et c'est très 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 drôle, dans un genre différent de Zaï Zaï Zaï, mais vraiment à conseiller.
Merci Arnaud. Starlette, qui n'a pas préparé de coup de cœur, mais qui va donc avoir quand même sa minute à elle. Es-tu prête? C'est parti.
Oui, donc effectivement, j'avais rien préparé. Donc du coup, comme ça, au pied levé, je vais parler de quelque chose que j'ai découvert cette semaine, qui est peut-être très connu par vous, mais que je ne connaissais pas. C'est une application qui s'appelle Prezi. Bon, bah, ça tombe bien, vous connaissez pas. Donc, en fait, qui change un peu du vieux PowerPoint qu'on pouvait passer dans les réunions, qui était toujours un peu plan-plan avec des animations que moi, qui m'insupporte. C'est très, très bien fait. Ouais, c'est ça bon. Se fait à base de zoom et de dézoom. Il faudrait que je vous montre un exemple que je suis en train de faire pour un client, justement, après. Et, je suis très, très, très contente de me former sur cette application-là parce qu'elle est pleine de ressources. On peut faire des choses formidables et ça change vraiment de la présentation PowerPoint, comme je disais, qui est quand même, qui je trouve assez daté.
Obsolète.
Voilà.
Inconnu au bataillon. Que tu dis comment ça s'appelle?
Prezi. Prezi. Je vais vous montrer après ce que ça donne. C'est vraiment chouette.
T'as quand même réussi à avoir quelque
tu
chose.
Vois ouais. Vas-y.
Allez, tiens. Pas tout à fait à une minute, mais allez. Zoup. À mon tour, donc pour clore ce sujet. Donc, c'est parti. Donc, je voulais vous parler de Mister Robot, donc il y a une série diffusée cet été aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose dont j'avais beaucoup entendu parler et qui m'a vraiment emballé dernièrement. Donc, c'est une série qui est créée et réalisée par Sam Esmail avec Rami Malek dans le rôle d'Eliot, le protagoniste principal. Donc, c'est l'histoire d'Eliot Alderson, un informaticien tourmenté, c'est rien de le dire, et paranoïaque aux deux visages, qui travaille deux jours pour une société de sécurité informatique et qui est hacker la nuit. Cette double vie se complique avec l'arrivée d'un certain Mister Robot qu'il fait rentrer dans la F-Society, un regroupement de hackers ayant pour but de faire tomber la finance. On suit l'histoire à travers le prisme d'Eliot.
C'est très très fort.
Il décrit en voix off, on voit tout de son point de vue avec une voix monotone, etc. Ça aborde de nombreux sujets de société et la F-Society n'est pas sans rappeler les Anonymous, vengeurs et régulateurs autoproclamés. Ça a reçu le Golden Globe de la meilleure série dramatique et celle du meilleur acteur dans un second rôle pour Christian Slater. Et cette série va être diffusée sur France 2 prochainement, qui a acquis les droits.
Hop, du dos.
Parfait, nickel, je l'ai eu. Eh bien, nous arrivons tranquillement à la fin de notre épisode. Passionnant, hein. Donc, ce qu'on peut vous dire pour conclure cet épisode, c'est que comme d'habitude, vous pouvez, une fois que cet épisode sera publié, ou même quand l'épisode n'est pas publié, vous rendre sur le site de l'Entrepode pour nous laisser des commentaires, échanger avec nous, puisqu'on va mettre les liens des sujets desquels on a parlé aujourd'hui. Et puis sur l'Entrepode, on essaye aussi d'agrémenter d'autres articles. Donc c'est un peu ce qu'a initié Arnaud cette semaine en publiant un billet sur hommage à David Bowie. Donc on va essayer de lancer un petit peu cette démarche de billets.
Il l'a lancé là.
Ça fait une semaine qu'il est en ligne, oui. Marius.
Je n'ai fait que l'initier, hein, puisque ce billet est un cumul des différentes impressions.
Mais en tout cas, voilà, on avait dit qu'on allait essayer d'agrémenter un peu le site, donc on va continuer. Et puis sur les réseaux sociaux, Facebook. Pardon.
Ouais, c'est bon, quoi.
C'est pas parce que t'es le directeur.
Excusez-moi.
T'as bientôt vendu le numéro à la CRIF.
C'est ça. Sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Google+, vous tapez Entrepod et puis vous allez nous trouver. Si vous voulez soutenir financièrement l'Entrepod, vous pouvez toujours aller sur la page Tipeee. Et notamment, on fait un petit coucou à Isa et Matt qui nous ont apporté quelques deniers. Donc on les remercie,
c'est
vraiment
gentil,
sympa.
Merci,
Oui.
Enfin, 10 balles, ils ne sont pas foulés. Hein.
Nous sommes aussi présents donc sur SoundCloud, iTunes, Pod Radio et sur les applications de podcast habituelles. Hein, si vous avez un smartphone ou un ordinateur, une tablette, vous trouverez ce qu'il faudra. Et puis, n'hésitez pas à parler de l'Entrepod autour de vous. Et Didouille, tu as toi.
J'allais y venir, tu as quelque chose à faire là.
Tu dois donc une petite chanson à Cousbou. Puisqu'il a gagné un concours.
Si je t'en avais parlé la dernière fois.
Ouais, mais vous m'avez. Non, mais vous m'en avez pas reparlé là,
non. C'est pas grave, tu improvises. Une petite chanson pour Cousbou.
La chanson.
Il y a eu un petit concours sur Google+, et c'est lui qui l'a gagné.
T'en connais plein des chansons.
C'est peut-être pas nécessaire pour les oreilles, non.
Ah non, puis vous arrêtez pas de dire que j'ai une grosse gueule et machin.
On éteint le micro.
C'est complètement d'accord.
Grand contrôle de mes tétons.
Ça, je voulais le faire, mais c'est mort, voilà.
Tata yo-yo.
C'est
non,
pas grave.
Mais là,
improvise,
je vois pas. Allez. Improvise.
Ah, t'as une grande gueule, mais.
Bah, oui.
Là, je suis impressionnée.
Moi, du coup, se boucher.
Alors, vas-y.
Non, non.
Dalida, il avait.
Regarde. Attends, rapport à Richard Allan. Mon truc se lève, prêt à jaillir sur tes fesses. Tu me fais mouiller comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin d'un doigt, envie du tien. Belle passion sans déchirure. Tu vois, l'amour, c'est ce que tu es. Tu veux, tu veux,
Voilà, tu vois, Didouille, il ne faut pas te pousser longtemps.
Non, c'est pas faux. Suffit de me chauffer un peu. Un vrai diesel.
Comme d'hab, c'est ce que
tout à l'heure.
Un vrai diesel.
Spécial dédicace à
voilà, Noël. Rien que pour toi.
Alors, est-ce que vous aviez les droits de cette...
Alors, non, on n'avait pas les droits, mais GG, si tu nous entends, on a pris le gauche.
Donc, Cousbou, on espère que tu es content d'avoir gagné le concours.
Ah oui, super content.
Tu m'étonnes du cadeau.
Et donc, sinon, nous, on se retrouve, on ne sait pas encore trop quand, on n'a pas encore décidé la date, mais certainement dans un mois environ, hein, à peu près.
Bientôt.
Pour un épisode, donc, uniquement entre chroniqueurs. Et puis, prochainement, on va aussi mettre en ligne un épisode qu'on a déjà enregistré, qui était un épisode d'Entrepod se balade à Hoopville.
Oui.
On attend juste un petit peu quelques sujets logistiques. Et puis, c'est pour l'officialisation de la page Ulule dédiée au projet du prochain festival. Donc,
Ulule.
Voilà,
Festival Hoopstock.
On vous le tease un petit peu, mais il va sortir incessamment sous peu. En tout cas, on espère que l'écoute de l'épisode vous aura plu. En tout cas, nous, on a passé un super moment à l'enregistrer.
Carrément.
On remercie à Richard quand même d'être venu.
Merci Richard.
Ouais.
Merci.
C'est un plaisir.
Écoute.
J'étais un peu surpris de voir autant de monde.
Et encore, il manque Freddy.
Je lui ai posé la question à Marius. Je lui ai dit, ça se passe où, dans un studio? Il me dit non. Non, ça va se passer chez moi.
À la maison?
Alors, je me suis dit...
C'est un branleur.
Finalement, non, mais je me suis dit... Chez lui, il doit être équipé, façon de parler, quoi.
C'est Marius, quoi.
Tout à l'heure, t'as dit que les petites bites, ça avait rien à voir.
Ouais.
Non, mais j'ai été, bon, tu ne regrettes pas.
J'ai vraiment été ravi et c'est un bon échange. Ça me rappelle un peu, rappelle un peu Bouvard et puis les grandes gueules. Mais c'est bien parce que c'est un échange comme ça qui se fait. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à écouter Bouvard dans son émission parce que c'était plein de bon sens, de drôlerie. Et tous les gens qui l'entouraient étaient vraiment formidables.
C'est vrai.
Quoi,
c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. C'est
un sacré compliment. C'est
un putain de compliment.
Merci. Je m'attendais pas.
Tu t'attendais à rien,
et puis j'ai trouvé un petit
peu. Tu t'attendais quand même.
C'est-à-dire que ton contact, c'était Marius aussi.
Non, je veux dire que quand l'accueil est sympathique, tu vois, c'est... En plus, vous êtes jeune, donc je trouve ça intéressant.
Arrête,
quoi.
Vu trop.
C'est vrai.
Gentil, non, la rigueur t'en fait trop.
C'est pas faux, c'est pas faux.
On a survolé un petit peu tout parce que
on aurait pu creuser plus encore. Il y a tellement de choses.
Il y a tellement de choses à raconter que si je me contentais uniquement de répondre aux questions que vous me posez, je serais plus concis, mais il y a tellement de choses dans la tête qui remontent, tu vois, des anecdotes, etc., tu vois, que j'ai pu rencontrer, ben, une des dernières avant que vous pliez bagages.
C'est
André Pousse. Moi, il me dit, on fait le même métier, mon pote, mais on porte pas le même costard. J'aime tout ce qui est beau. Et pas beau ce qui est beau, mais chaque visage d'une femme, qui soit esthétique ou moins esthétique, a toujours quelque chose d'intéressant dans le regard. Et dans le regard de l'homme qui la voit, souvent tu entends dire les gens « Ouais, elle est bonne !» Ça ne veut rien dire. Comme disait Bernard Blier, un jour, il voit passer une fille splendide, il fait « Je la baiserai bien ». Bon, d'accord, je la baiserai mal, mais je la baiserai bien.
C'est une très belle phrase de conclusion.
Bravo.
Merci Richard.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et puis bah, nous, remercie nos auditeurs. Et puis on vous dit, allez.
Bisous.
Salut.
Qu'est-ce à dire? Tu as fait une petite photo de l'ensemble là?
On en a fait quelques-unes, t'en as fait toi ou pas? On en prendra une à la fin aussi, une petite photo.
Ah bah oui,
si tu peux me l'envoyer, moi, je la mettrai sur Facebook pour.
Ah bah ouais! On va être sur le Facebook de Richard! La classe!
Non, on va se mettre tous et puis on va faire une photo.
Ouais, on fera un truc sympa.
À la queue leu-leu ou.